Salut, c'est Mimi Hegel. Dans la vie, je suis créatrice de contenu indépendante sur Internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même at, à savoir MYMYHGL. Vous allez écouter un débrief de série, d'abord diffusé en live Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. On a commencé avec House of the Dragon saison 1 en compagnie de Tequila Tex, mais il y a tellement de bonnes séries dans le monde que ce flux continue à vivre, avec toujours des invités de qualité. Bonne écoute!
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bonjour, bonjour. On va recadrer un petit peu. Bonjour Internet, désolé du retard. On était occupé à... Est-ce qu'on a une bonne excuse ?
Oui.
Ouais, on parlait de l'industrie, du business, du streaming, très important.
J'adore le business.
Voilà, car nous avons un insider avec nous. Et non, c'est fou, on a mangé des très bonnes lasagnes. Merci à Nodus qui nous a fait des très bonnes lasagnes VG.
Merci.
La recette sera bientôt sur Patreon, on s'en reparle à la fin, quand je ferai ma promo. Avant ça, bonjour le chat, bonjour Matmout, bonjour Ezog, bonjour Nodus, merci pour les lasagnes. Bonjour Chino, bonjour Silioja et... Bonjour Vincent, bienvenue sur ma chaîne.
Bonjour, merci de me recevoir.
Je
merci
suis
de m'avoir
ravie
invité.
Que tu sois là. C'est
bah,
trop
je
bien.
Suis très heureux. J'adore dire du mal de séries. Non, je vais dire pas que du mal, mais voilà. Bon.
C'est pas le final de Succession, quoi. Cette saison de Black Mirror. Il y a plus à boire et à manger. Il y a peut-être des choses sur lesquelles on est ravi et d'autres choses sur lesquelles on est là.
Ah. C'est pas les lasagnes de Nodus.
Voilà. Mais c'est pas non plus des lasagnes flunch, quoi. Il y a un juste milieu. On en parlera. Avant ça, Vincent, qui es-tu ? Comment tu te présentes ? Je t'ai fait une petite bio dans le chat, vous pouvez faire point d'exclamation Vincent et aller follow Vincent sur sa chaîne Twitch, à savoir Vincent d'Internet. Mais à part ça, comment toi, tu te présentes ? Et merci beaucoup Lardon Trop Cuit pour le sub. Merci.
Lardon Trop Cuit. Eh ben, merci déjà de me recevoir. Bonjour le chat !
Yeah !
Comme vous le voyez, je suis habitué au streaming, je connais les termes. Non, de base, je suis journaliste.
Quelle idée
de merde. je suis spécialisé en culture web, comme on dit, c'est-à-dire que ma spécialité, c'est d'écrire sur les créateurs de contenu, les influenceurs, les youtubeurs, streamers, enfin, comme vous voulez les
tous
appeler.
Tous ces gens qui n'ont pas de vrai métier et que Thierry Ardisson ne comprend pas.
Voilà. Ma ligne éditoriale, c'est vraiment faire comme Thierry Ardisson. Pas du tout. J'essaie de faire pas ça, justement, quand je parle d'eux, mais dire quand ils font des choses bien et dire aussi quand ils font des choses moins bien, voilà.
Et même sans forcément apporter du jugement de valeur, d'analyser un peu à la fois le côté un peu business, les sous, les OP, comment ça marche, le fait que c'est une vraie industrie, et le côté, le rapport du public peut-être à ces contenus-là et tout ce qui va être relations parasociales, et puis... les rapports des influenceurs entre eux, avec les acteurs du milieu, avec, bah, tu vois, quand il y a eu... Macron chez McFly et Carlito, c'est clairement le genre de sujet sur lesquels tu vas être expert.
Ouais, c'est ça. Essayer de comprendre un petit peu cette industrie qui a 10 ans à peine, mais qui est toujours en train de se structurer, qui pose beaucoup de questions, qui bouscule un peu la télévision, qui bouscule nos usages, notre rapport à la célébrité, notre rapport affectif avec quelqu'un, dans le sens où des fois on se sent un peu trop proche de gens qu'on suit sur Internet. Il y a un milliard de sujets. Il y en a des nouveaux chaque jour. Des fois, je me tape la tête sur le bureau. Mais
car l'influence ne s'arrête jamais. Les Zumba arrivent le week-end et les jours fériés aussi.
Oui.
Les OP n'arrêtent pas. Les gens qui oublient de dire qu'ils sont en OP sponsor n'arrêtent pas non plus d'oublier de dire qu'en fait, c'est une OP sponsor.
Il suffit qu'il y ait un YouTuber qui se trompe et qui envoie un nude en story publique au lieu de l'envoyer à quelqu'un.
Comme ça arrive à des gens très bien.
Ou moins bien.
ou moins bien.
C'est déjà arrivé.
Oui aussi. Oui, oui, tout à fait. Il suffit qu'il y ait une streameuse de qualité qui se fait injustement bannir alors qu'elle a fait un stream body positive sur son premier shooting de nu. Et Vincent, il est on that shit. Il est là, scandale. Une streameuse féministe bannie, le patriarcat, tout ça. Vous voyez, c'est des vrais sujets de société.
Non, mais en tout cas, ouais, il y a bien plein de sujets et j'aime beaucoup ça et j'essaye de naviguer là-dedans, comme on dit. Voilà.
Yes. Et donc, Tom Pousse nous rappelle que tu es aussi expert S PowerPoint.
Oui, alors, expert, non, je fais des PowerPoint moches volontairement, mais je suis...
C'est peut-être ça la vraie, tu sais, il faut savoir faire bien pour savoir faire mal derrière.
Voilà.
Sinon, tu fais juste un truc médiocre.
C'est pour ça que Michael Bay, c'est un génie
oui,
du cinéma, parce qu'il
parce
fait
qu'il
tout
sait
mal,
faire
parce
ambulance.
Qu'à la base...
Non, en vrai, Ambulance, c'est un banger.
Ouais, je l'ai pas vu.
Il est trop bien. Le pitch, c'est une course-poursuite, mais avec Jake Gyllenhaal extrêmement sous cocaïne dans une ambulance. Et il peut, c'est genre speed.
Attends,
c'est
l'acteur ou le personnage? Ah, ok.
Mais c'est Jake Gyllenhaal, tu sais, dans son énergie Nightcrawler où il a les yeux trop écarquillés.
Ouais, ouais,
et les
peur.
Veines qui pulsent. Et t'es là, ah non, maintenant il fait peur. C'est trop bien. C'est un banger. Désolé.
Mais attends, je sais même plus pourquoi on disait ça. Ah, si,
parce
oui.
Parce que
oui.
Les PowerPoint.
Voilà. Parce
moche,
que.
Moche, mais exprès.
Parce que je fais des.
Comme Transformers.
J'ai été chroniqueur dans Backseat cette saison, donc l'émission Twitch
oui.
de Jean Massier où je parlais de liens société, influenceurs. Voilà, selon les semaines, les
chez
sujets,
les gauchistes encore. Toujours les mêmes hein, sur cette chaîne de façon. Il n'y a pas de pluralité des médias, je pense, sur ma chaîne. C'est dommage. Je te fais un shout-out.
Alors, j'ai pas exprimé mes opinions.
Tu es peut-être de droite, pardon. J'ai eu un call pro tout à l'heure avec quelqu'un. Je vais dire absolument rien de plus que c'était pour parler du contenu d'une autre personne. Et j'ai dit, envoie-moi le lien. Je vais d'abord aller voir son contenu pour être sûr. A priori, si tu me la proposes, c'est que ça va. Mais je vais aller voir le contenu de cette personne. Et la personne en face m'a dit, franchement, va voir... C'est pas une personne problématique, juste genre c'est une personne un peu de droite, tu vois, mais je pense qu'elle a le droit, je vais aller voir de quoi on parle.
C'était Papacito.
Voilà, Andrew Tate, bientôt sur cette chaîne. Non, mais pas problématique. Non, mais genre un peu méritocrate, tu vois. Un peu quand on veut, on peut. Voilà, donc je vais me renseigner et compter sur moi, bien sûr, pour ne pas apporter de l'eau au moulin de gens qui ne partagent pas nos valeurs.
Oui, bien sûr.
Donc tu étais dans Backseat et t'as aussi une chaîne. Qu'est-ce que tu fais sur ta chaîne?
Une chaîne Twitch.
Oui, tu sais, sur
parce que je stream
une plateforme de streaming live.
Énorme streamer.
Mais alors, c'est quoi Twitch?
Balancer les subs.
Mais alors, les gens, ils vous regardent en direct jouer aux jeux vidéo.
Oui.
C'est fou, non? Et alors, c'est un métier, quoi.
Bah oui, il y a des gens qui donnent de l'argent pour ça, c'est fou.
Et ouais,
ouais.
Et ouais.
2023, quoi.
moi, je suis larguée hein, depuis Facebook, de toute façon.
Non, mais je stream effectivement pas vraiment du jeu vidéo de temps en temps. Des fois, je fais du Red Dead Redemption 2, mais plus pour prendre des photos d'animaux. Où j'utilise pas les armes, mais je les
alors,
prends en photo.
Alors, ça me fait très plaisir parce que dans Tears of the Kingdom, le nouveau Zelda, il y a une mécanique Pokédex.
Ouais.
Et je prends des photos de toutes les choses. Et Nodus, il en prend zéro. Et il est là, pourquoi tu te fais chier? Je suis là pour remplir. Après, j'ai des belles photos et il y a plein de quêtes où le gars, il est là, il me faudrait une photo de tel animal rare. Et moi, je suis en mode, mais t'inquiète même pas, je l'ai déjà et tout.
Hop, l'imperméable, on l'ouvre. Il y a
hop
toutes
là,
les photos.
Voilà, Team Pokédex. Ok,
non, mais et puis, Zelda, chacun fait sa partie comme il veut, Nodus. Moi, je te le dis.
Par exemple, lui, il construit beaucoup de choses débiles et parfois inefficaces, mais toujours surprenantes. Moi, je mets un gouvernail sur une planche et je dis voilà, j'ai un bateau, c'est tout. Ça ne m'intéresse pas de construire plus que ça, je m'en fous.
Mais oui, mais c'est parce que t'es anti-productiviste.
Je suis pas l'ego,
tu vois,
je suis pas
l'ingénieur. T'es là, tu veux juste être efficace et kiffer en fait.
Et prendre des photos.
Juste vibrer.
Des gousses d'ail enduro au soleil couchant, tu vois.
Attends, tu prends
Nodus
photo.
Nous dit,
attends.
Je vais pas prendre en photo des piments, restons sérieux.
Tu prends photo des piments?
Bah ouais, les plantes aussi, tu peux les collecter. Dans le Pokédex de Zelda, tu peux mettre les plantes, les monstres et les animaux pas monstres.
Ouais, mais les piments.
Ouais, bah j'ai une belle photo.
Mais tu les prends en photo une fois?
Oui, tu le prends en photo une fois et ça rentre dans l'encyclopédie. C'est
okay,
bon. Oui,
ok,
oui.
Ok.
Tu croises. Et les armes, nous disait Zog. Ça, je m'en fous, je le fais pas. C'est pas intéressant, je préfère prendre en photo des gousses d'ail.
La bagarre.
Duh. Donc quand tu fais pas le Pokédex de Red Dead Redemption 2, tu fais quoi sur ta chaîne?
Ah oui, c'est vrai.
Est-ce que tu réactes
les discussions à tiroir,
les TikTok qui font des millions de vues?
En fait, ce que j'essaye de faire, c'est de parler de mes sujets en live, c'est-à-dire de se dire, par exemple, la dernière vidéo d'Inoxtag, j'ai pas pu faire de live dessus, mais la dernière vidéo d'Inoxtag, il se passe des trucs que je trouve un peu choquants.
C'est quoi le thème pour le contexte? Je l'ai pas vu encore.
En gros, non, il fait une vidéo, ils sont deux duos, ils doivent faire un maximum de défis dans une liste en 24 heures.
Et donc, qu'est-ce qui pourrait mal se passer?
Ça implique notamment d'aller dormir dans les catacombes, ça implique plein de choses, aller faire un DJ set dans une boîte de nuit. Il y avait un des défis, c'était assister à un tournage porno. ils ne l'ont pas fait, mais apparemment un gros producteur de porno les avait contactés pour leur proposer par le passé d'aller voir des tournages, etc. Mm-hmm. Mais ils ont aussi fait des trucs, voilà, notamment on voit Inoxtag avoir des conversations un peu de drague avec une abonnée qui l'a reconnue dans la rue, quoi. Donc je trouve que c'est des choses qui sont matière à discussion.
Oui.
Même si on n'a pas tout le contexte à chaque fois de voilà et tout.
Non, mais c'est bien d'interroger. Voilà. Bah, ce qu'on reçoit, c'est-à-dire la vidéo une fois qu'elle est montée et qu'elle est en ligne, quoi.
C'est ça, effectivement, essayer de comprendre comment ça s'est passé. Puis des fois, bah, il y a des choses qui se passent sur Twitter aussi, il y a des débats qui sont intéressants. En vrai, tous les jours sur Internet, il se passe plein de choses dans le milieu des créateurs de contenu et je trouve ça intéressant de pas juste être en mode Tim Boyd Shape, il a fait de la merde encore, mais essayer de comprendre un petit peu, de remettre en contexte, de faire des parallèles peut-être avec Juju Fitcat qui est aussi influenceuse et sa compagne. Il y a plein de choses, je trouve, à creuser en fait au-delà de la take Twitter dont on pourrait se contenter, quoi. Voilà.
Oui, ou l'idée, c'est pas forcément, encore une fois, de porter un jugement de valeur ou une opinion définitive, mais d'interroger ce moment médiatique et comment les gens le perçoivent et qu'est-ce que ça dit de nos saucisses dans lesquelles on vit. Bonjour, Gwynaman. Cette saucisse était bien sûr une transition au thème qui nous réunit ici ce soir. J'étais contente de moi quand j'ai eu l'idée. Je me suis dit qui je pourrais inviter pour parler de cette saison de Black Mirror. Alors l'évidence c'était Fabrice Florent parce qu'on aime tous les deux beaucoup Black Mirror, mais il est en vacances. Quelle idée. Qui fait ça? Et je me suis dit, tiens, comme il y a un peu des thèmes d'influence, il y a des thèmes de rapport à notre image publique, il y a des thèmes de rapport au streaming, il y a ces nouveaux médias et ces nouvelles très grosses entreprises qui prennent beaucoup de place dans notre espace médiatique et réel. Et bien sûr, les réseaux sociaux, la saucisse et tout. Je me suis dit, pourquoi pas Vincent? Et bah, du coup, ravi que tu sois là pour parler de Black Mirror, saison 6. Mais avant ça, alors, pour l'instant, on va être sans spoiler, ok? On va rien vous spoiler de Black Mirror saison 6. On va vous spoiler le reste de Black Mirror, donc les 5 saisons précédentes. Et je vous donnerai une spoiler alerte quand on commencera à rentrer dans le dur de, là, on parle en détail des épisodes de cette saison 6, puisqu'on va aussi les débriefer un par un, il y en a 5. Donc ça devrait pas nous occuper jusqu'à 4h du matin non plus. Du coup, avant tout, j'aimerais bien te demander, c'est quoi ton rapport à Black Mirror? Est-ce que c'est une série que t'aimes, que tu suis depuis longtemps? Et par rapport à aussi tout ce qu'elle dit, il y a eu des épisodes très centrés sur l'influence, sur le rapport à la self-médiatisation et à romancer sa propre histoire. Est-ce que pour toi, c'est une série qui parle bien des sujets qu'elle aborde?
Alors Black Mirror, effectivement, j'ai découvert, je pense, assez tôt, peut-être pas au moment de la sortie sur Channel 4, évidemment, mais quand ça a dû être diffusé sur France Télé à l'époque, au début des années 2010, donc ça devait être 2012, peut-être 2013.
Avant que ce soit sur Netflix, du coup.
Voilà, c'est ça, bien avant que Netflix récupère le projet. Pour moi, c'était un peu une claque, j'ai envie de dire. Pas tant visuel, mais juste sur le propos, ce que ça montrait. Parce que je consommais pas mal de séries, il y avait tous les Breaking Bad, enfin ça commençait à être vraiment
la prestige TV,
voilà, exactement, l'âge d'or de toutes ces séries là et tout, donc on avait vraiment de la qualité et de la qualité de séries modernes, vraiment actuelles. On n'avait pas à se replonger forcément dans à la Maison Blanche ou
les Sopranos,
ça a fini en 2001, je crois, ou non, je sais plus. Enfin, il y a
Je suis pas une Soprano girl, voilà, mais en gros les séries en 4 tiers, quoi. Format écran cathodique.
Ou
qui
les
sont
séries,
très
22 épisodes, 40 minutes, etc. Où c'était vraiment long. Et effectivement, Black Mirror, ça arrivait comme un truc très edgy, très piquant, très british en vrai, et ça changeait justement des séries américaines où il y avait déjà juste un cadre différent, une image différente,
c'est la même chaîne qui avait produit Misfits, qui était une série de super-héros adolescents britanniques.
Que j'aimais beaucoup.
Très impertinente.
J'ai lâché au bout d'un moment, mais...
Ça a peut-être duré un peu trop longtemps.
Ouais.
Mais ça proposait des trucs, et surtout maintenant qu'on a vécu toutes ces, je sais pas, 18 phases du Marvel Cinematic Universe qui ont normé de foule le milieu super-héros. C'est marrant de re-regarder Misfits. Et je trouve ça a toujours une bonne gueule. Ouais. Donc il y avait ce côté un peu punk de Channel 4 aussi, qu'on sentait dans Black Mirror.
Et puis l'aspect british, il y avait Skins aussi.
Ah, de fou.
En fait, c'était un peu comme les séries nordiques. Il y avait un truc genre, ah, ça va être différent. Ah, ça va être vraiment une expérience à part et tout. Et en plus, Black Mirror, on va en parler, mais le tout premier épisode, c'est un épisode très choquant, enfin
inoubliable.
Dans le, ça pousse la satire ultra loin. C'est crade, c'est choquant. Et puis bon, moi j'avais déjà une vingtaine d'années, mais je pense que ça faisait partie de ce truc genre waouh, je regarde quelque chose de différent quoi. Je regarde, c'est pas Dolmen sur TF1 quoi.
C'est un peu Dolmen.
C'est, ouais, voilà, ouais. C'est pas Dolmen. Et pour moi, c'était, ouais, je garde un souvenir assez choquant. Et ce truc de se dire, après, déjà à l'époque, je me disais un peu genre, ouais, il y a un, enfin, je disais pas encore boomer, mais il y avait un côté un peu genre, ouah, la technologie. Moi, j'adorais la technologie déjà de base. Donc, je me reconnaissais pas forcément dans les discours.
Oui, mais tous les, pendant au moins 3 saisons, tous les épisodes de Black Mirror finissent sur, ça finit mal. T'es en crise existentielle à la fin, ouais. Voilà, jusqu'au milieu de la saison 3, qui est San Junipero, qui est peut-être le premier épisode, ouais, de Black Mirror qui finit bien.
Ouais, ouais.
Et où, t'as, en fait, je trouve le propos n'est jamais technologie bad, et il faut revenir à avant, on jouait avec un cerceau et on se parlait, mais c'est, les humains vont trouver la dérive dans n'importe quelle innovation, mais du coup, ça faisait pas rêver sur la tech, quoi.
Ouais, ouais, c'est ça, ça faisait pas rêver, mais en même temps, c'était difficile de pas être fasciné, je pense, un petit peu par ce que ça proposait dans ce contexte sériel là, quoi. Enfin, et puis c'était un épisode, une histoire, quoi. Aussi, ça, c'était,
oui,
c'était quelque
ce
chose.
Ce format anthologie, c'était assez rare à l'époque,
ouais,
hein,
ouais, ouais.
Parce qu'il y avait pas encore eu American Horror Story et tout,
ouais,
qui était quand même en plus une saison entière. Donc c'est pas un épisode à l'autre est totalement différent.
Puis là, c'était 3 épisodes, c'était impactant. Enfin, il y avait un côté genre, ok.
Mais la télé britannique, ils aiment trop faire ça. On donne 3 épisodes et après, dans 8 ans, tu sais, t'es là.
C'est
d'accord.
Clair.
J'ai suivi Sherlock, ok? On
c'est
était ensemble.
J'ai un petit trauma ouais. Sherlock.
Mon chat s'appelle Moriarty, c'est pas pour rien.
Mais ouais, c'était un peu ça, mes souvenirs à l'époque, ouais, comme une série qui changeait les choses. Mais bon, voilà, après, c'est devenu très.
Ouais, au niveau du passage sur Netflix et du côté. Plus, ou alors Black Mirror est devenu plus grand public, ce qui en soi est cool, que plein de gens découvrent une série chouette, mais a eu aussi des saisons plus longues, avec plus d'épisodes, du coup, bah, potentiellement plus d'épisodes mauvais aussi. Ouais. Je pense que statistiquement, il y a peu de très mauvaises saisons de Black Mirror, mais il y a quand même des épisodes qu'on peut considérer comme ratés. Après, tout le monde n'est pas d'accord sur c'est lesquels les ratés,
ouais,
donc ça, c'est aussi subjectif. Tu penses quoi de Black Mirror depuis que c'est, donc les 2 premières saisons étaient sur Channel 4? Jusqu'à White Christmas, c'est l'épisode de Noël avec John Hamm et l'introduction de ce concept des cookies, qui sont un double mental de toi qui vit dans le cloud et qui du coup peut vivre éternellement. Et après, à partir de la saison 3, c'est passé sur Netflix. Et on est passé à 6 épisodes pendant 2 saisons, puis 3 épisodes et Bandersnatch au milieu.
Ouais.
T'as senti la diff quand c'est passé sur Netflix?
Oui, bah l'image, juste ne serait-ce que le grain de l'image, ce genre de choses, effectivement, tu sentais que c'était d'autres caméramans, c'était d'autres équipes de prod derrière, c'était d'autres enjeux. Et puis les diffuseurs, c'était Netflix qui a représenté quand même le mal incarné quand il fallait quand on pensait nouvelles technologies. Moi, je m'en rappelle très bien.
Moi, à l'époque, non. J'ai l'impression qu'à l'époque, c'était plus Netflix, enfin un service qui nous donne autre chose que Dolmen à regarder,
j'sais pas,
et pas Netflix qui a pompé toutes les IP toutes les propriétés intellectuelles du monde et qui fait Shadow and Bones saison 8, tu vois.
Bah moi, je me rappelle du lancement. C'était 2014 en France. C'était quand même perçu assez bizarrement parce que en fait c'était surtout c'était plutôt que je pense que le catalogue paraissait un peu fin à l'époque. Ils avaient Orange is the New Black déjà qui cartonnait bien.
Et House of Cards.
Oui, voilà, House of Cards évidemment. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup de gens qui misaient pas forcément beaucoup sur Netflix et sa durabilité en France, quoi. Et
oui, c'était plus le truc où tu vas revoir des trucs que t'as bien aimé ailleurs.
Ouais.
Donc un service de replay, quoi. Une prod Netflix, trop bien.
Et puis je trouve que effectivement dans l'esthétique même des épisodes, ça avait un peu changé, ça a changé de cadre. Enfin, les épisodes commençaient à être tournés un peu aux États-Unis ou dans d'autres coins, mais c'était
un
peu.
Oui, il y a Tom Pouce qui dit ça s'est américanisé sur Netflix,
ouais.
Y compris au niveau du casting, qui était quand même très britannique dans les 2 premières saisons, et où.
Je vais tousser, attendez.
C'est permis.
Pardon.
Et où déjà sur Netflix, on a, je pense, des acteurs et actrices plus connus. Alors, on a eu le spécial avec John Hamm qui était encore avant Netflix, mais je pense qu'on a des acteurs et actrices un peu plus connus et beaucoup plus souvent américains ou américaines.
Ouais.
Donc, ça change aussi de ce côté, comme tu disais, la télé britannique a une patte que la télé américaine n'arrive pas forcément à reproduire, quoi.
Ouais, bah il y a toujours ce truc. En fait, même si on compare des séries, je pense comme Skins et Euphoria, qu'on peut comparer d'un point de vue
bah, les thématiques
d'adolescents perdus. C'est pour peut-être des jeunes de cette génération, des jeunes d'aujourd'hui, ce que Skins a été pour nous, quelque chose qui paraît tout. Bah en fait, enfin je vais mal le dire, mais dans les séries britanniques, il y a un côté crade, tu sais,
il y a un côté réaliste,
brut. Voilà, c'est ça. Juste dans l'image et tout. Et alors dès que c'est passé sur Netflix, c'est devenu très léché, très.
Mais tout le monde est ultra BG, tu vois. Dans Skins, oui, les ados, on dirait des
c'est
ados.
Ça, exactement.
Dans Euphoria, Jacob et Lordi, ou je sais pas, il ressemble. Enfin, il est taillé comme un frigo, le
alors
gars.
Alors qu'ils sont censés avoir 17 ans, voire 16 ans.
Oui.
Moi,
t'as Zendaya,
à 17 ans. Enfin bref, j'ai rien. Enfin, j'ai pas Jacob non plus. Mais ce que je veux dire, c'est. Je portais
des robes sur des jeans et j'avais une frange pas droite, tu vois. Enfin,
ouais.
Ça ressemblait pas à ça, quoi.
C'est qu'un truc qu'on retrouve un peu plus dans Sex Education, un petit peu, même si je trouve que c'est quand même très, très léché, quoi. Ils vont plus prendre des acteurs ultra BG et les rendre un peu moins stylés.
Ouais, mais tout le monde est beau gosse de fou, quand même.
Ah oui, voilà.
C'est bon.
Mais bon, enfin bref. Et donc, ouais, Black Mirror, effectivement, je pense que j'ai déjà senti un petit peu un décalage là-dessus. Peut-être qu'aussi, je pense que Netflix, j'étais un peu genre, ouais, à voir et tout. Et puis surtout que quand c'est arrivé sur Netflix, moi, je commençais vraiment à travailler sur les sujets de tech, de culture web, de youtubeurs et tout. Donc le discours, je pense que j'ai d'un côté, j'avais l'impression des certains épisodes de voir des unes de l'Express, quoi. Cachez vos enfants, cassez vos téléphones, machin, etc. Donc voilà. Mais après, ça restait des objets, quoi. Ça restait un événement.
Ouais, il y a toujours une proposition et il y a toujours la force du concept de qu'est-ce qu'ils vont inventer dans le prochain épisode, tu vois. Et je trouve que un des regrets que j'avais eu avec les saisons plus longues sur Netflix, c'est que du coup, il y avait plusieurs épisodes qui réutilisaient ce truc du cookie, du double mental de toi, parce que l'épisode avec Miley Cyrus, c'est ça. L'épisode White Bear, on lui lave le cerveau, mais il y a un peu de ça. Enfin, j'avais l'impression que du coup, il y avait moins le côté qu'est-ce qu'ils vont nous inventer, parce que j'étais là, vous avez pas inventé un nouveau truc. Et pour moi, ça fait partie de l'attrait de Black Mirror, c'est quelle nouvelle technologie ou quelle nouvelle utilisation d'une technologie qu'on a déjà, ils vont nous présenter pour nous faire réfléchir. Et là, bah, on en parlera, mais dans cette saison, il y a peu de nouvelles technologies et ça m'a un peu manqué ce côté un peu monts et merveilles de qu'est-ce qu'on va inventer demain, quoi. Tu vois, il n'y a pas un épisode sur le Apple Vision Pro.
Ou sur TikTok.
Oui, carrément.
Tu vois, il n'y a rien.
C'est vrai, il n'y a pas grand-chose sur les réseaux sociaux là-dedans.
Mais ça, je pense, après, c'est bon, la personnalité de Charlie Brooker, elle est particulière, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a fait
des choses...
C'est
donc le créateur et showrunner de Black Mirror.
Je trouve qu'il a fait des choses super. On pourra parler peut-être de Kunk on Earth, où il écrit... c'est une série qui est dispo depuis pas longtemps sur Netflix.
Ah bah écoute, j'ai pas les bails, donc
Où je trouve l'écriture hilarante. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est pas énormément consommateur. Enfin, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va regarder la télé et qui va voir les réseaux sous le prisme de la télé ou d'une culture mainstream et derrière va aller chercher des angles, va aller chercher des débuts d'idées et tisser ses scripts, ses scénarios à partir de ça. Donc je m'interroge un petit peu là-dessus, effectivement, où je sais pas, moi si on fait une série sur effectivement les usages et les dérives d'un réseau social, j'ai envie que la personne elle ait poncé l'algo TikTok jusqu'au bout, quoi. Tu vois,
qu'elle sache vraiment de quoi elle parle.
Ouais,
au lieu d'avoir
voilà. Après, encore une fois, j'ai pas lu un milliard de choses sur Charlie Brooker et sa façon de procéder, mais des trucs un peu d'interview que j'ai vu, c'est il pioche un petit truc là-bas dans une série Apple TV qu'il a vu, puis là et puis là. Donc ouais, je suis un peu mais bon, après je suis peut-être pas le public cible, hein, c'est peut-être des gens qui justement consomment les réseaux via la télé, via d'autres prismes, et qui eux doivent y voir des dénonciations satiriques folles, voilà.
Bah, j'ai pas l'impression que Black Mirror c'est une série de boomers spécialement, tu vois. Je pense que c'est plutôt une série de cool kids et de gens qui s'intéressent un peu à la tech. C'est un peu de bon goût de dire que c'est devenu la série On vit dans une saucisse, et c'est un peu vrai aussi. Ouais. Mais alors, je sais pas à quel point ce live va marcher, je sais pas à quel point les gens se sont passionnés pour cette nouvelle saison, mais pour moi, une nouvelle saison Black Mirror, c'est toujours un petit événement, ne serait-ce que parce que là, ça fait un moment, et alors j'ai cru comprendre, il a dit en interview que Charlie Brooker a très mal vécu le Covid, les confinements, et que c'est une des raisons pour lesquelles on a attendu longtemps, au-delà des problématiques de prod, c'est... En fait, je vois pas quoi. Je suis pas sûre que le monde a besoin de Black Mirror en ce moment, et je vois pas quoi raconter. Enfin, on a aussi, on sort de Trump, on sort de choses qu'on osait. Enfin, ou même lui, il est un peu à court d'idées. Et on verra en parlant de cette saison 6 qu'on est sur des idées différentes par rapport à ce qu'il a pu faire dans les saisons précédentes. Mais pour moi, Black Mirror, c'est toujours, et ça, cette saison m'a pas fait changer d'avis. S'il y a une saison 7, on en parlera peut-être à la fin. Est-ce qu'on imagine une saison 7? Je regarderai toujours, parce qu'il y a toujours un truc où je me dis. Il y a aucune autre série télé qui va me proposer un épisode avec deux gars dans l'espace dans les années 60 et la suite qui se passe. Il y a aucune série télé qui va me proposer un épisode 1 avec un premier ministre qui baise un cochon en live sur internet. Enfin, c'est juste, ça a le mérite d'au moins proposer des trucs qu'on voit pas ailleurs et de dans cette saison de prendre le pari de se réinventer, ce qui est risqué aussi.
Oui, et puis de faire partie de la discussion. Parce que je veux dire, c'est comme Stranger Things, il y a des séries comme ça qui, même si c'est pas forcément les meilleures séries, celles qu'on recommanderait en premier, genre de choses, c'est des séries qui vont créer de la discussion. C'est des séries.
Alors ça,
qui,
je fais pas. Tu vois, pour moi, Stranger Things, c'est pas au niveau qualitatif suffisant que je me l'inflige.
Parce que tu vois, moi, la dernière partie qui est sortie, après avoir été saoulé par ce qu'il y avait avant, j'ai trouvé des trucs 4, intéressants. Je crois que c'est la première partie de la. Tu sais, maintenant, Netflix, ils font saison 2, livre 4,
J'en en épilogue, peux plus. Peut-être.
Je n'en peux plus. Oui. C'est pas une thèse.
Lupin partie 2, j'étais là.
Oui.
C'est une saison. Hein,
livre. Là. Livre 2. Arrêtez.
Dites des saisons. On est ensemble. On sait ce que ça veut dire.
Mais donc voilà, je pense que aussi, ouais, Black Mirror, effectivement, je suis d'accord avec toi. S'il y a une septième saison, on continuera à en parler parce que. Mine de rien, c'est des choses qui créent un peu l'événement, quoi. Et puis sur lequel Netflix surfe énormément en termes de com, quoi.
Oui, et un truc qu'on peut pas retirer, c'est que malgré des épisodes qui sont inégaux, il y a toujours au moins un truc, que ce soit un casting au top, une réalisation hyper intéressante, ou des réalisateurs et réalisatrices bien choisis, une direction musicale ou artistique qui... Alors, à un moment, t'as dit... Black Mirror, à défaut d'être beau, c'était en tout cas provoquant au début. Alors le premier épisode n'est pas spécialement beau parce qu'en plus il se passe en époque contemporaine, donc c'est vraiment notre monde avec tout ce qu'il a de un peu grisâtre. Mais le deuxième, 15 Million Merits, qui est donc l'épisode des vélos, qui est hyper futuriste, où c'est des gars qui pédalent sur des vélos, qui vivent dans des cubes couverts d'écran, où s'ils ferment les yeux la pub elle s'arrête et tout. Pour moi, visuellement, il t'amène un truc pour une série qui a pas un énorme budget sur une chaîne britannique dans les années fin des années 2000-2010, tu vois. Donc il y a toujours un truc à trouver dans Black Mirror. Donc je pense que je te rejoins, j'ai à peu près le même rapport. J'ai regardé avant que ce soit cool. Je suis tombée dedans, mais genre j'ai bingé les deux premières saisons. Donc j'ai fait les 6 épisodes à la suite. Je crois que je bossais le lendemain, j'ai fait nuit blanche. Enfin, je bossais déjà chez Mademoiselle. Et genre le lendemain, j'étais là, j'ai fait un article sur Black Mirror, c'est fou.
Oui, mais je
et j'arrivais pas à m'arrêter. En partie à cause de ce truc de qu'est-ce qu'ils vont inventer dans l'épisode suivant, tu vois. Et de cette angoisse existentielle qui me lâchait pas et où j'étais là, autant aller au bout maintenant qu'on y est. Donc je ne conseille pas le binge de Black Mirror. En fait, comme c'est anthologie, je pense que c'est très bien de d'attendre, et j'aurais aimé que ça sorte toutes les semaines, en fait, cette saison, tu vois. Je pense que je reviens de plus en plus du format binge, ça me... à part pour les télé-réalités de merde genre Selling Sunset que je regarde, je suis vraiment en mode tout est mieux en hebdo. Ça laisse le temps d'en parler, de réfléchir et tout. Mais voilà, il y a toujours quelque chose à trouver dans Black Mirror. Et on va parler, avant de parler de Black Mirror saison 6, je t'ai proposé de faire un petit top 3 de tes épisodes préférés de Black Mirror all time.
Ah, un top 3? Moi, je les ai tous classés.
Incroyable. Alors, du coup, Vincent va vous faire un top. Attendez, il y a beaucoup
top
de saisons.
Top 40.
Un top 40 et moi j'ai un top 3.
Non,
on pourra débattre.
Non, en vrai de vrai, non. Enfin, il y en a certains que j'ai pas classés, mais si j'ai.
Le mec est plus pro que pro. C'est incroyable.
Non, mais j'ai vraiment.
Ouais.
J'ai pris des petites
Quelle
notes
bonne
et tout.
Quelle bonne élève. Voilà.
Non, mais alors attends, tu veux mon top 3 dans quel ordre?
Alors, je pensais qu'on ferait nos trois préférés, numéro 3, numéro 2, numéro 1, le 1 étant notre préféré all time.
Ok.
Mais vu que toi, t'as un top 28, peut-être toi, tu peux faire un top 5 et à partir du top 3, je te join, tu vois. Donc...
Ouais, bah, peut-être, c'est vrai, parce que peut-être que c'est des épisodes dont tu parleras pas, mais je pense qu'ils méritent d'être signalés. Surtout qu'effectivement, je me rends compte que le top 5, c'est vraiment des épisodes, je pense, qui ont marqué, enfin, bref, enfin tu me diras. Mais en tout cas, en 5, j'ai mis White Bear, Donc c'est cet épisode où il y a une femme qui est pourchassée, qui comprend pas pourquoi, on se rend
elle se réveille dans un genre de ville déserte.
Voilà.
Il y a des gens qui la filment. Alors on va vous spoiler tout jusqu'à la saison 5 comprise.
Voilà,
pas les épisodes qui viennent de sortir, okay, ça vous fera une alerte. Mais oui, on va vous spoiler les 5 saisons d'avant de Black Mirror. Et là, on est saison 2, épisode 2. Donc ça commence à, il y a prescription quand même, ça commence à dater. Voilà, mais on va spoiler tout Black Mirror jusqu'à la saison actuelle.
Donc
c'est une meuf qui se réveille. Et il y a plein de gens qui la filment.
Ouais, qui la poursuivent. Et elle comprend pas du tout pourquoi. Et effectivement, à la fin, on se rend compte que c'était toute une mise en scène télévisuelle. Et que elle avait été condamnée pour le meurtre
d'un enfant
et de son mari, ou d'un enfant kidnappé, enfin vraiment un truc assez dark. Et il y avait tout un effet de mise en scène, et c'est un épisode de le deuxième de la saison 2, et je pense que mine de rien j'ai dû le voir pas longtemps après la saison 1, enfin je sais pas, ça m'avait pas mal marqué, ce truc de retournement. C'est une époque où les épisodes de Black Mirror, le cliffhanger de fin marchait bien encore, tu vois. Il y avait un truc, tu dis, ah ouais, comment ils vont
parce
s'en sortir, où est-ce que ça va.
La meuf, elle est amnésique, donc dans son châtiment, il y a tous les soirs, il lui lave il lui efface la mémoire, et tous les matins elle se réveille dans cette ville, et en fait le fait d'être en panique fait partie du châtiment. Mais du coup la question que pose l'épisode, c'est est-ce que c'est vraiment une justice, est-ce qu'elle va apprendre, si littéralement, enfin à quoi ça sert, à part à juste la punir. Et il y a un spectacle, il y a des gens qui viennent en famille, même, je me souviens, la filmer et tout, donc ça rappelle même des vrais trucs où les gens allaient voir des exécutions ou des lynchages et tout. Ouais. Donc à quoi ça sert, cette justice, si c'est pour punir une meuf qui comprend pas pourquoi on l'a punie, et tourner en spectacle la souffrance de quelqu'un, quoi.
T'en parles trop bien.
Merci. Ça fait grave réfléchir, cet épisode m'a traumatisé. Il est pas dans mon top, mais j'ai hésité, il était pas loin.
L'épisode que j'ai mis en 4, j'ai mis Black Museum.
Ah yes.
Alors c'est assez particulier, en fait c'est une jeune femme qui en roulant arrive sur une station essence et voit de l'autre côté de la route un musée qui s'appelle Black Museum. Elle rentre dedans et en fait elle rencontre le propriétaire, qui est un gars qui lui raconte un peu des petites scénettes, des histoires dans lesquelles il a été impliqué avec de la technologie, où en gros tu te rends compte que ce gars-là via la technologie dans son passé fait subir beaucoup de choses à beaucoup de gens, avec parce que ce musée rassemble des objets qu'en plus on voit dans d'autres épisodes de Black Mirror.
Oui, donc moi je l'ai résumé en c'est le musée Black Mirror.
Ouais, c'est
un truc
le musée Black Mirror, c'est un truc
auto-référencé. Là on est saison 4 épisode 6,
oui,
donc
ça,
on commence à être plus avancé, et la série
Netflix,
s'interroge sur elle-même aussi après deux longues saisons sur Netflix qui ont été, comme on l'a dit, peut-être plus inégales, quoi.
Et le cliffhanger, c'est qu'on se rend compte que la visiteuse, c'est la fille d'un homme qui a été condamné à mort et qui aurait pu être sauvé par le propriétaire avec l'aide d'une technologie quelconque, je me rappelle plus exactement, et qu'en fait elle vient en gros le venger, quoi. Ça finit avec le musée en flammes. Enfin, il y a un truc un peu de vengeance que j'aimais bien, un petit peu
Un peu tarantinesque.
Ouais,
un peu
exactement.
Tu crois que c'est une innocente visiteuse qui est même peut-être un peu en danger dans ce musée bizarre, et en fait elle sait exactement où elle est, et elle vient. Et il y avait toujours cette histoire de cookie, de en gros il y a un double un mental virtuel, je sais pas, de son père qui revit encore et encore son exécution, et les visiteurs peuvent l'emporter en porte-clé.
Oui,
l'homme qui la douleur de l'homme qui vit son exécution, genre au Charlie Brooker, ça va très mal. Et la go détruit tout ça, donc elle libère aussi, c'est un peu comme libérer un fantôme, tu vois, elle le libère de cette prison perpétuelle post-mortem, parce qu'il est mort en plus dans la vraie vie, mais c'est son double qui lui continue à traverser ça, et elle part, elle laisse le gars mourir dans son truc en flamme, je crois, où elle électrocute le gars qui a fait ce musée et qui a donc tué son père, l'a laissé mourir, et elle garde en porte-clé ce gars-là, sa mort à lui, tu vois, sa vengeance à elle. Enfin, c'est très méta.
C'est très très méta. C'est très difficile à résumer, mais encore une fois, bravo.
On part du principe que si vous êtes là, c'est que vous connaissez un peu Black Mirror, et visiblement dans le chat, oui, puisqu'on a de l'enthousiasme pour White Bear et pour cet épisode qui installe un univers Black Mirror, comme dit Chino.
Ouais, White Bear, effectivement, les gens ont l'air d'avoir bien aimé. Mon top 3, alors peut-être que tu veux dire ton 3.
Ok, alors mon 3, c'est The National Anthem, c'est l'épisode 1 avec le cochon.
Moi je l'ai mis en 2.
Ok,
voilà,
on va en parler du coup assez facilement. Pour moi, c'est impossible de pas le mettre parce que c'est le premier et que j'étais vraiment en mode.
J'ai jamais vu ça.
What the fuck? Genre, et je trouve qu'à ce moment-là, c'est un épisode qui était extrêmement actuel et que cette question, pour moi, l'épisode, donc c'est l'épisode où le premier ministre britannique est confronté à, il y a une jeune femme de la famille royale qui a été kidnappée par on ne sait qui, et la rançon que la personne demande pour ne pas la tuer, c'est que le premier ministre ait une relation sexuelle avec un cochon devant, en direct, à la télé. Et bah, après moult altérés, le premier ministre, il dit, bah, je vais le faire parce que sinon elle va mourir. Enfin, j'ai pas vraiment le choix. Et tout le monde lui dit, oui, t'inquiète pas, les gens, ils sont, enfin, on va tous faire comme si c'était pas arrivé. Du coup, bah, ça se passe, quoi. Et en fait, pendant que ça se passe et que la nation est rivée à la télé, parce que, en fait, évidemment, tout le monde regarde, le gars libère la princesse. Donc, en gros, enfin, il aurait pu s'arrêter n'importe quand. Et c'était un genre d'artiste qui voulait commenter sur la, d'artiste fou qui voulait commenter sur la saucisse dans laquelle on vit, où les gens vont regarder ça à la télé. Parce qu'en soi, si le premier ministre avait confiance dans personne va regarder, bah, c'est bon, il le fait. C'est horrible à faire, mais il le fait, quoi. Mais évidemment, il y a des gens qui vont regarder. Et du coup, pour moi, l'épisode, il posait la question de, je me souviens qu'à l'époque, c'était François Hollande, je crois, le président, quand je l'ai regardé, j'étais là, si demain, François Hollande, il baise un cochon en direct à la télé pour sauver, je sais pas qui, tu vois, qui non a mais, été, pour alors, sauver, pour sauver Teddy Riner qui a été kidnappé, Thomas Pesquet qui a été kidnappé, je suis là, bah, il va mourir. Marie Kigaï, bonjour, dans le chat! Enfin, je suis là, le gars, il va, c'est pour sauver une vie, tu vois, à la limite, on s'en fout la vie de qui, mais je suis là, bah, est-ce que je regarde? Et j'étais là, j'ai envie de me dire que non. Mais j'ai douté. Et je me suis dit, je suis obligée de parler de l'épisode qui m'a fait douter de ça, tu vois.
Non, puis je me rappelle très bien de ces images où effectivement, c'est quelqu'un dans le chat qui disait, on ne voit pas la scène du tout.
Oui, on voit rien.
Mais on voit le regard des gens qui regardent la scène.
Oui.
Et moi, je trouve ça génial. Enfin, génial. Je trouve ça très malin. Et on réacte aux gens qui réactent. Enfin, il y avait un truc. Parce que nous-mêmes, on regarde un épisode qui est dérangeant. De gens qui regardent un truc qui est dérangeant. Enfin, il y avait. Et en fait, après, il faudrait que je le revoie. Je l'ai pas revu depuis des années et des années.
Moi non plus, j'avoue.
Peut-être qu'il a mal vieilli. Peut-être
j'ai rarement eu envie. Oui, pas, bah. Genre, tu te dis rarement.
je me remets cette petite dose de malaise, là. Mais non, mais. Peut-être que, voilà, peut-être que ça a mal vieilli. Mais en tout cas, à l'époque, jusque-là, j'avais pas une culture série non plus incroyable. Et. J'avais jamais vu quelque chose comme ça. Et je pense que n'importe qui à l'époque peut pas dire ah si j'ai déjà vu.
Lost l'avait fait en premier. Non, Lost l'a pas fait. Le premier ministre baise un cochon à la télé en direct. Personne n'a fait ça. Et en plus, c'est un épisode qui est devenu légendaire de par David Cameron, où il y a eu plus tard,
un
scandale comme quoi pendant un de ces trucs chelous de fraternité d'étudiants bourges britanniques là, les lords, un des bizutages entre guillemets qu'il avait eu à faire avait été de. Alors, c'est pas avoir une relation sexuelle avec un cochon, mais il y avait un cochon mort, une tête de cochon, comme on peut avoir un cochon rôti, et il aurait mis son pénis dans la bouche du cochon mort. Donc, il y a un truc d'anticipation. Attends. De la blague, on vit vraiment dans Black Mirror. Enfin, là, c'était genre le premier ministre britannique a vraiment mis son pénis dans un cochon. Cette phrase est réelle dans Black Mirror et dans la réalité véritable. Donc, c'est inoubliable.
On vit dans une saucisse.
On
saucisse
vit dans
de
la
porc.
Pire saucisse. Et attends. Est-ce que t'as un article?
Oui, j'ai un article. J'ai un article que j'avais fait sur Cameron.
Attendez, je vais le trouver comme ça, je vous le mets dans le chat.
Si tu tapes mon blaze slate.fr et cochon.
Vincent, j'adore cette phrase.
Voilà,
j'ai
le titre.
Slate cochon.
Vous voulez que je vous lise le titre?
Vas-y.
Alors, vous êtes pas prêts, hein. Parce que vraiment, j'ai fait du travail d'enquête. Attends, dis-moi, tu vas le lire et après tu me dis si je peux le dire parce qu'il est quand même un peu hard.
Oui, vas-y, hein.
Alors, ok. Contexte.
Je vous mets le lien dans le chat, comme ça, vous l'avez.
Contexte. Donc, le Peak Gate, hein, ça s'appelait le Peak Gate avec Cameron, sort. On est en conférence de rédaction et je sais plus qui, je veux pas dénoncer, je veux pas dire. Il dit, mais est-ce que c'est illégal de faire ça? Est-ce que c'est illégal de faire
ça avec
un
cochon? Il n'y a
pas de
question bête. Ça veut pas dire qu'il a envie de le faire.
C'est... Moi, jeune journaliste en contrat CDI depuis quelques semaines à peine.
Bravo pour ce CDI dans le journalisme, déjà.
Déjà,
c'est rare.
Que j'ai perdu parce qu'il y a eu un changement d'actionnaire et ils nous ont mis à la porte. J'adore. Allez, close de session, là. Allez. et donc, je me retrouve à faire un article. Et après, il faut que j'aille en repas de famille avec mes parents et leur dire, Vincent, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Eh ben, l'article que j'ai fait, c'est Peak Gate, est-il légal d'introduire son pénis dans la gueule d'un cochon mort? Et je vous jure, j'ai fait une enquête. Un papier long.
Mais il est long?
Ben, je suis allé voir l'article 225-17 du code pénal. Hein.
Extrait, on le voit, la zoophilie, parfois également nommée bestialité, pour nos voisins québécois peut-être, est clairement interdite. En revanche, il est très difficile de lire dans ces lignes ce qui survient quand l'animal est mort. Voilà. Et ça, autour de, du gigot d'agneau de mamie, voilà. Bah, c'est sympa.
C'est un super sujet de discussion. Voilà.
Voilà, Chino dans le chat dit voilà de l'investigation.
Bah, énorme enquêteur.
Voilà, soutenez les journalistes indépendants.
Putain, j'avais oublié ça, mais ça m'a... Faire cet article, ça m'avait trop mal.
Mais moi, chez Mademoiselle, j'ai écrit des articles avec des titres premiers dog de type « Non, se mettre un nid de guêpe dans la chatte n'est pas une bonne idée », tu vois. Incroyable. Je suis là, mais Internet a fait de nous des choses qu'on n'avait pas prévues, c'est tout, c'est ce qui se passe.
Mais en même temps, c'était une époque un peu bénie parce qu'on se disait « Ah, mais là, le journaliste, ça peut être plein de trucs ».
Ouais.
Et vraiment, moi, je me rappelle d'articles. Un des premiers papiers que j'avais fait chez Slate, c'était quand Albert II de Monaco, c'était sa compagne, j'ai oublié le nom de sa compagne.
J'ai envie de dire Stéphanie, mais c'est pas elle.
Non, mais sa compagne était enceinte.
Pas bonne en famille royale.
Sa compagne était enceinte de jumeaux. Et la question que s'était posée, c'est s'il y a une césarienne, est-ce que c'est l'accoucheur qui décide de qui est l'héritier? Et j'avais fait un papier là-dessus.
Mais c'est trop des bonnes questions.
C'est trop des bonnes questions. Mais il fallait
Charlène.
Faire. Charlène, exactement, voilà. Merci.
On l'embrasse. Elle viendra bientôt sur cette chaîne. Oh, imagine, elle vient parler de The Crown. Incroyable ou pas?
Ouais, grave. Mais bref, voilà. Le journalisme, des fois, c'est quand même rigolo.
Pour cette investigation sur les premiers ministres qui mettent leur pénis, du coup, dans des animaux. Vivant ou mort, c'est pire quand il est vivant, quand même, j'ai envie de dire. Sur le papier. C'est quoi ton top 3, du coup? Moi, mon top 3, c'était The National Anthem. Toi, c'est ton numéro 2.
Ouais.
Vas-y, dis ton 3. Et après, je dirai mon 2. Comme ça, on sera bien.
Mon 3.
Ouais.
C'est Be Right Back.
Ah, c'est mon props.
Ah ouais?
C'est mon top 1 forever. J'adore souffrir, Vincent.
Ouais, c'est.
Je suis une grosse émo.
En fait, ce qui est fou, c'est que là, la technologie, bon, elle est présente, mais c'est pas ça qui compte, en fait. C'est la mémoire, c'est le deuil, c'est tout un tas de trucs comme ça qui te travaillent et c'est l'intime.
C'est
comme l'horreur. Moi, je suis pas un fan de films d'horreur, mais des séries comme The Haunting of Hill House ou même, enfin, toutes les séries de ce créateur.
Mike Flanagan.
Voilà.
Bientôt, La Tour Sombre de Mike Flanagan, la série adaptée de la saga de Stephen King, qui est la seule occasion qu'on va avoir que ça soit bien. On compte sur toi, Mike. Ne me déçois pas.
Mais c'est un gars que je trouve passionnant. Ben, dans ces séries, c'est pas vraiment de l'horreur visuelle, etc. C'est de l'horreur émotionnelle, je dirais.
Ouais. Psychologique et émotionnelle. Et sur le trauma et comment
ça s'imprègne. Voilà, les fantômes, tout ça. Et là, je trouve il y a un truc similaire, c'est-à-dire comment tu fais le deuil. En fait, ça adresse des questions tellement intimes. Avec
c'est
un contexte technologique, et moi j'ai trouvé ça c'est déchirant comme épisode. Les acteurs sont vraiment excellents. Peut-être raconter l'histoire, comment
on va faire un point contexte,
rapidement.
Bien sûr. Be Right Back, saison 2, épisode 1. C'est un jeune couple qui emménage à la campagne. Il est très beau, il est roux, je l'aime tellement. Elle est très jolie, elle n'est pas rousse, elle est enceinte. Ils viennent d'emménager dans la maison de ses parents à lui, je crois qu'il a perdu le dernier parent qui lui est resté. Ils sont vraiment à la campagne et ça a l'air d'être à notre époque ou dans un futur très proche. Et madame est enceinte, monsieur part acheter, une pizza pour le dîner parce qu'ils viennent d'emménager et il lui dit « Be right back, je reviens » et il se crache en voiture et il meurt. Oh non, horrible! Et à l'enterrement, il y a une personne qui parle à la jeune veuve de un nouveau service qui permet à ce moment-là juste de... En gros, tu lui donnes accès aux data de la personne décédée. Et tu peux... Je crois que au début, c'est
ça
juste un chat écrit.
Ça s'appelle Twitter Blue.
Ça s'appelle créer un compte sur Threads. Je crois qu'au début, c'est juste à l'écrit. Donc la personne chatte avec toi à l'écrit comme si c'était elle. En gros, c'est une IA qui incarne une personne décédée. Et au début, c'est juste à l'écrit. Après, c'est de l'audio. Il se passe des coups de fil et c'est la voix de la personne décédée, c'est son intonation, parce qu'en gros, il a absorbé toutes les vidéos, les audios que t'as pu
lui donner.
Chose
qu'on voit maintenant avec la technologie.
C'est grave actuel comme problématique, de fou. Et là où ça devient vraiment de l'anticipation, c'est sur la phase finale, qui est que tu peux te faire livrer une copie, un genre de clone robotique, un androïde à l'image de la personne décédée. Et t'as donc cette meuf qui vit dans une maison avec un androïde de son mec mort, qui est pas vraiment lui, mais en même temps, c'est ce qui lui reste de lui, quoi. Zobie.
Aïe, les problèmes.
Aïe, yo. Qu'est-ce qui t'a autant plu dans cet épisode? Qu'est-ce qui fait qu'il est.
Bah,
aussi
c'est
haut
ça,
dans
en fait. C'est de me dire que ça peut aborder tellement de sujets avec un cadre ultra sobre. très peu de moyens de prod, en fait. Enfin, il y a pas.
Oui. T'as deux acteurs, une maison à la campagne, villa, quoi.
Ouais, voilà.
Un petit truc
où la technologie est là sans être vraiment là, et où tu sens que la technologie c'est juste un prétexte. Et ça, j'ai vraiment aimé. Ça, c'est vraiment un truc où de me dire, oui, là, on n'est pas là pour avoir des grands discours sur la technologie, etc. On est là pour avoir, essayer d'avoir un sentiment, un propos un peu inspiré sur, effectivement, le deuil, sur le manque, sur les regrets, tout ça. Et ça, ça m'a pas mal touché. Faudrait que je le revoie aujourd'hui, parce que quand je l'ai vu jeune, forcément, aujourd'hui, ça va me parler différemment. Peut-être ça va aller titiller des choses différentes en moi, mais vraiment, ça m'avait... Ouais, je sais pas de toi, mais je... Ça m'a... J'en garde... J'ai des flashs visuels de cet épisode qui sont encore là quand j'y repense, quoi. C'est,
Ouais, moi aussi. Je pense que j'avais déjà... le cast, c'est déjà des gens que je suivais et dont j'aimais beaucoup le travail et dont j'étais un peu in love. Donc, ça a aidé. Mais la thématique du deuil, c'est quelque chose que j'ai la chance de ne pas beaucoup connaître intimement. Tu vois, j'ai jamais perdu de personne très proche. Mais du coup, ça me fait très peur. Et notamment l'idée d'être jeune veuve, tu vois. Et il y a quelques femmes que je suivais sur Internet, des blogueuses ou des influenceuses, etc., qui, ça arrive des fois dans la vie, qui se sont retrouvées ce que j'appelle jeune veuve. Donc juste, tu perds ton conjoint vraiment jeune, quoi. Et ça me terrifie, tu vois. J'étais là, attends, mais quoi, Zobie, quand je pense veuve, je pense toujours à une dame d'un certain âge qui a vécu avec son mari longtemps et tout. Et je pense que c'est un des contenus de fiction qui m'a fait m'identifier à qu'est-ce que ça ferait. Et je trouve que, comme beaucoup d'épisodes de Black Mirror, ça pose la question, et moi, qu'est-ce que je ferais? Et en fait, ce truc de dans les affres du deuil, je trouve que c'est intéressant que le personnage féminin, donc la, celle qui survit, au début, elle veut pas. Elle est vraiment réfractaire à l'idée. Elle dit non, mais c'est quoi ta Zumba? C'est horrible. Elle ne veut pas. Mais en fait, c'est ce gouffre du deuil et de la solitude qui fait que juste pour entendre de nouveau la voix de la personne ou, je sais pas, la serrer dans tes bras une nouvelle fois et tout, bah, t'es prêt à... Ouais. Elle sait très bien que c'est une mauvaise idée, tu vois. Et ça finit mal, entre guillemets, parce qu'elle veut pas s'en débarrasser. Elle sait pas quoi en foutre de cet androïde qui finit tristement à vivre dans son grenier, à l'avoir une fois par an pour son anniversaire. Enfin, horrible, horrible. Et en même temps, je trouve qu'il y avait cette idée de techno expérimental où pour moi, la fin, ce qu'elle dit, c'est que ça s'est jamais généralisé parce que justement, c'est trop jouer avec le feu, tu vois. C'est Il y a des hard limits à l'expérience humaine et la mort, c'en est une. Et si on commence à vouloir jouer avec ça, les gens, ils vont juste devenir fous. Mais... Et il y a deux, trois autres épisodes de Black Mirror qui parle de techno qui ont été abandonnés, notamment Archangel, saison 4, épisode 2. J'en ai pas un souvenir.
Oui, qui était une technologie illégale.
C'est sur les parents hélicoptères, en gros. Donc le fait d'être trop en surveillance et en vigilance de son enfant. Et donc, c'était une meuf qui avait fait implanter une techno expérimentale dans le cerveau de sa fille qui lui permettait de censurer le monde à sa fille. Mais entre-temps, la techno avait été désautorisée. Enfin, ça avait fait un flop, sauf que la gamine, elle faisait partie des quelques-uns qui avaient toujours l'implant. Et je trouve que c'est toujours intéressant aussi cette idée de... Il y a des technos sur lesquels on va revenir tellement... C'est trop. C'est trop loin de la vraie expérience humaine et les gens, ça va juste les faire vriller, quoi.
Épisode que tu, Archangel, que tu cites, qui était réalisé par Jodie Foster.
C'est vrai.
Et bon, effectivement, j'en garde pas un souvenir marquant ou quoi, mais.
Mais très bonne en réel, Jodie Foster.
Bah, on l'aime.
Que ne sait-elle pas faire?
On l'embrasse, bien évidemment.
Elle viendra bientôt sur la chaîne.
Bien sûr.
J'espère.
Je te le souhaite.
My God, I wish.
Écoute, là, attends, c'était quoi? Donc, c'était mon top 2.
Toi, c'était ton 2, moi, c'était mon 1. Du coup, il me reste mon 2. C'est San Junipero.
Ah, bah, c'est mon. Non.
On est bien là. Non, c'est pas ton premier?
Mon premier.
Tu n'aimes pas l'amour?
Attends. Mon premier,
c'est le deuil. Les androïdes morts.
Mon épisode préféré ever de Black Mirror, c'est la vidéo de Cyrus North avec le cyborg.
T'es trop chiant, t'as écrit cette vanne. Je n'ai toujours pas regardé la vidéo de Cyrus North avec le robot sexuel.
On plaisante, on plaisante. Là, on parle de fiction, on parle pas de réalité.
Bien sûr. On ne parle pas de relations parasociales avec des robots.
Non, c'est effectivement San Junipero. Mon épisode 1. Voilà.
Okay. Moi, je l'ai mis en 2 parce que je préfère être triste, visiblement, qu'être heureuse, puisque mon épisode préféré, c'est le plus triste.
Ah, mais il est incroyable.
San Junipero, inoubliable.
Et Mackenzie Davis.
Oui.
Qui était. Enfin, parce qu'il y a une série que. Alors, je sais pas, peut-être que les gens vont. Halt and Catch Fire.
Oui.
En fait, quand je tombe sur quelqu'un qui a vu Halt and Catch Fire.
On est ensemble, mais on est 4.
Oui, c'est ça. on se réunit tous les ans sur le canal.
Il n'y a pas besoin de réserver de place en terrasse, généralement, on trouve.
On ne réserve pas de table, parce qu'on est quatre, de toute façon. Donc,
bon, au pire, on met un tabouret, c'est pas grave, quoi.
Enfin, voilà. Mais non, et Halt and Catch Fire, qui est une série incroyable, dans
avec
laquelle j'ai
Lee
découvert...
Pace.
Voilà, Lee Pace, bref.
Et
Mackenzie Davis qui est incroyable et j'étais trop heureux de la voir là dans cet épisode de Black Mirror qui est incroyable, il y a une esthétique trop folle et je sais pas
Vaporwave de fou,
ouais, voilà.
80s et tous les néons, la plage, les palmiers, déjà t'es là let's go, tu vois, c'est pas le premier ministre qui baise un cochon, là on passe un bon moment, on a envie d'y aller à San Junipero, quoi.
Steel Marty parle de l'épisode que j'ai le moins aimé de tout Black Mirror, qui
sérieux
m'a tellement énervé, genre c'est celui effectivement il
c'est Shut Up and Dance,
voilà, qui prennent du chantage, des menaces, et ça m'a mis mal à l'aise, mais pas de manière positive, enfin je sais pas, bref, je comprends que des gens aient été fascinés par ce truc là et ce coup,
ah ouais,
tout.
Moi je pense qu'il est dans mon top 5.
Ah, moi ça m'a,
parce que du coup c'est, et on revient sur San Junipero, ouais, après, vous inquiétez pas, j'ai l'œil sur l'objectif. Donc Shut Up and Dance, c'est saison 3 épisode 3, donc on est déjà sur Netflix. C'est avec le petit gars de Sex Education d'ailleurs, non, c'est pas lui, il me semble que c'est l'acteur principal de Sex Education.
Ah ouais,
il me semble, non, je peut-être pas, mais en tout cas il lui ressemble, en tout cas c'est quelqu'un, c'est le mec de quelque chose. Et on lui fait du chantage en mode, ouais, on a hacké ta webcam, non, on a ton historique de navigation, de fréquentation de sites porno, on t'a filmé, on a hacké ta webcam, on t'a filmé en train de te branler sur du porno, et du coup, on te fait du chantage et on lui fait livrer des paquets, des machins et tout. Et en fait, pendant tout l'épisode, quand tu regardes, t'es là, mec, au pire, peut-être c'est pas grave, tu vois, genre, t'as été filmé en train de te branler devant du porno, tout le monde le fait. Et il commence à faire des dingueries de plus en plus dingues, et t'es là, mais gars, pourquoi?
The End of the Fucking World,
merci. Ouais. Pardon, c'est pas le mec de Sex Education, mais il se ressemble un peu, genre, Bab tout pâle aux yeux bleus, quoi. Un peu maladif, mais sympa quand même. Et en fait, à la fin, il se retrouve confronté à un autre gars qui est victime aussi de ce système de chantage, et on se rend compte que il a consommé des vidéos pédophiles, et enfin pédocriminels, et que du coup, c'est pour ça qu'il est aussi paniqué à l'idée que ça sorte. Et moi, j'avais trouvé ça trop intéressant. J'étais là. Le twist, parce que pendant tout le long, t'as trop de l'empathie pour lui, de fou et tout. Et je sais que c'est des trucs qui se font, des arnaques à on a hacké ta webcam, à on sait sur qu'on a des nudes de toi et tout. Donc moi j'étais grave dans sa team, j'étais là, mec, c'est pas grave, tout le monde te soutiendra, t'as qu'à admettre que tu t'es masturbé, c'est humain. Et à la fin t'es là, non,
dis-le,
je retire tout ce que je ne suis pas dans sa team,
dis-le que tu t'es décrypté le Hugo.
Tu t'es squeezé le Gotaga comme tout le monde, c'est pas grave. Donc pourquoi tu le détestes ?
Ah mais je sais pas, j'en garde un souvenir de... En fait, c'est parce que j'ai pas aimé être manipulé comme ça par le scénario. En fait,
c'est un peu triché.
Pour moi, c'est un peu triché dans le sens où, en fait, donc t'es à la place du personnage, tu le suis, t'es à fond derrière lui, et pourtant, on va effectivement te masquer ce truc-là. Je veux bien que ça fonctionne, et je comprends totalement les gens qui ont été accrochés, mais moi, j'ai l'impression qu'on m'a... Ouais, pas qu'on s'est foutu de ma gueule, mais qu'il y a
un
truc.
On t'a mené en bateau.
On m'a mené en bateau juste pour ce twist final et te dire, ah, regarde, tu l'as soutenu. Regarde.
Oui.
T'as soutenu un pédophile. Et tu vois, et je suis là,
et
je fais.
En plus, c'est toujours la pire chose, tu vois. C'est genre, eh ben, c'était un pédophile. C'est genre la chose la plus inexcusable de l'univers, tu vois.
C'est le Vine légendaire. Où il y a un gars, il a un panneau, il y a marqué rapist, et il dit qu'est-ce qu'il y a de pire qu'un rapist, il enlève un autre truc, il y a marqué child, et en fait c'est child rapist, et quelqu'un qui dit a child. Enfin bref, j'explique mal les vines, mais il y a des gens qui ont la rêve, je pense. et en fait c'est ça, c'est un peu le tabou ultime.
Tout le monde va être d'accord, donc je suis d'accord sur l'aspect émotionnellement manipulateur de cet épisode.
Et en fait, c'est pas la première fois qu'il fait un peu ça, ou, et je sais pas. En fait, je mets ça en relief de ses discours sur la technologie, etc. Tu sais, des fois, je trouve que tu peux vouloir troubler ton spectateur sans forcément qu'il se sente super mal ou con, tu vois.
Oui.
Tu vois ce que je veux dire? Là, tu as culpabilisé. Tu vois, c'est
comme
ça
on
qui
le disait, historiquement,
peu,
les twists de fin dans Black Mirror, ils marchent pas mal, quoi. Tu ne dis pas, ah, mais en fait, vous me l'avez juste pas dit, donc vous m'avez un peu pris pour un con. Tu te dis, ok, incroyable. Genre, White Bear, à la fin, tout ça, c'était une punition de justice. C'est là, ok, j'aurais pas pu le deviner, mais une fois que tu le sais, que ça se tient. Et pour moi, c'est ça un bon twist. C'est, t'es sur le cul, et en même temps, quand tu refais le match, t'es là, bah ouais, ça marche. Mmh. Et là, j'entends qu'il y a un truc de, bon, c'est un peu pour le choc de, quoi, c'était un pédocriminel depuis le début. Mmh.
Mais ça ouais, mais c'est, tu sais, c'est, en fait, c'est comme te faire piéger pour te pousser à l'erreur.
Oui.
Et après, et en fait, et mettre toutes les conditions pour que tu fasses une erreur, là en l'occurrence de jugement, et te dire ah regarde.
Oui, on te montre une image tronquée et ouais. On dit t'en penses quoi, et après on dit eh ben, ou alors ouais. On te montre une peinture, on dit t'en penses quoi, t'es là, je sais pas, c'est une peinture, elle a l'air beau, normale et tout, et on te dit bah tu sais qui l'a peinte, Adolf Hitler. Et t'es là d'accord, mais enfin ouais. J'avais pas l'info, non, mais... donc je vois pas ce que ça dit de moi.
Oui, voilà, c'est ça, c'est un peu voilà, je trouve ça un peu manipulateur. Et je trouve qu'il y a d'autres épisodes qui sont beaucoup plus malins dans le discours qu'ils essayent de faire passer, même...
J'entends,
voilà.
J'entends.
Voilà. Mais je comprends encore une fois.
Je tiens à dire qu'on a un message très important dans le chat. On a Marie Kigai qui doit subir des pubs qui interrompent notre discours passionnant avec Vincent parce que personne ne lui offre de sub alors qu'on est BFF et que genre, eh ben moi, on m'a offert des subs sur sa chaîne et après j'en ai offert parce que c'est le ruissellement. Et Marie Kigai, elle est pas sub à ma chaîne, c'est genre illégal. Donc si vous avez un prime, un sub,
mais
quelque chose qui traîne...
Est-ce qu'elle devrait pas elle-même sub?
Écoute, la vie de streameuse est précaire, tu sais, c'est une indépendante et créatrice de contenu et chaque centime compte. Et après, des fois, elle me met sur des OP, je gagne des sous, donc c'est trop bien. Et des fois, j'essaye de la mettre sur des bails pour qu'elle gagne.
Excellente réponse.
La sororité. San Junipero. Pour finir quand même sur une happy end avant de passer à la saison 6.
L'histoire de San Junipero, c'est deux jeunes femmes qui se rencontrent dans un contexte effectivement un peu de nuit, de bar nocturne, très voilà, 80s, vaporwave, etc. Et on se rend compte, alors tu vas me corriger plein de fois, je pense, mais on se rend compte qu'en fait, cet univers-là, c'est un univers où, à la base, ce sont des personnes en fin de vie mm-hmm. qui peuvent tester cet univers virtuel, mm-hmm. cette espèce de métaverse, en fait, tout simplement.
Mais c'est très vrai. Ok, Zach.
Où ils peuvent tester ça en fin de vie pour voir si, une fois décédés, ils veulent transférer leur esprit dans cet univers-là pour y continuer un peu de vivre leur best life, j'ai envie de dire.
Oui, tout à fait.
Et en fait, elles ne comprennent pas forcément ça tout de suite, ou je ne sais pas quoi, mais il y a plein de petits rebondissements de trauma par rapport à leurs propres expériences à chacune. Et c'est ultra touchant parce que elles finissent par se retrouver, quoi, globalement, enfin, plus ou moins difficilement, mais à la fin,
elles se retrouvent et elles font aussi l'acceptation de leur amour entre deux femmes, et entre une femme blanche et une femme racisée, ce qui est aussi intéressant à voir à la télé. En fait, c'est des projections virtuelles de ces femmes qui sont vraiment des personnes en fin de vie, âgées, etc. Mais du coup, ça permet de voir des choses qu'on voit pas toujours à la télé. Et oui, on a Jean Massier dans le chat qui dit « Oh, mais c'est twitch.tv/Vincent d'Internet. »
Salut
à la
Jean.
TwitchCon. Salut Jean, comment vas-tu? Bravo pour cette saison 2 de Backseat qui vient de s'achever vivement la saison 3. Il y en a une, je pense que... J'espère, mais normalement c'est prévu. Donc, abonnez-vous à la chaîne de Jean. Je pense que vous l'avez, mais je vous la mets quand même dans le chat.
Jean Massier.
Et qui... merci à Marie Kigai pour le sub offert à Jean Massier.
Jean Massier qui fera des câlins et des selfies à la TwitchCon tout le week-end. Vraiment,
c'est
tout le
une
week-end.
Promesse.
N'hésitez pas.
Voilà.
Il m'a dit qu'il avait hâte. Et voilà. Non, en vrai.
On s'est dit, il y a 2 heures, il y a une petite crève qui traîne dans le milieu internet streamer. Là, en ce moment, on est tous un peu malades. Donc, la TwitchCon, peut-être faites des free hugs avec un NFT, un masque NFT, non? C'est quoi les masques? Bref, les masques qui protègent vraiment vos.
PVC.
Non, je sais que c'est pas PVC.
JCVD.
Bref, vous voyez que je suis très au point sur tout ce qui est Covid. J'ai essayé de faire un message de santé publique, j'aurais juste dû m'arrêter à masque, tu vois. J'ai voulu faire la meuf. N95, merci Mr. Make.
FFP, mais non.
Non.
N95, c'est pas FFP2. Le nom d'une banque virtuelle.
Non, c'est N24, N26.
C'est
N26.
FFP2 les masques. Hein.
Ouais, FFP2, c'est ça je connais, mais je crois qu'il y a plusieurs types. Bref.
Ah, N95, ça existe vraiment.
Merci Marie Kigai pour le sub offert à Jean. Et Jean, sache que Marie Kigai attend que quelqu'un lui offre un sub à cette chaîne. Voilà. Elle n'en a pas et c'est très grave. Mmh. Si jamais... Comme ça, enfin Twitch, c'est juste des gens qui gagnent des subs et qui payent des subs à leurs potes. À la fin, personne ne paye des subs sans être soi-même streamer. C'est ma théorie. Donc, San Junipero.
Oui, voilà. Et bah oui.
C'est la première happy end de Black Mirror.
Ah, c'est la première, ah ouais.
Ouais, il faut quand même le noter. Ouais. C'est le premier épisode de Black Mirror où on peut dire ça a fini. Alors bien avec deux personnes en fin de vie qui a priori meurent à la fin. Ça reste du Black Mirror, mais ça finit positivement pour ces deux femmes.
Et
ça, l'amour, quoi.
Et ça fait du
une
bien.
D'amour.
Ça fait du bien. Et puis en plus, comme c'est Mackenzie Davis, moi j'ai envie que cette personne et un maximum de bonheur dans sa vie.
Oui.
Et le fait de la voir même à travers une série où elle joue un autre personnage, être heureuse, là où dans Halt and Catch Fire, elle galère pas mal quand même.
Tout le monde est intense dans cette série, hein.
Ouais, et ben moi, ça m'a rendu heureux, ça m'a fait du bien. Et effectivement, et je sais plus c'est quel épisode, San Junipero, c'est quel...
Saison 3, épisode 4.
Ouais, c'est épisode 4.
C'est la première saison by Netflix.
Et voilà, et ça arrive juste après l'épisode pédo
que tu détestes. Ah voilà. Oui, mais en plus, toi, du coup, t'as eu le bang.
Ouais, tu vois, c'est
bang,
ça.
Genre...
C'est-à-dire, tu regardes, t'as l'épisode avec le pédo, et ensuite, t'as San Junipero, et ça m'a fait grave du bien. Je pense
que. Arriver Mackenzie Davis, t'as fait. Ok.
Ah non, mais.
Ok, je suis de retour.
Mackenzie Davis,
Bah, forever. Moi aussi, je suis in love de Mackenzie. Tu vois, comment on peut ne pas être.
Il y a une série qui se passe sur une station spatiale, j'ai pas regardé encore, qui apparemment est bien. Il y a un bouquin qui est adapté d'un bouquin.
C'est pas Silo, parce que Silo c'est sous la terre. Je vois, mais j'ai plus le titre.
Ouais, peut-être
que vous
des
l'avez
gens,
le chat. Et merci beaucoup à Jean Massier qui, du coup, a offert un sub à Marie-Guy, qui elle-même lui avait offert un sub. C'est très beau.
Il y a Marie, elle a fait genre, elle a fait bonsoir. Et genre, en échange, elle a fait bonsoir.
Oui, mais après vous, je n'en ferai rien, ma bonne amie, etc. Le problème à trois corps. C'est pas ça. Je vois ce que c'est le problème à trois corps.
Non, c'est un truc
et...
qui va être adapté, mais. Non,
mais qui n'est pas sorti encore, je crois.
Non, c'est un truc. C'est Foundation, c'est ça.
Foundation. Ah, elle est dans Foundation, Mackenzie.
Bah, je crois, ouais.
Ok, bah, avec Lee Pace, du coup. Incroyable, réunion au sommet. S'ils étaient tous les deux dans la
Calcatrice.
Néotosh dit, en vrai, ça m'a un peu perturbé d'avoir une happy end dans Black Mirror. Ça m'a fait du bien, mais j'étais déjà conditionnée à ce que Black Mirror relate des bails bressons. Mmh. Ouais, moi j'étais pas sereine tout le long de San Junipero parce que j'étais là.
Justement, c'est ça qui est bien. Ça
rend
le.
Mourir à la fin,
c'est d'autant plus satisfaisant.
Quelqu'un va les débrancher et en fait, non.
Mais c'est un peu l'épisode
Heaven
de la.
Is a place on Earth.
C'est un peu l'épisode de la maturité, j'ai envie de dire, pour Charlie Brooker.
On n'est pas obligé d'être émo tout le temps,
bah,
Charlie.
Ouais, voilà.
Des fois, on peut offrir un petit peu de joie aux gens.
Hein, on peut limer ses dents un petit peu là, juste pour être un peu moins aigri là. Hein.
Allez, on a fait notre top, on a fini.
Ouais,
parce que c'était ton numéro 2 et ton numéro 1.
Bravo à nous.
On avait à peu près les mêmes dans notre top 3 à 5. Abonnez-vous au Twitter de Vincent où il vous donnera peut-être son top complet puisqu'il a été très bon élève et il a fait en fait son top de tous les épisodes de Black Mirror qu'il a vu.
J'ai repoussé un papier pour le monde pour finir ce top.
Merci
c'est
pour
pas vrai.
Ce sens des priorités.
J'ai repoussé le papier mais c'était pas pour ça.
C'était juste parce que la flemme, quoi.
Le storytelling, c'est important sur Internet.
Yes. Là, on va vous donner un rapide. On va essayer de faire rapide parce que ça fait déjà une heure qu'on est là et on n'a pas commencé la saison 6.
Oh là
voilà,
là.
Et on a dit qu'on essaierait de finir pas trop tard, mais bon. Ouais. Vous faire un rapide avis sur cette saison 6, sans spoiler, sans aller dans les détails des épisodes. Et vous donner, là encore sans spoiler, juste notre classement de ces 5 épisodes, du moins préféré au plus préféré, chacun. Donc, pour commencer, qu'est-ce que t'as pensé de cette saison 6? Donc, 5 épisodes sortis d'un coup sur Netflix.
Je souffle.
Ah,
voilà,
tu
c'est mon avis.
De mes...
j'ai regardé ça comme... J'ai regardé cette saison comme je regarde les panneaux vidéo publicitaires à la gare Saint-Lazare. Vraiment, genre de manière...
C'est juste parce qu'ils sont là, quoi.
C'est un truc qui, comme c'est lumineux, ça te capte.
Oui,
ton attention,
ça rend fou ces trucs.
Mais t'es passif, j'étais giga passif devant, et je souffle avec la bouche, le nez, puis la bouche.
C'est triple soufflement là, c'est dur. Hein.
Voilà. Et j'ai regardé ça et j'en retiens pas grand chose à part quelques éléments que j'ai trouvé intéressants dont on va parler je pense. Mm-hmm. Mais j'ai l'impression d'avoir eu un truc un peu à la fois en pilote automatique et c'est-à-dire ah voilà on va leur mettre un peu du on va les surprendre etc et en même temps je sais pas enfin je attends je
Voilà, faites des câlins à tout le monde à la TwitchCon. N'hésitez pas à, voilà, tout ce qui est lécher les mains des gens, tout ça. Prenez les bactéries, ça va vous faire du bien.
Non, tu sais, c'est des fois quand tu respires que t'as un truc qui gratouille.
Ouais.
Je suis désolé.
T'as un truc qui gratouille et puis une toux un petit peu grasse quand même, quoi. Mais c'est pas grave.
Non, mais je vous jure, ça va vraiment mieux.
Non, mais
je vous jure, je suis pas content.
T'inquiète. Vraiment, genre, mon mec est trois fois plus malade que toi et c'est mon mec, donc tu n'es pas en train de me...
Mais c'est vrai que c'est un grand malade.
Taminer, quoi. Fatigué. Fatigué de cet homme.
Voilà, donc oui, non, saison...
Tu l'as regardé, indifférent, tu disais... ça brille. Ah oui, c'est un peu en pilote automatique.
Ouais, et puis...
ça prend des risques, quand même.
Oui, c'est ça, mais est-ce que c'est il prend des risques parce qu'il en a envie ou parce qu'il est essoufflé par sa propre... création quoi parce que Et puis, comme je crois que tu le disais au début, mais il y a eu le Covid, il y a eu, il y a plein de trucs délirants qui se passent.
C'est pas facile de faire du Black Mirror en 2023 parce que le monde est déjà genre
saucisse.
Very saucisse, quoi. Je veux dire, il y a des legit médias qui, aujourd'hui en France, ont titré « Tel député veut faire interdire la surveillance des sextoys par l'État », tu vois, était là. Si Black Mirror le faisait, on trouverait ça un peu gros, et c'est littéralement des vrais médias français qui ont titré des articles comme ça parce que c'est réel, tout comme t'as pu titrer un article « Est-il légal de mettre son pénis dans un cochon mort ?» Donc ça doit... J'aimerais pas être Charlie Brooker là, et devoir faire une nouvelle saison de Black Mirror en 2023.
Ouais, et puis en fait, et puis je me demande, tu sais, c'est quand il y a des deals, tu vois, avec Netflix, il avait peut-être dealé déjà ça de base.
Oui, c'est vrai que ça, je sais pas pour combien il avait signé.
Et franchement, je me dis, ouais, il était un peu, il avait plus trop d'inspi, quoi. Je sais pas, il s'est dit, faut peut-être entamer un début de virage, et te dire que il y a un peu un discours, bah, c'est pas tant la technologie, mais c'est notre propre reflet, c'est nous, c'est.
Oui, rappelons qu'à la base, le Black Mirror, c'est censé être l'écran de ton téléphone ou de ton ordinateur quand il s'éteint et que du coup, tu vois ton reflet dans ce miroir noir. Et c'est pour ça que le logo, c'est un écran qui... Enfin, c'est une vitre qui se fissure. C'est pour représenter la complexité de se regarder en face et de regarder en face notre rapport à la technologie. Ouais, non, en mode sapio, tu vois.
Mais bon, je sais pas. Et toi, alors
Non, je dirais que je suis un peu plus positive que toi. J'ai quand même passé un bon moment. J'ai deux épisodes qui m'ont vraiment sincèrement plu. Et ces fameuses prises de risque, ou en tout cas virages, comme tu dis, dont on parlera, qui m'ont pas forcément convaincue, mais qui, en tout cas, encore une fois, je trouve ça intéressant. Et de voir comment on fait du Black Mirror en 2023, bah, peut-être que c'était la seule façon de le faire, c'est de le faire un peu différemment. J'ai toujours, tu vois, il y a toujours des castes qu'on est content de voir dans des rôles dans lesquels on les voit pas toujours. Il y a des grosses restas dans cette saison, mais aussi des, je dirais, des étoiles montantes des séries qu'on commence à voir dans des gros rôles chez HBO ou à droite à gauche et qui ils ont une bonne chance du casting quand même dans l'équipe Black Mirror. Donc je pense que je suis à, comme dirait Gamekult, c'est 7, tu vois. C'est 7 sur 10, c'est peut-être un peu généreux, je dirais qu'en vrai c'est 6 en termes de calibre. Il y a un point bonus de ces Black Mirror et... J'adore le format anthologie et c'est une des rares séries à oser le faire. Et du coup, oui, je suis là, j'ai envie de soutenir le fait qu'on fasse des séries d'anthologie parce que moi, j'ai du mal à choisir. Je suis dans la team choisir, c'est renoncer. Et là, je suis là, j'ai pas besoin de choisir. Chaque épisode, c'est un truc différent. Donc, j'aime bien les petits, j'aime bien acheter des mix, tu vois.
Non, c'est bien argumenté. Je suis d'accord avec toi sur l'aspect anthologique et tout, et où tu te dis, où on te pousse pas à enchaîner, à binger, à machin, où tu peux regarder un épisode par soir, même tous les 2-3 jours, et tu sais que tu vas avoir un nouveau truc, ça va être complet. J'étais un peu saoulé des fois de découvrir en lançant l'épisode que l'épisode allait faire 1,14, parce que les épisodes sont de longueur inégale. Hein.
Ouais,
il y en a qui font 30, de 30 à jusqu'à 1,14 à peu près, je crois. Et des fois,
oui, on est quasiment à un format long métrage qui pourrait passer au cinéma, quoi.
Ouais, c'est ça. Et bon, et par moments, je dis, ok, c'est un peu long. J'avoue qu'il y en a un que j'ai regardé en 2 fois. Ouais. Un peu expérience compliquée, en fait.
Ok. Bonjour, Crush Tats, et merci beaucoup pour le resub. Merci d'être là depuis le début. Avant de passer au débrief épisode par épisode avec spoiler, on va du coup vous faire un top 5 individuel de ces épisodes, de 5 épisodes de la saison 6. Tu veux commencer ? J'ai noté les titres si tu les as pas. On va pas vous raconter en détail ce qui se passe dedans, puisque l'idée c'est que on vous le dit pas, mais on va vous dire un peu le thème. Par exemple, pour moi, le premier, c'est l'épisode sur Netflix, tu vois. Joan is a Fool, l'épisode sur Netflix. Donc c'est quoi, en partant du 5, 5, 4, 3, 2, 1, le 1 étant ton préféré de la saison, c'est quoi ton ordre ?
Je vais aller tousser 2 secondes. Parce que j'ai vraiment un truc dans la gorge.
Il n'y a pas de problème.
J'arrive, je suis désolé.
Va tousser, ouais, t'as de l'eau, mais.
Mais c'est juste que j'ai
Vincent va aller mourir là-bas. Et pendant ce temps, je vais vous faire mon top. C'est pas très grave. Non, on va parler d'autre chose, je vais vous lire. Alors, on a Gesamt. Et d'ailleurs, salut Gesamt Kunstwerkt. Kunstwerkt, j'y étais presque, mais j'ai fait allemand. J'ai vu que t'es arrivé dans le chat tout à l'heure en disant « Coucou, ravi de voir Vincent ici. » Eh bien, moi aussi. Ravi que Vincent soit sur ma chaîne pour la première fois. Tu dis cette saison, pas de soucis. Ça va mieux ?
Non, mais tu sais, c'est ce truc, tu sais.
Oui, quand c'est coinsax de fou, là.
Ça te chatouille de ouf.
Yes.
Je préférais assumer plutôt que de... Voilà, bref, pardon, excusez-moi.
Normalement, t'es allergique à rien, ni au chat, ni à la bouffe qu'on t'a faite, donc je n'ai pas empoisonné, Vincent. J'étais en train de lire ce message sur le chat qui dit Cette saison 6 a été plutôt sympathique, mais au global, oui, c'est 7. Le plus étrange aura été d'avoir des épisodes qui n'auraient pas dénoté dans le cabinet de curiosité de Del Toro. On en parlera. Donc, ton top.
Alors, mon top 5. Mon top 5, alors. Mais comment
5,
tu veux...
5, 4, 3, 2, 1.
Ah, tu veux, en partant de la fin, ok.
Ouais, en partant de celui que t'as le moins aimé, et en arrivant, on va juste vous dire les titres, et après on fera le détail des épisodes, mais comme ça vous avez une idée, quoi.
Eh ben, je sais pas pourquoi j'ai mis... Non, je vais mettre Demon 79, je le mets en dernier, en vrai. Parce que c'est l'épisode le plus différenciant, j'ai envie de dire.
Ouais.
Par rapport à ce qu'est Black Mirror de base, c'est le dernier de la saison.
Ouais.
Celui qui est le plus long aussi, je crois qu'il fait 1h14. Ou peut-être le deuxième plus long, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment un truc un peu surprenant. Mais j'ai trouvé ça très lent. J'ai trouvé ça très prévisible. Et j'en retiens pas grand-chose. Il y a un discours sur le racisme, le fait de trouver sa place, d'être mis à l'écart, etc.
La montée d'une forme de fascisme ou d'extrême droite,
oui, bien sûr,
qui est assez actuelle.
Bien,
hein.
Bien sûr, mais c'est très en surface. Et puis la résolution finale, je la trouve très, très bof, quoi. Enfin, je sais pas.
Ok.
Un peu peut-être positif pour les personnages, mais honnêtement. J'ai regardé, j'ai fait ok, fine, et j'ai repris ma vie.
Est-ce que t'as eu ce truc de je n'y repenserai plus jamais? Genre, pour le coup, ça ne me provoque pas des réflexions de fou. Genre,
ouais,
j'ai
non,
vu cet
franchement,
épisode, j'en sors en mode.
J'y ai repensé parce que je venais chez toi et qu'on allait en parler.
Et que tu es très professionnel.
Voilà, et puis voilà. Mais en vrai, non. En fait, j'ai pas l'impression d'avoir eu une expérience différente comme j'ai pu l'avoir avec d'autres épisodes de Black Mirror par le passé. En fait, c'est à la fois horreur. Et un peu comédie. Mais dans ces genres-là, j'ai vu des choses qui m'ont beaucoup plus plu, quoi.
Oui,
et
ça
en fait
peut-être un peu de tout, mais pas assez bien pour
ouais,
que ça
c'est
te plaise.
Ça,
c'est long, il y a des longueurs.
En fait, Charlie Brooker, quitte à y aller, vas-y vraiment.
Yes. Bah, on en parlera plus en détail quand on sera dans le spoiler des épisodes, mais je vois ce que tu veux dire, je pense. Et c'est effectivement un des épisodes les plus clivants de cette saison. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont mis en dernier d'ailleurs. Merci beaucoup, Ninjaksu, pour.
Toi, tu l'as mis en dernier aussi?
Je l'ai mis en dernier aussi.
Ouais, ok.
Parce que je pense qu'il y a, voilà, un essai qui est pas transformé, et ça m'a un peu emmerdé de le mettre dernier parce que je pense que je l'aime plus que toi. Je pense que les thématiques autour du racisme, etc., m'ont pas mal parlé, et qu'il y a des performances de d'acteurs que je trouve qui sont d'un charisme à crever. Mmh. Mais il y a que 5 épisodes, et à choisir, ouais, c'est celui qui m'a le moins... Peut-être parce qu'il est aussi le moins Black Mirror de tous, qu'au final, il m'a le moins parlé. Et que s'il avait été dans une autre série, ou à part, peut-être qu'il m'aurait vachement plu, tu vois.
Et puis il arrive en fin de saison, après d'autres épisodes, après un autre épisode dont on va parler après, qui lui-même te sort déjà un peu du truc. Enfin, il y a comme une dé-Black Mirrorification de la série.
On commence très très Black Mirror avec l'épisode 1 et effectivement, on descend vers quelque chose qui est
Red Mirror.
Une nouvelle Red Mirror.
C'est présenté comme une production
forme.
Red Mirror.
Yes.
Donc voilà.
Donc on est dans un univers étendu assez surprenant. C'est quoi? Donc c'est mon dernier aussi. C'est quoi ton 4?
Bah mon 4 c'est l'épisode 4.
OK. Maisie Day. L'épisode Paparazzi, et on va pas dire quoi d'autre parce qu'on est dans la partie sans spoiler, mais un épisode qui aborde la thématique des paparazzi et de leur côté prédateur envers les célébrités, notamment féminines.
Ouais.
Qu'ils harcèlent.
Et pourtant dedans il y a une actrice que j'aime beaucoup depuis Atlanta, Zazie Beetz, que je trouve incroyable, qui était
on a grave les mêmes goûts en vrai.
Ouais.
Ouais.
Qui était c'est plus anecdotique, mais dans Deadpool 2 aussi.
Oui.
Mais elle, je trouve que c'est une actrice incroyable. Elle a des épisodes, notamment dans les dernières saisons d'Atlanta, elle a vraiment des gros gros moments forts, je trouve. Et là, elle est, je la trouve très charismatique, quoi.
Ouais, mais je trouve que quand Black Mirror ça marche pas trop, c'est rarement la faute des acteurs et actrices.
Oui,
tu vois.
C'est vrai.
Mais en tout cas, soit dans Demon 79 ou Maisie Day, c'est pas vraiment, je pense,
le jeu d'acteur qui
est à blâmer, quoi. Ou même la direction, enfin.
Mais tu vois, mais
c'est
comme
plus en termes de scénar et de choix où c'est genre ah.
Mais comme pour l'épisode avec Mackenzie Davis, en voyant Zazie Beetz, je me dis j'ai envie d'aimer l'épisode, tu vois, j'ai envie pour elle, tu vois. Il y a un peu ce truc.
J'ai envie que ce soit une réussite, quoi.
Ouais, de papa au bord du terrain de foot qui voit son enfant et qui dit vas-y, tu vas voir.
Are you winning some?
Ouais, c'est exactement ça. Et là, après, malheureusement, j'étais là. Et là, encore une fois, en fait, c'est difficile parce que, sans spoiler, mais il y a ce truc de, effectivement, encore de pas de côté. Et en même temps, on est encore dans la thématique, reflet, regard sur nous-mêmes, saucisse, tout ça.
Ouais.
Et
puis, on en sort un peu quand même.
Ouais, on en sort vite. Et puis, c'est un constat plus général, mais je trouve que les chutes des épisodes sont bien, bien moins fortes que dans les autres saisons. Enfin,
pour moi, il y en a deux.
Oui, non, il y en a deux.
Qui marchent bien, quoi. Il y a une chaise dont je me souviendrai longtemps, tu vois. Il y a une chaise poussée d'un coup de pied où je suis là. Cette fin d'épisode-là.
Oui.
J'ai fait une pause, tu vois. J'ai dit, on va arrêter là.
Oui, oui. Non, mais je vois de quoi tu parles. Mais, ce que je veux dire, c'est. Tu vois, on a parlé d'épisodes où il y a vraiment des twists de fin forts, qui sont quand même assez impressionnants. Là surtout j'avais l'impression de voir les choses venir quoi globalement bon, sauf cet épisode Maisie Day où effectivement
tu peux pas le voir venir
parce
que c'est inattendu dans le contexte mais le twist de fin la fin c'est un jeu de mots et moi ça m'emmerde un peu tu vois j'ai un peu l'impression qu'il y a un côté gimmick de on avait eu le jeu de mots on avait eu ce truc ce thème paparazzi et on a fait un Moi, c'est un épisode qui me frustre parce que je suis là. Il y a une bonne histoire quelque part là-dedans. Il y a un très bon épisode de Black Mirror quelque part là-dedans. Pas l'impression qu'il soit là parce que on a choisi de prendre une autre direction.
Mais c'est un peu parce que tu vois, Charlie Brooker, il veut être un peu. En fait, je pense que Charlie Brooker, il lutte un peu avec lui-même, avec l'idée de rester un peu ce sale gosse, tu vois. Ce côté genre, on va en parler avec le premier épisode
Johnny is a Fool.
Voilà, je vais pas te dire le pitch encore, mais en gros, je pense que Charlie Brooker, il y a un truc où il a envie de rester le sale gosse. Il a conscience qu'il est sur une plateforme, une multinationale, capitaliste à souhait, qui s'appuie sur des algorithmes, etc., etc. Et il se dit, il faut que je fasse pas comme les autres, quoi.
T'es le poil à gratter du système quand t'es dans le système?
Bah, c'est ça, exactement. Et pour moi, c'est un de mes gros problèmes, notamment avec l'épisode 1, on en parlera. Où, je pense que quelqu'un, comme lui, qui prétend dénoncer des choses, qui prétend cultiver une forme d'indépendance, artistique, etc., tout en faisant totalement partie du système et du système de communication de Netflix et de comment eux ont récupéré ça, ses idées à lui pour faire leur beurre derrière avec des activations, des sites dédiés, des machins et tout. Pour moi, c'est un vrai problème et ça enlève beaucoup de poids à ce qu'il a pu développer quand il était encore sur Channel 4, quoi.
Et en fait, c'était l'épisode 2 historique de Black Mirror, c'est 15 Million Merits, donc c'est l'épisode des vélos où le thème c'était il y a un genre de concours de talent qui peut permettre de sortir d'une forme de précarité. Le héros, qui est joué par Daniel Kaluuya, qui a fini par être dans Get Out et tout, donc il y avait aussi un découvreur de talent de fou, il finit par accéder à ce concours de talent et il décide de faire tout un pamphlet contre le système pour niquer le système de l'intérieur, en mode, en fait, le système m'a rejeté et je vais venir le casser. Et le système le digère, l'ingère et le récupère en lui disant on va te filer un créneau et on va te payer très cher et tu vas être l'influenceur anti-système payé par le système et tu vas avoir une chronique poil à gratter et vivre dans un penthouse pendant que les autres continuent à pédaler comme toi pour gagner des crédits virtuels. Et ça commence à être compliqué de regarder la carrière de Charlie Brooker chez Netflix sans faire le parallèle, quoi. Je suis là.
Bien sûr, il y a une forme de trahison de base, mais c'est le cas pour plein d'artistes. À un moment, s'ils veulent des fois vivre, s'ils veulent des fois évoluer, ils sont obligés de renier une partie de ce qui a fait leur succès de base, ce qui a fait leur identité artistique, leur message politique. Ils sont obligés de se lisser, mais on le voit dans tous les domaines, hein. On le voit avec les streamers aussi. Les streamers qui sont un peu edgy au début, un peu provoque, machin, dès qu'ils deviennent populaires parce qu'il leur faut des contrats avec des marques, faut qu'ils deviennent respectables. Et donc, il y a toujours ce problème-là qui est posé. Et je pense qu'effectivement, Charlie Brooker, il a dû un peu arrondir les angles. Et encore une fois, on le verra avec l'épisode 1, mais c'est assez central. Ou même quand il prétend faire un pied de nez à son diffuseur, je trouve qu'il lui sert de marche-pied, quoi. Donc
tu sais à la fin que tout a été validé, donc écoute, bonne transition parce que donc toi ton 4 c'est Maisie Day, moi mon 4 donc mon celui que j'ai mon avant-dernier le moins aimé de cette saison, c'est l'épisode 1 Joan is a Fool. Ouais. Et c'est pas parce que j'ai pas passé un bon moment devant parce que honnêtement c'est fun. Il y a des actrices qu'on voit rarement dans ce genre de série qui sont extrêmement drôles et tout, mais ce côté extrêmement cynique de donc il y a des thèmes autour du de notre rapport au streaming et aux plateformes comme Netflix et littéralement Netflix et à notre rapport au regard que le monde porte sur nous et tout, et d'avoir cette forme de critique satirique de Netflix dans une série Netflix, j'étais là. En fait, il y a un moment, ne prenez pas pour des jambons, tu vois, genre faites pas genre c'est un truc qui critique Netflix alors que c'est une production Netflix, et c'est pour ça que c'est mon avant-dernier, parce que j'ai été éthiquement mal à l'aise quasiment devant cette démarche. Mais on en reparlera plus en détail. C'est quoi ton 3 ?
Moi 3, Joan is a Fool, j'ai finalement décidé de le mettre en 2, mais en 3 j'ai mis Beyond the Sea, donc l'épisode 3. Parce que autant le concept, la promesse du truc est super
l'épisode
intéressant.
Avec la conquête spatiale.
Voilà, une histoire de conquête spatiale qui se situe dans les années fin des années 60, je crois.
Oui, très rétro-futuriste.
Voilà, très rétro-futuriste. Alors à la fois c'est dans un cadre effectivement très 60s conquête spatiale comme à l'époque, et en même temps une technologie que nous aujourd'hui on n'a pas du tout.
Non, si on l'avait ce serait incroyable.
Ah, voilà.
Mais on est loin de l'avoir, quoi.
Et justement en fait moi ce qui m'a énervé c'est les personnages. J'ai eu du mal à avoir de l'empathie pour les deux personnages principaux. Et ensuite juste la logique même.
Oui, tu m'as dit, alors on en parlera, mais que tu avais un vrai problème de base de...
Oui, de logique.
Il y a une question logique qui n'est pas répondue.
Pour moi, il y a un problème. Je ne sais pas si c'est parce que je suis... Soit je suis trop teuteux et je n'ai pas compris la logique derrière, etc. Mais juste factuellement, je dis, mais pourquoi ils font comme ça et pas comme ça ?
Je vois ta question, je pense.
Et dans ce cas-là, il n'y a pas d'épisode, il n'y a pas de souci, tout va bien, tout le monde est heureux, c'est bien. Et en fait...
C'est un peu comme il y a une, alors je crois que c'est pas une légende, c'est une vraie anecdote qui dit que sur le tournage de le film de Michael Bay où ils vont dans l'espace pour péter l'astéroïde là.
Armageddon.
Donc le pitch de Armageddon, c'est il y a un astéroïde qui s'approche de la Terre, on va tous mourir sauf si on arrive à le faire exploser. Et donc ils prennent des gars qui bossent sur des qui sont spécialisés en faire exploser des plateformes pétrolières and shit. Et il les forme pour devenir astronautes et les envoyer, c'est l'équipe de Bruce Willis, et les envoyer dans cette mission qui est pas censée être une mission suicide, mais bon, soyons sérieux, il y a quand même des chances que ça se passe mal et d'y rester. Et il paraît que sur le tournage, au bout d'un moment, Ben Affleck avait demandé à Michael Bay, mais pourquoi au lieu de former des gars qui forent des trous à aller dans l'espace, qui est plus dur, ils forment pas juste des astronautes à forer des trous? Et Michael Bay était là, parce qu'il y a pas de film, ta gueule. Et en fait, je pense que t'as un peu un côté genre, peut-être que c'est juste parce qu'il y a pas d'épisode, mais je crois que c'est mieux expliqué que ça, je pense. Mais on verra.
On verra. Mais c'est une bonne anecdote, Michael Bay.
On adore les anecdotes autour de Michael Bay.
Ah bah ça,
aucune n'est décevante.
Mais c'est ça, c'est à chaque fois, c'est du popcorn, incroyable.
Ok, donc toi, ton 3, c'est bien aussi. Yes. Ton 5 c'est Demon 79, ton 4 c'est Maisie Day, ton 3 c'est Beyond the Sea. Moi mon 3 c'est j'arrive plus à brûler. Bah c'est Maisie Day que j'ai pas détesté parce que Zazie Beetz, je l'aime beaucoup parce que le thème des paparazzi années 2000 j'ai trouvé très cool.
Mais c'est très prometteur de base.
Mais du coup un peu voilà, j'ai ce côté il y a un très bon épisode de Black Mirror là-dedans qui est pas là. Et que le twist, j'étais pas si fâchée.
En faire quoi, tu vois,
C'est plus ça. Mais en autant plus, dans Demon 79, j'étais là, c'est vraiment genre.
L'épisode, il dure 30 minutes, je crois. Il est rapide. Tu sais, c'est très.
Je pense qu'il se finit là où j'aimerais bien qu'il commence, tu vois.
Exactement.
Et du coup, c'est pour ça qu'il est pas très haut dans ma liste, mais j'étais pas fâchée.
Ouais, je suis d'accord.
C'est quoi ton 2?
Joan is a Fool, ouais.
Ok.
Et toi,
oui, ou comme on l'a dit, on est un peu mal à l'aise sur ce côté, satire de Netflix, mais validé par Netflix. Donc bon, voilà.
Et en même temps, ça permet de créer des discussions. C'est pour ça aussi que je l'ai mis. Je me suis dit, ok. Et puis c'est le seul épisode de la saison qui est vraiment Black Mirror dans l'identité première, un petit peu, je trouve.
Oui.
Où il y a un vrai rapport aux écrans, où t'as l'impression de revoir effectivement une suite des saisons précédentes.
Où il y a un côté tech futuriste quand même.
Ouais, voilà.
On n'est pas très loin de ce qui se passe dedans, mais on n'y est pas quand même. Et oui, c'est pas étonnant qu'ils en ont fait le premier épisode de la saison. Ouais, pour le coup, ouais. C'est du full Black Mirror version Netflix. Peut-être un peu trop à notre goût, on en parlera. Moi, mon 2, c'est Locke et Henry. Donc, c'est l'épisode 2 qui aborde plutôt la thématique du true crime, de notre rapport à... Bah, t'es venu avec le magazine Society qui fait son numéro d'été, comme souvent, sur les affaires criminelles et sur des cold cases cette année, donc les affaires inexpliquées. Et je trouve que c'est trop bien que Black Mirror s'attaque au sujet du true crime. Alors, il y a sûrement 1000 façons de le faire, et je sais pas si c'est la meilleure, mais c'est un épisode qui m'a pris... au trip et qui m'a trauma comme il y a vraiment des enfin la scène de cet épisode, la révélation de cet épisode, j'étais sincèrement pas bien. Je regarde pas de film d'horreur non plus, j'avais l'impression d'être devant un film d'horreur, tu vois, j'étais vraiment en mode je suis pas bien, je passe un très mauvais moment, rien que pour ça du coup je le note bien. Et parce que sur sa réflexion sur les true crime, ou pour le coup il y a un peu de ce qui m'a gêné dans Joan is a Fool, qui est que Netflix, c'est un des premiers canaux de true crime et de documentaires, du coup, sur des vraies affaires
et de
horribles,
trucs voyeuristes
qui ne prennent pas en compte la réalité des victimes encore existantes, comme par exemple Dahmer, qui est sorti l'année dernière, où il y a des victimes de Jeffrey Dahmer, des familles des victimes, qui ont jamais donné leur accord pour que ces histoires soient racontées et interprétées et romancées sur Netflix. Donc, il y a un peu un côté... Netflix fait partie du problème et une série Netflix interroge le problème, mais je trouve que c'est fait déjà plus intelligemment que dans Joan is a Fool, et que c'est pas le seul sujet, quoi. Enfin non, moi j'ai beaucoup aimé Locke Henry, j'étais là, c'est horrible, mais c'est smart pour moi, mais tu vois, j'ai adoré l'épisode de pédophilie aussi, de Black Mirror, donc pour moi ils se ressemblent pas mal.
Oui, ok. Oui, bah moi, pour les mêmes raisons que toi, effectivement, après, effectivement, avec la nuance de c'est quand même un truc sur Netflix... Enfin, tu vois, il y a un truc de genre dénoncer des choses qu'eux-mêmes alimentent et produisent et encouragent et machin, où nous-mêmes, on devient un peu voyeuriste avec les personnages. Donc, il y a un peu ça. Après, moi, effectivement, c'est tourné en Écosse, notamment. Et j'étais en Écosse l'été dernier et ça m'a pris par les sentiments, quoi. C'est juste magnifique. Et encore une fois, voilà, on revient au Royaume-Uni, on revient un peu aux sources. C'est un truc, effectivement, l'aspect technologique est pas là. Là, on parle plus de VHS, l'aspect plateforme, s'il y a l'aspect diffuseur derrière.
Oui, mais il y a rien qui n'existe pas à l'heure actuelle.
Voilà, c'est ça. C'est un épisode qui pourrait avoir lieu aujourd'hui, quoi. Ouais. D'un point de vue technologique et tout. Et non. Et puis c'est encore une fois, effectivement, bon, après le twist pour moi était un peu prévisible. Si tu te dis, ok, Black Mirror, il y a un twist. Avec les personnages qu'on a, qu'est-ce qui peut se passer? Okay,
c'est quoi le twist avec cette histoire?
C'est quoi le twist, machin et tout? Ça manque un petit peu de quelques minutes en plus, je pense, à la fin, même si en même temps, t'as compris en fait le message qui veut y avoir. Mais sur le coup, j'étais ok, j'étais un peu perturbé, surtout après Joan is a Fool, où je me dis, ok, Black Mirror, qu'est-ce que là, c'est quoi le message de base, ou alors est-ce que je prends ça comme un truc complètement indépendant à part, et à ce moment-là, ok, fine, c'est intéressant, je vois un peu le propos et tout. Mais c'est vrai qu'en y repensant, et surtout en mettant en relief avec le reste de la saison, bah ouais, pour moi, c'était top 1, quoi.
Ouais, je comprends. Donc moi, c'est mon deuxième, toi, c'est ton premier. Ouais. Et moi, du coup, mon premier, c'est Beyond the Sea. C'est l'épisode sur la conquête spatiale, pour des raisons de type... J'aime beaucoup trop Ray Bradbury, j'aime beaucoup trop tous les thèmes autour de qu'est-ce que ça a fait aux êtres humains d'être dans l'espace d'être loin de la Terre, cette solitude unique. J'aime les thèmes de masculinité et je trouve qu'il y en a beaucoup dedans. J'aime Aaron Paul, évidemment. J'aime Josh Hartnett qui est dedans aussi, et quelqu'un dans le chat parlait du comeback de Josh Hartnett. Il est jamais vraiment parti, mais si on a une Josh Hart renaissance, tu vois, comme on a eu une Matthew McConaissance avec Matthew McConaughey, je serais pas fâchée. Je trouve qu'il a beaucoup de charisme et qu'il vieillit bien et qu'il a pas à rougir de ses talents d'acteur. Donc peut-être un peu biaisé, mais Beyond the Sea, c'est celui qui m'a le plus, où j'étais là, c'est ma cam.
Je comprends, mais même moi en fait j'étais pris dedans. Mais il y a deux choses qui m'ont gêné, effectivement ce truc de logique et ce truc de comportement et de gratuité de certaines choses qui m'ont saoulé en fait. Et puis j'ai trouvé quand même très prévisible. À partir du moment où il se passe ça, ok, tu comprends et tu dis ok, il va y avoir ça, puis il va y avoir ça.
Qu'est-ce qui pourrait mal se passer?
Ouais, voilà.
Et en même temps. Bon, on en parlera. J'entends qu'il y a un aspect prévisible. Je suis là, je trouve que c'est prévisible, mais qu'après, il joue avec ce que t'attendais quand même.
Parce que
tu t'attends pas vraiment à ce que ça finisse comme ça, même si tu t'attends à ce qu'il va poser problème, quoi.
Oui, c'est vrai.
Car les hommes, finalement, sont prévisibles.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ok, merci pour cette introduction d'1h15.
Voilà.
Car comme vous le savez, sur ces lives, nous sommes toujours succincts et droits au but, surtout quand il s'agit de parler de séries télé. C'est la fin de la partie sans spoiler de cet épisode. À partir de maintenant,
ouais,
on va vous spoiler tous les épisodes de Black Mirror saison 6, un par un. Okay,
enfin.
On va essayer de pas vous spoiler le 6 quand on vous parle du 1. Le risque zéro n'existe pas, mais déjà, il y en a que 5, donc on peut pas vous spoiler le 6. Et aussi, on va faire gaffe. Mais du coup, let's go avec le débrief de cet épisode 1 sur lequel on a l'air d'avoir plusieurs, un avis plutôt concordant.
Ouais.
Joan is a fool. Est-ce que tu veux bien faire le petit résumé de l'épisode?
Oui, donc c'est un personnage principal qui s'appelle Joan, qui Joan. est interprétée par Annie Murphy, qui jouait dans Schitt's Creek,
notamment, qui
a une sale journée au boulot parce qu'elle doit virer quelqu'un. Malgré elle un petit peu, et c'était un peu une amie de taf, ce genre de choses, enfin elles s'entendaient bien, mais elle doit la virer, et voilà, donc journée un peu nulle, elle rentre chez elle est avec son petit ami, et ils décident de regarder un épisode sur une plateforme de streaming qui est clairement Netflix, mais qui s'appelle Strawberry, c'est ça,
Streamberry
pardon.
Et entre temps elle rencontre son ex aussi.
Ah oui,
en secret, quand même.
Elle est recontactée par son ex par message qui lui dit voyons-nous, genre de choses.
Oui, et c'est son ex un peu toxic bad boy, tu sais, ouais. Mais où tu sais que
elle va, si tu
dis ok au drink, tu vas y aller, quoi.
Et elle y va, ils s'embrassent, mais il n'y a pas rien, enfin ça va pas trop loin.
Ils s'embrassent et
elle
l'arrête là.
Et en fait, voilà, donc après elle rentre chez elle, il regarde un épisode d'une série, et en fait il tombe sur une proposition d'une série qui s'appelle Joan is a Fool, où le personnage principal... Interprété par Salma Hayek, d'ailleurs. Salma Hayek Pino.
C'est vrai, Salma Hayek Pino, qui ne ressemble pas du tout à Annie Murphy dans la vie, hein, faut quand même le dire.
Voilà, et qui.
Coucou, and sometimes.
Et en fait, ce personnage de Joanne se rend compte que cette série est inspirée directement de sa propre vie, en exagérant sa méchanceté.
Oui, factuellement. Sa coulitude, mais aussi sa méchanceté.
Voilà. Sa coulitude, sa méchanceté. Et elle se rend compte que surtout, c'est un épisode qui est réalisé et qui parle de sa journée même. C'est-à-dire que chaque nouvel épisode va raconter la journée.
On est sur écoute.
Voilà.
Il nous surveille, c'est le vaccin.
Et donc, elle pète un câble. Et puis, il y a tout un truc méta qui se met en place parce que Salma Hayek, dans la série, va elle aussi se rendre compte que sa journée... Va faire l'objet d'un épisode de série presque en temps réel, interprété par Cate Blanchett.
Ouais. Voilà, ça, elle est interprétée par Cate. Donc on monte des grades d'actrice à chaque fois.
Au niveau 3,
de...
c'est ouais. Machin.
Et à la fin, c'est Meryl Streep, quoi. Dame Judi Dench.
et donc voilà, et puis en fait... Ça part dans tous les sens parce que son petit ami réalise qu'elle a vu son ex. Enfin, il y a plein de soucis au boulot.
Oui. Le problème, c'est que tout le monde voit ta vraie journée, mais racontée sous sa pire version.
Et voilà, donc elle commence à être détestée, être mise à l'écart. Et elle pète un câble et puis elle fait un peu des dingueries pour pour euh, pour casser un peu le système du truc.
Bah, elle
quoi.
Dit en gros, puisque son avocate lui dit, en fait, vous avez signé les conditions d'utilisation de Streamberry, donc de Netflix, et ces CGU que personne ne lit jamais disent, en fait, vous êtes sur écoute tout le temps, genre à chaque fois vous faites des recherches, etc. Votre téléphone vous écoute, et c'est pour ça qu'ils savent qu'est-ce que vous avez fait de votre journée. Mmh. Et vous leur avez donné les droits de raconter votre histoire, enfin en tout cas de prendre une licence créative sur votre vie et d'en faire une série. Mmh. Et du coup, elle se dit, bah si je peux pas porter plainte contre Streamberry Netflix, je vais faire en sorte que Salma Hayek elle ait plus envie de me jouer. Donc, elle se dit, faut que je fasse une dingue. Et la dingue qu'elle choisit de faire, c'est s'habiller en Harley Quinn en gros et aller chier au milieu d'une église pendant un mariage.
Un cajot de pêche.
Immédiatement. Ouais. Vraiment, à 1000%, genre de 0 à 1000 quoi. Let's go.
Mais et comment dire, il y a ouais, c'est ça, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus. Et déjà moi quand j'ai compris le truc de ah vous avez signé sans lire, c'était déjà,
il y a quelqu'un sur le chat qui dit ah merde, je viens de me rendre compte que je ne l'ai pas vu cet épisode. Désolé pour toi Sylvestre, là, ouais, attends, c'est le premier de la saison 6.
On est passé sur les spoils. Oui. Je disais, à partir du moment où je me rends compte que un truc du propos, c'est vous avez pas lu ce que vous avez signé,
ouais.
Qui est quand même un discours vieux comme Internet.
Ouais.
C'est là, t'es un peu genre ah ok, c'est ça que tu veux dénoncer dans cet épisode, genre il faut lire les
conditions.
C'est
qu'on lit conditions. Pas les
CGU. C'est genre
ok. Et en plus genre c'est pas comme si genre ils peuvent pas cacher tout et n'importe quoi dans les CGU et ça passe. Ils peuvent pas cacher des trucs qui par exemple vont à l'encontre des lois de l'Union européenne par exemple.
Ouais.
Donc c'est pas, et pareil, tu peux pas faire signer, en fait Apple peut pas cacher dans ses CGU un truc qui dit et le 17 du mois je ponctionnerai $1000 à tous les gens sur leur compte et ouais. Si ça passe ils diront bah non vous avez signé, il y a quand même des limites à ce système quoi. Donc oui, je suis d'accord avec toi, c'est un moment où j'étais un peu genre ça c'est un peu nul comme explication.
Ouais, et puis il y a eu l'autre partie, c'est mais comment ils savent tout ça sur moi, sur mon quotidien? Bah c'est votre téléphone qui vous écoute, etc. Et ça, c'est un peu un marronnier, on va dire, de la tech, c'est-à-dire cette idée effectivement des fois quand on parle d'un sujet, toi par exemple, toi et moi on parle d'un sujet et après on va sur notre téléphone et une des pubs qu'on va avoir entre deux stories Instagram, c'est en lien avec ce qu'on s'est dit, tu vois.
Un peu comme si Big Brother nous écoutait.
Il y a eu des choses là-dessus, je pense qu'il faut être assez clair. Le téléphone factuellement nous écoute pas, enfin je veux dire, après il y a toujours peut-être des cas d'exception selon certaines applications ou quoi, mais en tout cas le téléphone normalement ne nous écoute pas et c'est ça passe par d'autres choses, ça part par des recherches internet, ça passe par des fois des messages qu'on écrit, parce que quand on écrit des messages, bah des Facebook peuvent s'appuyer dessus pour personnaliser les pubs. Je vous conseille, il y a un podcast qui s'appelle Reply All
et qui le a un podcast sur Reddit.
Voilà.
De Reddit, je crois.
De
Reddit ou sur Reddit, qui se base sur Reddit en tout cas, je crois.
Ah Reply All, c'est
Non. OK. Non, pour moi.
Enfin, il parle de culture web et c'était fait par un studio qui a été racheté par Spotify, enfin ça s'est fini, enfin bref, il y a eu c'est Gimlet le studio qui fait
ça.
Oui. Et ils avaient fait un épisode il y a quelque temps là-dessus où ils essayaient d'expliquer un peu ce sujet-là pour un peu sortir démystifier un peu tout ça.
Donc il me semble que la tech c'est votre téléphone vous écoute pas autant que ça, il en a pas besoin. Et c'est limite, c'est plus flippant qu'il en ait pas besoin, mais genre, ils ont pas besoin de hacker votre micro pour savoir que vous voulez acheter du dentifrice. Ils le savent parce qu'ils suivent vos patterns et qu'ils savent que la dernière fois que vous avez acheté du dentifrice, c'était il y a tant de temps et que tous les temps vous en achetez. En gros, c'est, il me semble un peu ça. Après, il y a des cas, bah là, il y a Meta qui vient de se faire épingler parce qu'ils ont pas respecté. En fait, il y a des boîtes qui font des trucs illégaux, quoi, qui mentent, qui disent, non, on prend pas telle donnée. En fait, ils les prennent et après, ils ont des amendes et ils sont là. On s'en bat les couilles, on est Meta. Ouais. Donc, il peut y avoir, sans tomber dans le complotisme, des trucs qui se passent. C'est bien de rester vigilant. Mais on n'est pas sûr. Ah oui, vous savez, quand vous dites à votre téléphone, j'ai besoin de nouvelles baskets et que le lendemain, vous avez une pub pour les baskets, c'est parce qu'ils vous écoutent. Genre, pas aussi simple que ça.
Ouais, ouais. Et donc, en fait, quand il y a ces deux trucs-là qui se révèlent dans l'épisode, moi, ça m'a un peu sorti du truc. J'étais là, ok, bon, ok, fine, ok. Donc là, on est vraiment sur un truc un
pour
peu
du Black Mirror.
Bon, c'est un peu à l'ancienne, quoi, on va dire. C'est pour ça que je disais que j'avais l'impression d'assister à des épisodes qui seraient sortis il y a 4 ans, quoi.
Ouais.
Et puis après, c'est effectivement, l'épisode, il suit tout un truc de méta parce que, voilà, factuellement, dans chaque niveau de réalité, Bah, il y a une nouvelle Joanne qui découvre que machin, oui. Et ils se rendent compte que Netflix a une espèce de robot d'IA qui génère tous ces trucs là.
Oui, un des autres gros thèmes, c'est que oui, Salma Hayek ne joue pas vraiment dedans, Kate Blanchett ne joue pas vraiment dedans.
Mais elles ont signé pour.
Elles ont signé pour qu'on reproduise en mode deepfake leur image. Et ça, c'est une thématique qui est, je trouve, pareil, oui. Hyper intéressante pour Black Mirror, mais qui est peut-être pas exploitée de fou.
Oui, c'est vrai.
Parce que quand à la base, donc John dit, bah, je vais faire un truc honteux pour que Salma Hayek, elle ait pas envie de le jouer pour Netflix, pour Streamberry. Et on lui dit, mais c'est pas Salma Hayek qui joue, genre, c'est impossible que, parce que ça sort, genre, tous les jours, en temps réel, les épisodes. Donc évidemment que Salma Hayek, elle passe pas sa journée à jouer John. Ils ont analysé, physiqué Salma Hayek et ils peuvent lui faire jouer ce qu'ils veulent, mais comme, elle est de confession chrétienne, bah se voir son image à elle aller chier dans une église parce qu'une meuf a décidé d'aller chier dans une église, ça lui plaît pas. Et quand elle essaye de se retourner contre son avocat lui dit vous pouvez pas vous retrouver contre Streamberry parce que bah à eux aussi, même vous Salma Hayek, vous leur avez donné les droits d'eux. Donc ça interroge aussi ce truc des acteurs et des actrices qui sont dépossédés de leur corps. Et c'est une thématique qui était déjà dans un film que j'aime trop qui s'appelle Le Congrès, qui est un film avec Robin White qui jouait Claire Underwood dans House of Cards notamment. Qui est un film sur, ça commence avec des acteurs qui se font modéliser pour que leur carrière ne s'arrête pas, et aussi parce qu'il y a ce truc de la nostalgie, tu vois. On veut jeune Harrison Ford, on veut jeune Robert De Niro, on veut...
Comme on le voit dans Indiana Jones.
Voilà, on veut ne plus jamais sortir de ces bonnes petites nuggets de nostalgie qui nous font nous sentir en sécurité. Et en fait, peut-être que dans 40 ans, on aura toujours Indiana Jones, alors que Harrison Ford, il sera mort depuis longtemps. C'est vraiment un truc qui est potentiellement réel, quoi.
Oui, le nouveau Indiana Jones, sans spoiler, il y a toute une séquence d'intro qui repose là-dessus. On a vu aussi dans Le Mandalorian, il y a un autre personnage légendaire qui revient sous des traits plus jeunes. Il y a toujours un côté Uncanny Valley, mais on y va.
On y arrive.
On y arrive.
Ça va bientôt plus être le problème. Donc il y a ça aussi dans Johnny the Fool.
Oui, c'est vrai. Mais c'est le truc le moins exploité, je trouve, limite, parce que c'est un peu évacué vite, en vrai.
Oui, pour moi, ça sert juste d'avoir cette grosse machine qu'il faut casser à la fin. Il faut casser l'ordinateur quantique. Ce qui est un peu, je sais pas, Spy Kids level pour Black Mirror. Si on casse l'ordinateur quantique, du coup, toutes ces personnes disparaissent parce que tout le monde est une création de l'ordinateur. Personne n'est une vraie personne.
Y compris celle qu'on pensait être Joanne originale.
Oui, celle avec qui on commence est déjà, en fait, une itération d'une vraie meuf qui, du coup, a elle-même une vie encore plus sympa. Parce que la version que nous, on pensait être la version de base, c'est la version déjà pas sympa de la vie de John, qui a l'air d'être une petite meuf très cool. Et donc, c'est des personnalités virtuelles aussi qui décident de se rebeller et de casser le monde virtuel dans lequel elles vivent, même si ça signifie disparaître pour elles, mourir. C'est mieux que de vivre comme ça, quoi. Et donc, on disait que cet épisode nous a pas convaincus de fou.
Oui, parce
que... Moi, j'ai mis quatrième. Toi, tu l'as mis, je crois, troisième.
Non, en vrai, je l'ai mis deuxième, mais c'est peut-être que...
Ah oui, yes.
On en reparle. Parce qu'en fait, moi, c'est pas tant parce que j'ai apprécié l'épisode, mais c'est parce que toutes les réflexions ça a provoqué chez moi sur le contexte de l'épisode, sur ce qui en a été fait derrière par Netflix, sur ce que... En fait, c'est un épisode qui te pousse à réfléchir pas tant sur ce que l'épisode dénonce, mais sur ce que l'épisode est en tant qu'objet. Et je trouve ça super intéressant de te dire, ok, waouh...
Parce qu'il dénonce pas tant nos comportements. Oui. Joan, elle fait rien de mal. Elle regarde Netflix, elle a un téléphone sur elle et elle a une vie où des fois elle fait des trucs pas ouf mais pas très graves, comme elle doute un peu de son couple, du coup elle revoit son ex et au final, elle l'embrasse et après elle est là, non, je vais retourner chez le mec que je vais épouser. Donc, ça interroge pas tant trop notre rapport à la télé-réalité parce que le rapport du public à cette série n'est pas là. Il y a un peu un truc de la PDG de Netflix, qui est pas là, enfin de Streamberry du coup, explique que à la base ils avaient essayé de faire en gros Joan is awesome, de faire une version cool de ta vie.
Mais que les gens,
les publics testent, ça les intéressait pas de voir une version cool de leur vie, ça les intéressait de voir une version l'économie de l'indignation à la limite peut-être qu'on peut qui a cette thématique. Mais sinon le problème c'est ce que fait Streamberry. C'est pas ce que font les gens.
Mais
Streamberry, c'est Netflix. Donc...
Oui, et puis mine de rien, c'est Netflix qui héberge la série, c'est Netflix qui fait toute une campagne de promotion avec un faux site où on peut soi-même s'incarner, mettre sa photo et devenir Vincent Isofoul.
Est-ce que t'as fait Vincent Isofoul ?
Non.
Non, moi non plus. Parce que j'ai vu qu'après, ils récupèrent ta photo et ils font des tweets et des panneaux de pub avec ta tête. Et j'étais là, wesh.
Oui, non, mais il y a tout ce truc-là. Et donc, en fait, je me dis... À partir du moment où Charlie Brooker essaye de se dire « Ah, je vais être un peu edgy, je vais être un peu dans la dénonciation et tout », et en même temps, il s'inclut totalement dans le système promotionnel de Netflix, et ça devient, cet épisode devient l'étendard un petit peu de cette nouvelle saison et de la promotion autour du retour de Black Mirror. Ouais. Moi, je suis là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il fait partie du système. Il essaye de faire genre regardez, je dénonce quand même, je suis sur une plateforme et regardez. Mais en fait, non, tu y participes totalement.
C'est hyper cynique, quoi. C'est un peu comme si on avait une série Amazon Prime qui ironise sur la maltraitance des employés dans un entrepôt, tu vois.
Oui.
Et c'est un peu genre, gars, c'est vous qui faites ça. Genre, vous pouvez pas vraiment faire de la satire de ça alors que vous le faites. Et je trouve que Netflix peut pas vraiment faire de la satire de... On va modéliser des acteurs pour pas que ce soit eux parce que bah vous le faites. Il peut pas vraiment faire de la satire de on vous abreuve de contenu y compris quand il est négatif parce que c'est pas que vous voulez parce que c'est ça que vous voulez parce que je suis là mais oui mais vous le faites vraiment donc c'est pas une satire c'est pas une autocritique c'est juste genre j'ai un peu l'impression de voir un milliardaire faire une vanne sur le fait qu'il est milliardaire et être là à la fin je suis milliardaire quand même je suis là ok
oui,
pire
oui.
payer un artiste
il y a un côté un peu
pour qu'il le roast tu vois oui
ouais,
c'est ça
vois,
ouais.
Et tu vois en fait, puis Charlie Brooker, il est bloqué de toute façon, parce qu'il peut pas. Il est déjà sur la pire plateforme, enfin le pire diffuseur, c'est-à-dire le diffuseur qui va aller faire tenter certaines choses, qui va avoir des moves vraiment pas ouf vis-à-vis de l'aspect créatif, vis-à-vis des internautes. Donc il est déjà là-dessus, donc il est bloqué quoi. S'il avait été peut-être, je sais pas, s'il avait eu un autre diffuseur. Si Channel 4 lui avait recommandé des trucs, là, peut-être que on aurait perçu ça différemment. Mais
oui.
Là.
Et on n'est pas non plus en train de le blâmer d'aller vers le studio qui produit son art en lui donnant peut-être les moyens de le faire à l'échelle qu'il imagine. Mais le risque de la prison dorée est réel. Et on l'a vu avec d'autres artistes qui, quand tu rentres dans la grosse machine du système, c'est compliqué d'être indépendant créativement, c'est compliqué d'être aligné. Et. Bah, faire une satire de Netflix, Streamberry, dans une série Netflix, dans en plus l'épisode, comme tu dis, dont Netflix est le plus inspiré pour faire sa promo, ouais. Je trouve que ça laisse un goût un peu amer, tu vois. Vous savez, vous êtes conscient, et c'est une vanne, quoi, un peu.
Ouais, non, c'est. Ouais. C'est vrai, espèce de cynisme, mais il est pas avec nous, il est contre nous quoi.
Ouais.
On est un peu les dindons de la farce, j'ai l'impression là-dedans. Et c'est pas plaisant quoi.
Et il offre pas vraiment de solution non plus au problème qu'il pose puisque si un jour en fait le jour où Netflix aura développé son ordinateur quantique pour créer des séries basées sur nos vies avec Salma Hayek en 3D dedans, on pourra pas aller le fracasser cet ordinateur. Ils vont bien le protéger et ils vont nous donner ces séries là quoi. Donc c'est ouais. Pas un épisode de Black Mirror dont on sort en se sentant bien, mais pas pour les raisons de crise existentielle habituelle qu'on vient chercher dans Black Mirror finalement. Ah, Steele Marty dit « C'est intéressant de se remettre en question même si on participe. Être militante et porter des Nike, on reste dans une société, c'est compliqué. »
Oui, alors...
C'est plus faire une œuvre d'art anti-Nike dans une expo payée par Nike, tu vois.
Ouais.
C'est plus ça.
C'est différent porter des Nike... En fait, porter des Nike, c'est à la fois c'est parce que c'est des chaussures qui ont fait partie de toi. Enfin, je veux dire, c'est ça. Ouais, t'as bien répondu. Enfin, t'as vraiment bien répondu. Je trouverais pas de meilleure métaphore. C'est pas tout à fait la même chose à mon sens. Et Charlie Brooker, il est dans une position de force aussi. Il aurait pu choisir. Enfin, bon, il aurait peut-être pas pu faire Black Mirror ailleurs parce qu'il est peut-être déjà en contrat avec eux. Mais il est dans une position de force de base. Donc,
honnêtement, je pense que dans son milieu, oui, c'est un des créateurs de séries qui est les plus reconnus. Il a une grosse carrière et Black Mirror, ça reste une institution. Après, on est aussi en pleine grève des scénaristes. On a là, je crois, pas mal d'acteurs et de syndicats d'acteurs et actrices, même de premier plan, qui envisagent de rejoindre la grève. Donc, en vrai, les services de streaming, c'est pas un sujet sur lequel je suis extrêmement calée, le côté business, mais. Même pour Charlie Brooker, c'est potentiellement pas simple de vivre de son art dans une économie du streaming. Tout comme il y a plein d'artistes qui sont hyper connus, mais comme t'es pas payé au streaming mais aux ventes d'albums, tu vois, si ça s'adapte pas, bah tu vas pas être plus riche ou plus libre de ton art parce que ça stream fort ça l'équipe.
Oui, surtout
Je sais pas trop à quel point il a les coups des franches Après, nous, on va juger le produit qu'on voit. On peut pas. On n'a pas d'infos sur les négociations en interne. Est-ce que c'est Netflix qui a commandé un épisode satirique sur Netflix ou est-ce que c'est lui qui l'a quasiment imposé en mode si vous voulez une saison 6, vous allez me laisser. Et peut-être que pour Netflix, c'est genre, hey, on a déjà été hyper sympa. T'as vu ce qu'on l'a laissé faire Tu vois, peut-être pour eux, c'est déjà une dinguerie. Mais nous, on est là.
Ouais, ouais. Non, c'est particulier. Mais je serais curieux effectivement d'avoir plus d'articles, d'interviews pour comprendre un peu le contexte de création. Mais ça viendra plus tard, je pense.
Oui, je pense. Ouais, Mister Melik dit, on dirait qu'il a voulu mordre la main qui le nourrit et que finalement ça a été récupéré. Ouais, il y a un peu de ça. Encore une fois, l'épisode des vélos, all over again. Est-ce que t'as autre chose à dire sur Joan is a Fool?
Non, je pense qu'on a fait le tour. Ouais.
All right, Black Mirror. Saison 6, épisode 2, Locke Henry, mon deuxième préf et ton premier préf, car nous sommes des gens qui aiment la joie de vivre, en termes de qu'est-ce qui se passe dans l'épisode. Du coup, tu l'as dit, nous sommes en Écosse. Emmène-nous en Écosse, toi qui connais
On est dans le coin de Landes. De Glencoe.
Ok.
A priori, donc c'est plutôt centre de l'Écosse, hein, si je me souviens bien, avec des locks, tout ça, évidemment. C'est très beau, c'est vraiment magnifique. Hein,
ah ouais.
Et en gros, on retrouve un jeune homme qui rentre dans son village natal pour voir sa mère avec sa petite amie, présenter sa petite amie, etc. Et ils sont tous les deux réalisateurs, ils ont une idée de documentaire, mais bon, voilà. Et en fait, ils se rendent...
Sur un mec qui protège des œufs.
Voilà.
C'est important.
Mais ils se rendent compte sur place, raconte à sa petite amie qu'il y a eu... un fait divers assez terrible quand il était plus jeune et ils se rendent compte que voilà il faut raconter ça que leur documentaire c'est ça parce qu'en plus il y a pas mal d'images d'archives, ils retrouvent un petit peu des gens qui étaient présents à ce moment-là, enfin il y a de la matière, il y a la maison où les victimes ont été retrouvées où ils peuvent aller tourner des images. Donc, ils commencent à faire ça, prendre leur petit drone, faire des plans magnifiques
des locks en Écosse et tout. Et alors, il y a deux autres raisons pour lesquelles ils décident de faire ça. La première, c'est que... Donc, c'est un fait divers Il y avait des disparitions dans le coin. Ils se sont rendus compte local qui était serial killer et qui kidnappait des jeunes couples et tout pour les torturer, mais genre horrible. Et en fait, le daron du héros, du documentariste, était policier. Il a été blessé en arrêtant le gars et il est mort un peu des suites de ses blessures plus tard. Donc, il n'a pas été tué par le gars, mais en tout cas, il y a un lien émotionnel, personnel dans sa famille.
Ouais.
Et le deuxième, c'est que ce fait divers horrible a complètement tué le tourisme dans ce bled qui est devenu du coup complètement déserté par les touristes. Et notamment, un des amis d'enfance du héros qui est joué par ce délicieux Daniel Portman alias Podrick dans Game of Thrones. On était tellement ravis de revoir. Il tient un pub, il y a personne. Enfin, tu sens que c'est vraiment l'endroit sinistré où t'as son daron qui vient se servir un grand verre à la bouteille de whisky du bar. T'es là, oula, ok. C'est... Et du coup, il y a un peu l'idée de comme les gens adorent le true crime, peut-être ça va redynamiser aussi le territoire de raconter cette histoire. En plus, comme t'as dit, plan drone, c'est beau, ça va faire venir des touristes, quoi. Et ça existe, le tourisme true crime-esque, le tourisme mortuaire, c'est un vrai truc. Donc, il y a aussi ce truc de ça va servir aux gens qui vivent ici de faire ce documentaire.
Et puis, il commence à tourner vite. Mais non, ça va vite. Hein. Je trouve que pour la production d'un documentaire, une série documentaire, je trouve qu'ils vont vite.
Ouais, parce que alors ils sont un peu jeunes, mais c'est pas un truc d'étudiant parce qu'ils parlent à une boîte de prod quand même à un moment. Mais oui, bon, tu sens que c'est pas le projet qui a 2 millions de budget.
Ils sont en contact avec Streamberry, qui va diffuser a priori le truc, mais qui leur demande il faut plus d'images, vous pouvez aller dans la maison, filmer, etc. Et et puis ils vont dans la maison, dans la cave où il y avait où les victimes ont été torturées par le coupable, l'homme qui les a tués. Et après, il y a quelques petites péripéties, mais globalement, si on passe au twist vraiment important, c'est qu'on se rend compte que le héros, sa mère et son père, donc policier, étaient complices et même les principaux
les cerveaux
de l'affaire. Il torturait pleinement le jeune couple victime. Et donc ça c'est une révélation dont la petite amie petite amie réalise dans un premier temps en visionnant des vieilles VHS d'archives, genre de choses, parce que ils filmaient leurs séances de torture. Donc elle s'en rend compte. Elle est pour une raison annexe, elle est seule avec la mère en plus à la maison. Donc elle veut fuir. La mère comprend que elle a compris, donc elle la poursuit. La jeune femme finit par mourir en tombant dans une rivière, elle glisse, ouais, ouais. Elle se tape la tête.
Un peu connement, mais parfois la vie est un peu conne.
Et la mère décide, elle, de sortir toutes ses archives très personnelles, de vidéos de torture, et avant que son fils rentre, de mettre fin à ses jours. Avec une corde, une chaise.
En gros, elle sait que son secret va être révélé.
Oui, ce qu'elle a compris. Et voilà. Et les VHS, les images sont terribles. Hein. C'est vraiment, c'est de l'horreur, ce qu'on voit.
Ouais. C'est, on dit donc serial killer, mais il y a, on va pas rentrer dans les détails, mais il y a un aspect aussi sexuel à ce qui se passe. C'est vraiment de la perversion. Comme on en lit dans les pires pages Wikipédia, sur lesquelles on finit quand on lit Reddit à 2h du matin. Et c'est alors en partie probablement inspiré d'une vraie histoire qu'il y a eu au Royaume-Uni d'un couple qui ensemble s'adonnait à torturer et assassiner beaucoup de gens dans les années 70-80. Non, même jusqu'aux années 90, je crois. Donc
j'ai une anecdote un peu glauque de mon voyage en Écosse, justement dans cette région-là. Avec mon ami, on cherchait le début, un parking pour faire une randonnée, aller voir un certain coin qui était vraiment à faire apparemment. Et on nous dit qu'il faut chercher la maison de tel présentateur. Un ancien présentateur télé connu, etc. Et donc moi, je comprends pas trop au début.
Samuel Etienne local.
Alors.
Non, je vais regretter cette blague immédiatement.
Tu vas regretter cette blague dans 10 secondes. Parce que
ne
en fait.
Ne clipez pas, j'ai envie d'être continué à inviter dans l'hebdo Etienne.
Parce qu'en fait, je tape le nom de ce présentateur pour comprendre l'histoire de la maison. Et en fait, on se rend compte que ce présentateur-là était quelqu'un de très connu en Grande-Bretagne, mais on s'est rendu compte après sa mort qu'il avait abusé d'énormément d'enfants, notamment. Et donc, en fait, le moyen de repérer sa maison, c'est que sa maison était taguée d'insultes.
Yes.
Et donc, en fait, le point de repère pour démarrer cette rando, c'était l'ancienne maison de ce présentateur. Torsionnaire.
Tu vois la maison du pédo, tu prends à droite et puis c'est.
Et voilà, t'as rando là et donc bonne ambiance. Quoi.
Yes.
C'était vraiment ça. Donc c'est pour ça que, en fait, moi aussi l'épisode, il a un peu, il y a eu ce petit souvenir là qui est revenu aussi quand je l'ai visionné et ça met un cadre. Voilà.
C'est quoi ton rapport au true crime? Est-ce que t'en consommes alors notamment en format série docu Netflix, tu vois, ou série Netflix fiction?
Moi j'aime bien lire.
Ok.
J'adore la lecture.
Moi, je suis plutôt littéraire, plutôt cérébral.
Moi, mon écran, mon Black Mirror, c'est mon livre.
Je savais que t'allais dire mon Black Mirror, c'est un livre et ça m'a quand même énervé. Ça a quand même marché.
On peut se voir dans le reflet de certains livres, surtout s'ils sont. Bon, bref.
Pas les éditions françaises nul à chier où on s'emmerde, certaines.
Mais j'aime bien le true crime, mais pas forcément le true crime Netflix qui m'a mis mal à l'aise. Par exemple, l'affaire Grégory, qui a eu le droit à sa série documentaire avec des drones et des machins et tout. D'ailleurs, les gens dans le village là-bas, ils tiraient avec leurs guns sur les drones de Netflix.
As they should.
Mais j'ai beaucoup aimé lire un énorme bouquin d'une journaliste qui avait couvert l'affaire pour Europe 1, je crois, à l'époque. Ça s'appelle Le bûcher des vanités, le bouquin. Il est énorme, c'est vraiment un pavé, mais qui raconte toute l'affaire, en fait.
Ah, yes.
Et ça, je trouve que c'est...
Une affaire où le rôle des médias
a été
est très, très
essentiel.
Important, quoi.
Ou, comment elle s'appelle
Parce qu'il y a eu harcèlement de la famille, des proches...
Oui, et puis
Marguerite
Duras. Marguerite Duras a accusé...
Non, c'est pas Marguerite Duras. Marguerite Duras, c'est l'autrice de Hiroshima, mon amour.
Bah si. C'est elle qui a accusé
Elle s'appelle Marguerite Duras, comme l'autrice Marguerite Duras et la cinéaste Marguerite Duras.
Mais c'est Marguerite Duras qui a accusé la mère.
Je sais pas, je connais pas l'affaire Grégory, moi, le true crime, ça me donne mal à l'aise. Peut-être, j'ai un doute sur le nom, merci beaucoup.
C'est Mims, c'est trop chou.
Oui.
À mon sens, Marguerite Duras, elle avait fait une tribune dans Libé, je crois, ou un média comme ça, où elle accusait la mère, littéralement. Alors,
ah ouais
elle, 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 elle,
elle n'a rien à faire. Elle n'est pas,
oui,
elle est
genre,
pas enquêtrice.
Juste moi, j'arrive et je dis, à mon avis, dit... Xavier Dupont de Ligonnès, je pense l'Ardèche.
Moi, Margaret Duras, sapiosexuelle,
je la sens pas.
C'est la mère du petit Grégory qui l'a fait. Non, mais attendez. Tu te rendais compte, ça, aujourd'hui?
Ah, j'ai du respect pour moi. Mais j'ai quand même du respect pour Margaret.
Mais je l'ai étudié, hein. J'ai étudié Margaret Duras. Il y a des trucs très bien, des trucs m'ont rendu zinz, mais.
J'avais pas l'info! Mais il y a trop d'infos que j'ai pas.
Il y a un moment, Marguerite, voilà. Faut, en fait.
Stay on your lane. Ouais, peut-être voilà. T'es pas obligé d'avoir un avis sur tout, tu vois.
Fais de la fiction. Enfin, de la fiction, on connaît, hein, mais voilà. Mais merde.
Oui. Merde.
Elle m'a saoulé, Marguerite. Bon, bref.
T'es pas très true crime série Netflix.
Ouais, non, parce que je trouve ça voyeuriste. En fait, dans les effets de montage, dans
c'est
les
machins. C'est le mot, peut-être. Bah, le voyeurisme, quoi.
C'est très voyeuriste. Et puis, encore une fois, quand on voit la politique qu'il y a chez Netflix, bah, avec des séries comme Dahmer, qui sont même des séries fictionnées, mais qui s'inspirent de choses vraies, moi, ça me met pas à l'aise. Donc, je préfère lire des travaux journalistiques purs, à l'écrit, bah voilà, Society ou des livres, mais ouais, j'ai pas une fascination malsaine pour ça. C'est juste que moi, par exemple, voilà, Florence Omna, elle avait fait un bouquin qui s'appelait La Poste, bref, sur la mort d'une employée de La Poste, un peu irrésolue, puis le suspect, c'était un ancien espoir du cinéma français, enfin bref. Et en fait, okay, la façon dont elle le raconte de manière très humaine et pas voyeuriste du tout. Et c'est ça, qui m'intéresse, c'est voilà, bref.
Ouais, il y a un truc d'intention, peut-être, et de... Je pense que c'est humain, la fascination pour l'horrible, pour l'indicible, pour les limites que l'humain peut franchir dans sa perversité. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il y a plein de gens qui sont fascinés par plus la Seconde Guerre mondiale que la Première, par exemple. C'est ce côté, tu vois, l'horreur des camps et à quel point l'être humain peut devenir inhumain. Il y a un côté fascinant là-dedans. On l'a tous et toutes, et je pense que c'est normal. Et voilà, je suis pas la dernière pour parfois finir sur des pages Wikipédia horribles. Alors, comme toi, je préfère lire, en partie parce que c'est plus mon média et aussi parce que je pense que je suis assez sensible visuellement, donc j'ai pas envie de voir des trucs qui vont... J'ai un vrai truc de... J'ai des images qui restent imprimées en tête, tu vois. Et pour le coup, quand j'étais jeune ado, il y avait ces trucs, tu sais, les sites comme Rotten et tout, où il y avait un truc sur Internet où il y avait une mode de site où tu pouvais trouver des vrais contenus extrêmement gore, de vrais accidents de voiture, par exemple, la review, des choses comme ça. Alors, ça existe encore, hein, mais... En tout cas, quand j'étais ado, ça se faisait. J'ai pas l'impression que les zoomers sur TikTok, ils s'échangent le nouveau Rotten, tu vois.
Il y a des trucs un peu glauques, mais fake, mais plus en mode...
Ah ouais.
Plus dans la vibe du Slenderman ou des trucs comme ça.
Oui, du fake, creepypasta,
ouais,
quoi.
Ouais, du creepypasta, voilà.
Là, c'était des vrais... c'est comme si, voilà, des photos prises aux urgences, par exemple, ou des choses comme ça. Ouais. Horrible. Et moi, j'ai jamais été là-dedans. Donc, je suis plutôt lecture. Et le true crime, j'ai écouté un peu de podcasts, notamment Serial, qui était un
Oui, bien sûr.
Le premier gros podcast qui a lancé la vague, la mode de tous les podcasts qui refont des enquêtes sur des cold cases, donc soit des cas de raison lue, soit... Au début, il y avait beaucoup de côtés, genre, peut-être il y a une injustice dans le jugement. Peut-être il y a quelqu'un qui est en prison alors qu'il devrait pas l'être, et peut-être qu'on peut révéler la vérité.
Ouais.
Alors que là, sur Dahmer, il n'y a plus rien à révéler, tu vois. Le gars, c'était un serial killer. Il y a aussi ce truc de... Je suis dans la team, il faut pas donner de l'attention aux serial killers, aux terroristes, etc. Tu vois, ils veulent être connus, il y a un truc d'ego là-dedans, donc... Mais le sujet est quand même intéressant, mais il faut qu'il soit bien traité. Et je suis d'accord avec toi, je trouve que dans la version Netflix des choses, il y a souvent un côté voyeuriste. Et je crois que j'ai arrêté complètement de donner sa chance à du contenu true crime à cause de Netflix, parce que je regardais un docu-série de Netflix sur un truc de true crime où, en gros, c'est des gens qui avaient forcé un gars à porter un explosif sur lui et à aller braquer un commerce à leur place. En gros, comme ça, ils vont pas te tirer dessus parce que t'as des explosifs, mais si tu fais pas ce qu'on te dit, on te fait péter. Et en fait, à un moment, ils ont fait péter l'explosif. Et il y a la vidéo dans le truc Netflix. Il y a aucun avertissement. Moi, je suis là, je regarde déjà un docu true crime. Bon, je suis pas partie pour passer une soirée fun, mais d'habitude, enfin, je suis pas signée pour voir un mec mourir à l'écran, tu vois. C'est quand même pas un truc. Moi, j'étais là en mode, attends, mais en tant que société, on a collectivement décidé que on peut vraiment montrer une personne en relatif gros plan mourir à l'écran, se faire tuer, et c'est ok parce que ça a été filmé à ce moment-là. Enfin, non. Donc, et du coup, j'ai arrêté là. Et j'étais là. En fait, je vais plutôt me tourner vers l'écrit quand j'ai envie de lire des trucs sur des affaires criminelles, parce que parfois il y a des aspects intéressants dedans. Et je trouve que c'est intéressant et peut-être moins cynique que dans Joan is a Fool, cette interrogation quand même de à force de chercher le true crime et le lien émotionnel, tu vois, et de capitaliser sur l'attrait des gens pour ça, qu'est-ce qu'on perd d'humanité dedans et qu'est-ce que ça a fait aux vraies personnes touchées par ces histoires-là, tu vois.
Oui, parce que là, comme ils mettent le réalisateur du documentaire directement dans la position de victime indirecte aussi, puisque c'est un enfant qui découvre que ses parents étaient des tortionnaires, meurtriers, etc. Effectivement, ça le met un peu face lui-même à son propre... à son propre projet, à ses propres limites, quoi.
Et surtout, il a été au bout.
Oui.
Puisqu'il l'a sorti son docu et ça se finit avec lui qui gagne des Emmy, enfin des prix.
Oui, mais il en sort pas heureux, tu vois. Le plan final, tu le vois, il est... Bon, petit mood, quoi, quand même.
Petite descente. Ouais. Et en même temps, tu te dis...
Mais en même temps, tu le plains pas parce
une fois que...
Il est devenu célèbre, il est machin, tu vois.
Je pense qu'il y a un côté, au moins, ça aura servi.
Oui, mais tu vois, mais justement, je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'on sent pas assez ce qu'il a perdu. Vraiment. Tu vois, parce qu'en fait, on le voit avoir sa récompense, et vraiment, la fin où il se retrouve seul avec lui-même, même si tu le comprends et tout, je pense que c'est vraiment genre les 10, 30 dernières secondes où, il va phaser, mais c'est dommage, qu'il n'y ait pas un truc un peu plus.
En fait, on le voit jamais réagir.
Ouais, c'est ça.
La révélation que sa mère était sa killer, que son père l'était, on le voit pas réagir à potentiellement il est rentré chez lui, il a regardé les cassettes, genre what? Et sa meuf est morte aussi, tu vois.
Oui, c'est
donc
vrai.
On n'a pas du tout tous ces moments de vie avec lui et on le voit pas tant dans l'épisode, il est assez réservé.
Mais après,
aussi,
tu vois, je pense que ça aurait plus d'impact si lui avait été beaucoup plus chaud pour le projet que sa copine.
Oui. C'est
lui qui avait poussé. Parce que là, je vois effectivement Maxi Buch qui dit c'est lui qui tue entre guillemets sa mère et sa copine. Pas vraiment, enfin,
c'est pas lui, il voulait faire le docu sur les œufs en vrai. Il était là, moi j'aime bien l'histoire du gars avec les œufs, tu vois.
Crâne d'œuf, Jeff Bezos, tout ça, tu vois. Genre, c'était très bien, mais là, effectivement, moi, s'il y avait eu ce twist scénaristique où effectivement lui il aurait été vachement dedans, il aurait poussé sa copine à les filmer et tout, là, effectivement, le retour de bâton il aurait été plus fort.
Ouais. Bah, ou alors, et c'est là où, un peu comme dans Maisie Day, j'ai un peu cette frustration j'ai l'impression qu'il y a un très bon épisode de Black Mirror là-dedans, qui y est pas, c'est que ça aurait pu interroger, justement, l'aspect prédateur des gens qui vont forcer les victimes ou les victimes collatérales de ce genre de crimes horribles à, en fait, qui vont exploiter leurs histoires en leur faisant croire que ça va leur rendre service à eux, et tu vois, tout ce truc de c'est important de raconter votre histoire et votre version des faits et tout. Ou en fait, c'est limite dommage que sa petite amie, elle meure, parce que si sa petite amie, elle vit, elle doit vivre avec la culpabilité de « j'ai motivé mon gars à faire un docu qui lui a révélé que sa mère et son père étaient des serial killers, genre « j'ai gâché forever la vie de mon gars parce que parce que j'ai eu trop d'ambition et que j'ai pas voulu faire le docu sur le mec des autres. »
Oui, je suis d'accord.
Et en fait, au final, on n'a pas...
Elle meurt bêtement.
Il manque un peu l'un ou l'autre, quoi.
Ouais, je pense que tu renverses quelques trucs et c'est plus fort encore.
Ouais.
Mais je suis d'accord, Junirion, c'est marrant, c'est intéressant aussi, les forces de l'ordre qui témoignent en transformant leurs actions pour passer pour des héros, parce qu'on est trop fiers dans un docu Netflix. C'est devenu une esthétique, quoi. C'est vraiment le fond un peu gris anthracite, face cam, avec des moments de silence, en mode témoignage.
Oui, il y a des parodies de docu Netflix.
Mais moi, je vous conseille American Vandal, qui est c'est sur Netflix. Mais c'est Funny or Die qui a fait ça. Et en gros, c'est un ado dans un lycée qui fait une enquête, mais à la Netflix, sur un gars qui a tagué pour savoir qui a tagué des beats sur les bagnoles des profs. et en fait, c'est ça, pour moi, le meilleur faux docu. Enfin, ce que ça montre, toutes les mécaniques qu'il y a derrière, les exagérations, les tournures de montage et tout. Je trouvais ça très drôle. La saison 2 est un peu moins bonne, mais bref, voilà. Si vous voulez regarder un truc de true crime, le crime étant tagué des bits sur des bagnoles, vous pouvez regarder ça.
Vous pouvez aussi écouter l'excellent podcast Qui m'a filé la chlamydia de Anouk Perry, qui a décidé d'enquêter sur.
Oui, c'est vrai,
OG porteur ou porteuse de chlamydia dans sa bande de potes qui se chopent un peu tous parce qu'il y en a marre au bout d'un moment. Donc voilà, c'est des true crime avec moins d'enjeux que ma mère était sale killer avec une perceuse et c'est horrible.
Ouais.
Donc voilà, pas un mauvais épisode, il est pas mal placé pour nous, mais. Peut-être par rapport à tout ce qu'on aurait pu faire avec ce thème de notre rapport au true crime façon Netflix. Ça se finit peut-être un peu tôt, quoi.
Ouais,
c'est un peu court.
Un sentiment de petit mini rendez-vous raté avec ce que ça a pu être. On aurait pu donner encore plus de profondeur, je pense, effectivement, au truc. C'est dommage.
Ouais. Et alors, donc, le premier, il y a quand même un peu de tech, d'anticipation tech, puisqu'il y a cette histoire d'ordinateur quantique, ouais. Netflix qui recrée Salma Hayek et tout. Là-dedans, pas du tout, puisque ça se base sur des VHS. Et on verra qu'il n'y a pas tant d'épisodes de cette saison qui nous amènent ce côté SF, un peu, qu'on pouvait attendre dans Black Mirror. Mais il y en a dans l'épisode 3. Mon préféré, mais pas le tien. Beyond the Sea. Bah, alors,
vas-y, fais le résumé.
Ok, et comme ça, après, tu poses ta question. Le gars, voilà. Il regarde en mode, je vais poser ma question. Et moi, je suis là, j'ai la réponse à ta question. Ok.
T'as la réponse à ma question ?
Je pense que j'ai la réponse à ta question.
Ok.
Mais peut-être pas du tout. Donc, ça se passe dans les années, fin des années 60, conquête de l'espace. On suit deux astronautes qui partagent leur temps entre une navette spatiale dans laquelle ils évoluent dans l'espace pendant plusieurs années pour faire une mission. Et on suit leur double des androïdes modelés à leur image à 100%, dans lequel ils peuvent envoyer leur conscience depuis la navette spatiale pour vivre une vie entre guillemets normale sur Terre avec leurs conjoints et leurs conjointes et leurs enfants respectifs. Alors ils sont collègues, c'est-à-dire que dans la navette spatiale ils sont ensemble, mais dans la vraie vie ils vivent chacun à un bout des États-Unis. Ils semblent évoquer que en fait ils bossent ensemble, mais ils sont pas hyper potes, quoi. Ils sont pas hyper proches. Et malheureusement. L'un des deux voit sa famille se faire massacrer sous ses yeux par des gens qui trouvent que c'est contre nature, cette histoire d'androïde humanoïde, et que on n'est pas censé avoir des hommes dans les étoiles et leur image qui vit sur Terre. Donc un genre de Manson Family.
Voilà, c'est très référencé Manson Family.
Ouais, très voilà. Mais tu fais bien parce que j'allais oublier de le préciser. Et donc on a. Et ils détruisent aussi sa réplique Android. Donc, on a un astronaute qui est coincé dans une navette qui ne peut plus accéder à sa doublure terrestre parce qu'elle a été détruite et qu'ils peuvent pas en refabriquer une s'il est pas là. Et du coup, son copain astronaute, qui lui a toujours une doublure terrestre qui marche, il commence à se dire peut-être que le fait de ça te fait massacrer sa famille sous ses yeux et d'être coincé dans la station, ça fait qu'il commence à péter un câble. Et peut-être que faire un petit tour dans la forêt, ça lui ferait du bien. J'ai qu'à l'inviter dans mon corps. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Comme ça, t'inquiète même pas, bébé. Il dit ça à sa femme. Le mec, il vient une heure dans mon corps. Ce sera pas moi, ce sera lui, mais il me ressemblera fort. Et il se balade dans la forêt et c'est tout.
Cette phrase.
Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Eh bien... Ce qu'il se passe mal, c'est que bien évidemment, le personnage de Josh Hartnett, qui est en train de devenir totalement fou aussi, parce que sa famille s'est fait massacrer, en incarnant le corps de son collègue joué par Aaron Paul, développe des sentiments, ou en tout cas ce qu'il interprète être des sentiments, ou en tout cas du désir pour sa femme, essaye de la pécho, sa femme elle est là, mais enfin pas du tout, tu n'es pas mon mari, et du coup... il perd son accès à la Terre. En gros, Aaron Paul, il lui dit « je vais plus jamais te laisser rentrer dans ma doublure terrestre, mon gars, t'as essayé de baiser ma femme. » Et du coup, il se dit « comment pourrais-je gérer ce traumatisme ?» Il vole la doublure terrestre d'Aaron Paul et il massacre sa famille. Comme ça, ils sont tous les deux coincés dans la navette spatiale en ayant perdu leur famille. Et comme ça, ils sont ensemble dans la souffrance. C'est beau des hommes qui travaillent ensemble, je trouve. Voilà, c'est Beyond the Sea.
Voilà, c'est... Oui. Alors...
J'ai adoré.
T'as adoré, très bien. Mais parce que ça comme tu es une Bradbury zouze, voilà.
une Bradbury chouin.
Non, parce qu'en plus, il y a plein de références à des ouvrages de SF tout du long. Ils vont à la bibliothèque, tout ça. Donc je pense
ont littéralement un bouquin Bradbury dans la navette spatiale. C'est le seul bouquin qu'ils ont. Donc j'étais là.
Mais. Ça a été algorithmiquement pensé pour toi. Mais okay. Moi, je vais poser tout de suite d'emblée ma question. Pourquoi, plutôt que d'envoyer les vrais humains dans l'espace, pourquoi ils n'envoient pas les répliques robotiques, machin, alors que les robots sont capables de faire la même chose? Je veux dire, il y a un des personnages, en étant dans le robot, il est capable de peindre des trucs de ouf.
Oui.
Et de vraiment...
Oui, il y a l'air d'avoir une période d'adaptation un peu, mais après...
Oui, mais après, franchement, ils sont capables de faire absolument ce qu'ils veulent.
Non, probablement pas la pénétration. Je pense qu'ils n'ont pas de pénis. Mais... Ah, je pense qu'ils n'ont pas de pénis. Je pense que l'épisode nous dit clairement qu'ils n'ont pas de pénis. Parce que...
Ah oui, parce qu'il y a des caresses...
Il y a du sexe digital dans les années 60. Je suis là... Si Josh Hartnett avait un pénis, t'inquiète qu'il aurait sauté sa femme. On l'aurait vu. Donc, voilà. Ils peuvent faire presque tout. Mais ils n'auraient pas besoin de leur pénis dans la station. Donc, pourquoi ils n'ont pas mis les robots dans la
navette? Attends, mais... Voilà, oui, donc on y revient. Oui. Donc il y a ce truc-là. Bon, déjà, effectivement, je vois un commentaire de Mélissa qui parle, voilà, de tuer les personnages féminins, etc. Et puis au final, tu te retrouves avec juste deux hommes horribles qui font des choix catastrophiques de A à Z. Des personnages détestables pour qui j'ai aucune empathie. Voilà. Et voilà, mais alors réponds-moi. Pourquoi ils ont pas envoyé les robots?
Et Monsieur Mélic l'a dit dans le chat et a raison et c'est dit dans l'épisode. À un moment dans l'épisode, Josh Hartnett, il se fait reconnaître par quelqu'un qui est passé une célébrité.
Ah, j'ai oublié ça.
Et il dit un des trucs, mais c'est vraiment une phrase et ça passe vite. Donc en vrai, je te blâme pas et t'es pas le seul à avoir eu cette question. Mais il dit une des missions principales de cette expédition spatiale, c'est d'étudier les effets à long terme sur le corps humain de la vie dans l'espace. Donc
chiant.
Parce que c'est littéralement le but de la mission.
Oui, mais on s'en fiche.
Non!
C'est chiant!
Bah non, attends, ta question c'est pas logique, ma réponse c'est logique et c'est expliqué dans l'épisode.
Ok, question subsidiaire. Pourquoi ils ont besoin de les envoyer aussi loin? Je veux dire, l'effet dans l'espace, tu vois, il pourrait être plus proche.
Mais peut-être qu'ils.
Ils vont un petit week-end. Week-end dans l'espace, ils testent, et après 5 jours, 6 jours. Voilà.
Ouais, bah peut-être qu'ils ont fait 5 jours, 6 jours, et là ils sont à 5 ans.
Ils ont pas besoin de les envoyer si loin. Tu veux tester l'autonomie de ton gosse, tu l'envoies chercher à la boulangerie une baguette.
Tu l'envoies pas 5 ans en Australie.
Tu l'envoies pas à Trouville chercher des moules frites. Enfin, je veux dire, il y a un moment aussi, merde.
Écoute, Rick Ladd dit, et je pense que c'est vrai aussi, si la liaison foire avec les robots là-haut, la mission est capoute, dans l'autre cas, en vrai, la mission continue parce que t'as deux humains dans la navette qui vont quand même continuer à faire leur taf, même si ils peuvent pas continuer à aller dans leur, leur enveloppe charnelle. En tout cas, c'est possible. On verra. Est-ce qu'à ton avis, combien de temps ils survivent après la fin de l'épisode? C'est quoi leur longévité avant de s'entretuer?
Enfin, je sais même pas. Puis en fait, ça m'intéressait plus. En fait, à partir du moment où j'ai compris que l'autre avait massacré gratuitement, et en plus, ce gars-là, il va même pas voir la tombe de sa famille. Sa zouze, il va même pas la voir. Il en a rien à foutre. Il veut faire
mais
des
dessins. Mais il a qu'une heure.
Mais non, mais
ils habitent chacun à l'autre bout du pays. Parce qu'il dit, on est très. Donc lui, le personnage de Josh Hartnett, c'était grave,
ça
un
m'énerve.
Beau gosse playboy, il habitait en
mais
Californie
tous ces trucs,
et tout.
Là, pour arranger le scénario,
l'autre, Aaron Paul, il s'est mis tout au fond des bois, mais parce qu'aussi, je pense qu'il sait que c'est chelou d'avoir une doublure. Ah, il y a un moustique de fou sur le pied de ma cam, je le hais. Je pense qu'il veut se protéger du monde aussi et protéger sa famille du monde. Donc lui, il s'est mis tout au fond des bois dans un autre état. Et d'ailleurs, quand la famille de Josh Hartnett se fait massacrer, il dit à sa femme, la Californie, c'est loin d'ici. Et en gros, cet arrêt-là, la Manson Family, ils sont en Californie. Et il vient que pour
facile.
Une heure. Et on a l'air de comprendre qu'ils font un peu ça en soum-soum de la NASA, tu vois. Et là, moi, où j'ai un vrai problème de logique avec cet épisode, même si c'est mon préféré de la saison, c'est que fait la NASA? Le gars, il se fait massacrer. Ils sont visibles, enfin, sa famille se fait massacrer, son enveloppe terrestre
aussi
se fait massacrer.
Ils sont
visiblement capables de lui envoyer quand même des VHS de l'enterrement de toute sa famille.
Ouais.
Mais ils peuvent pas lui faire une bisou avec un psy. Ils peuvent pas, genre, dire à Ron Paul, mon gars, on va te donner des connaissances et tu vas lui amener. Mais je pense qu'en vrai, j'explique ça par.
C'est Josh Hartnett, ok?
C'est les hommes des années 60 et je trouve ça pas inintéressant.
Non, mais tu vois, là, il y a tout. Toi-même, t'es en train de. En fait, ça m'énerve les scénarios où il y a toujours des mini-explications. Oui, mais c'est parce qu'ils habitent pas à côté.
C'est expliqué dans. Mais ils habitent à.
En fait, c'est parce que.
Mais ils le disent!
Ils habitent pas à côté, c'est pour ça ils peuvent pas aller sur la tombe de sa femme. Voilà, non mais arrêtez.
Ils demandent même pas. En fait, moi je suis plus emmerdée par ceux qui demandent pas.
Ils n'en parlent pas du tout.
Et en même temps, ça dit peut-être des choses.
Il veut
squeezer la gota zouze.
Voilà.
Oui, ça on l'a sait, on le sait.
Il veut Bumblebee le Mégatron là.
Il veut visiter son orbite. Bref, vous l'avez. Voilà, il veut. Bon, en fait, tout ce que tu dis, genre. Je l'entends et je pense qu'il y a il y a certains aspects où je trouve ça pas logique. Que la NASA se dise pas, ce mec vient de vivre un traumatisme extrême et on va mettre tout ce qu'on a sur, parce que même si on se dit la NASA ils veulent juste sauver la mission et en fait le gars ils ont perdu son robot mais on s'en fout, il est dans le vaisseau, ils savent très bien que s'ils pètent un câble dans le vaisseau, ils expliquent plusieurs fois que c'est une mission pour deux personnes et qu'ils ont besoin d'être deux pour faire marcher le vaisseau. Et là je t'amènerai un problème logique qui est, du coup, pourquoi ils sont pas quatre? Vraiment, pourquoi vous avez pas une équipe B? Et en même temps, c'est la course à l'espace et les années 60, enfin, tu vois, genre, c'est le début, quoi. Déjà hyper compliqué d'envoyer deux gadgets en termes de poids, de volume, de masse, de faire décoller le truc et de les faire vivre 5 ans. Donc, 4, peut-être que c'est. Si
ils
c'est 4, on le fait pas.
Et à 4, tu peux jouer à Codenames. Je veux dire. Tu vois
c'est... Ouais.
Non, mais tu vois ce que je veux dire?
Ils auraient pu faire une double doublure chacun de eux, une pour la Terre et une pour là-bas, comme ça, ils sont 4 là-bas,
non,
mais deux fois eux.
Non, mais ça m'énerve.
Après, ils se baisent entre eux et tout. Et là, on a un truc woke. Là, on a un truc déconstruit en mode. C'était quoi? C'était. Ah oui, Striking Vipers. L'épisode de Black Mirror, tu sais, avec les deux potos qui jouent aux jeux vidéo.
Ça, je l'ai pas vu, sûr.
Ah, bah ça, c'est un peu. C'est deux bros. Ils sont là, ils jouent aux jeux vidéo. Et dans le jeu vidéo, ils incarnent un mec et une meuf. Et c'est un jeu où, genre, tu ressens les sensations des joueurs. Et c'est un jeu de baston, tu vois, à la Tekken. Et sauf qu'ils commencent un peu à se pécho dans le jeu. Et t'es là. Du coup, ils étaient gays. Et ils sont vraiment en mode no homo. Et en même temps, bah, c'est quoi, genre, tu vas dans le métavers et tu chopes ton pote. Sauf que toi, t'es dans un skin de meuf.
Ouais.
C'est quand même pas. Voilà, c'est intéressant.
Ouais, ouais, mais je le regarderai peut-être.
Je trouve qu'il y a, il y a des trous logiques. Mais c'est de la SF, c'est de l'Uchronie, c'est du rétrofuturisme. Noirs, et en fait, il y a aussi des trous logiques dans Bradbury. Parce que l'important, c'est pas tant. Pour moi, et pourtant, j'aime pas trop les plot holes, tu vois, mais je suis là. L'impact émotionnel d'imaginer, genre, de à la fin, Josh Hartnett qui pousse la chaise en disant « Bienvenue en enfer, je suis la seule personne qui peut te comprendre. » Et je suis d'accord que c'est monstrueux ce qu'il a fait.
Juste parce qu'il a pas pu s'excuser, tu sais.
Mais non, mais pas parce qu'il a pas pu s'excuser pour tout, pour l'intégralité de qui il est. Et je trouve que...
Ouais, non, mais...
Alors, il y avait, ça disait dans le chat, j'en ai marre des meufs qui se font tuer pour faire avancer l'intrigue. Je suis d'accord. C'est un procédé qui a un nom même, on en avait parlé avec Fabrice Florent récemment. Ça s'appelle le fridging, ou les femmes dans le frigo. Ça vient des comics où, notamment, je crois que c'était la... fille du commissaire Gordon dans Batman qui était retrouvée morte dans un frigo ou un truc comme ça, il me semble. Ou en tout cas, c'est cette habitude de faire mourir des femmes pour faire avancer le personnage masculin, et c'est clairement ce qui se passe dans cet épisode. Mais pour moi, c'est un épisode qui... C'est des mecs des années 60 qui sont coincés, et limite, ce qui se passe à la fin, c'est un féminicide. C'est si je peux pas l'avoir, personne l'aura. Si je peux pas avoir cette femme, et ben son mari non plus, il l'aura pas, et je suis ok avec le fait de massacrer une femme et un enfant, en plus dans un temps record... pour qu'un autre homme comprenne ma souffrance à moi, qu'on m'ait ôté ma femme. Je suis là, mais allez en thérapie, les gars, arrêtez de tuer des meufs. Mais je suis là, bah, pour moi, c'est un des messages, tu vois. C'est un des trucs que l'épisode interroge un petit peu, quoi.
Ouais, mais qui interroge, mais sauf que ça se passe dans les 4 dernières minutes, quoi. Enfin, tu vois, encore une fois, il y a un truc de genre, ça finit tôt, quand même.
Ouais.
Je sais pas.
Je suis d'accord que j'aurais bien aimé un peu plus longtemps.
Enfin, je... Ouais.
Pour peut-être m'attacher au personnage, parce que tu dis aussi que tu les aimes pas.
Ah ouais, non, mais ils sont détestables.
C'est peut-être un des problèmes.
Tu vois, encore si Aaron Paul, le personnage Aaron Paul, avait une situation cool avec sa femme, machin, mais il y a un problème entre eux parce que elle le dit, hein, et il la touche plus, elle s'ennuie à la campagne et tout. Enfin, je veux dire, c'est...
Oui, en même temps, je pense que... Alors, on sait aussi qu'il est... Enfin, c'est un homme assez tradit, un peu militaire. Il a l'air de... Il est très à l'aise avec les corrections physiques sur son fils. Après, encore une fois, c'est les années 60. Et l'autre gars a l'air... Enfin, Josh Hartnett aussi, mais une tarte à son fils. Donc bon, les violences éducatives ordinaires. Pour moi, dans le fait qu'il touche pas sa femme, il y a le fait que c'est un mec un peu tradit, fermé. Mais il y a aussi le fait que dans sa tête, c'est pas lui. C'est un robot de lui. Et tu vois, il dit les grâces avant de manger et tout. Donc, je pense qu'il y a aussi les croyants. Probablement chrétien, parce que les États-Unis, et que du coup pour lui, si son robot il couche avec sa femme, c'est genre c'est pas la voie du dîne, tu vois, c'est Dieu, il a pas voulu ça, donc ok pour faire un robot pour des raisons pratico-pratiques de métier, de comme ça je peux passer du temps avec mon fils et tout, donc, et la mission elle se fait, mais sa femme, ses ceintures, à mon avis, il lui fait un câlin, t'as l'impression que c'est la première fois qu'il lui a fait un câlin depuis je sais pas combien de temps qu'ils sont, je crois qu'il dit ça fait 2 ans
et puis, ouais,
qu'ils sont en mission, il leur en reste 3. Donc, mais pour moi, c'est pas qu'il la touche pas parce que c'est un gars, c'est qu'il la touche pas parce qu'il est là-bas, c'est pas moi. Et du coup, raison de plus que ça soit un gros sacrifice pour lui d'envoyer quelqu'un d'autre dans son enveloppe corporelle. Tom Pouce dit, Josh Hartnett aurait pu abandonner Aaron Paul dans l'espace et le remplacer auprès de sa femme, ni vu ni connu. Je pense que attendait comme ça.
Et puis, il y a un moment, quand il s'embrouille, t'as un cut, on revient sur Terre. Et on n'est pas sûr de qui revient. Tu vois, il y a un truc, il y a un moment.
Mais tu après, sais qu'il est dans Aaron Paul, du
voilà.
coup.
Voilà. Mais ça, j'ai trouvé ça intéressant. Mais après, assez vite, c'est désamorcé parce qu'il pète le tableau et tu sais, il s'énerve et tout, machin. Oui. Mais moi, j'aurais préféré une fin un peu comme ça.
Ah, genre où à la fin, tu vois Aaron Paul et
t'es
là.
Tu sais pas qui est revenu.
Ça aurait été bien, j'avoue.
Mais tu vois, et parce que en fait, là.
Mais plus attendu, peut-être.
Plus attendu, je sais pas, mais en même temps, est-ce que ce qui est arrivé, genre un massacre complètement, non, il y a pas de massacre qui est pas gratuit. Désolé, hein, mais je veux pas.
Oui.
Mais je veux dire, c'est.
Non, mais c'est vrai que là, t'es là, bah, mon gars, t'as l'air d'être un good guy. Il a pété un câble et il a massacré une femme et un enfant à main nue, quoi. C'est quand même un niveau de. Alors bon, peut-être que effectivement, on aurait eu besoin d'un peu plus de temps pour voir à quel point. Il spirale, ce gars-là, quand il est tout seul dans la navette.
Parce que c'est vrai qu'on voit, là, on voit ça plus et... Aaron Paul sur Terre que lui dans la navette.
Oui, on voit sa barbe qui pousse, on le voit tourner en rond comme un mec dans une pensée seule. Il a de la... C'est vrai, le personnage de Josh Hartnett dans cet épisode, il a de la chance. Mmh. On peut le dire, bien sûr.
Je l'envie. Moi, la conclusion de l'épisode, oh là là, Josh Hartnett, quelle barbe.
Et j'ai vu des avis qui disaient que les gens auraient bien aimé peut-être une limite une intro qui nous explique un peu le sens de cette mission, qui nous montre peut-être qu'il y a eu une première mission où ils avaient envoyé les robots et ça a foiré. Et du coup, ce coup-ci, ils se disent, il faut qu'on envoie les humains.
Ça manque de NASA, tu vois. C'est ce que tu dis. Hein.
Ouais. C'est... Que fait la NASA? Que fait la police, vraiment?
Ouais, ils sont là. C'est vraiment, ils se sont dit, ah, mais non, mais c'était un week-end. Ouais. Il y avait un pont. Il y avait
non,
un pont
mais là,
plus.
on n'était pas d'astreinte, quoi.
Il y avait pas, ouais, mais c'était Jean-Michel à la base. Il devait, puis enfin, c'est sur le planning. Bref, il y a une confusion. Désolé. Tu vois, genre, vraiment, ils font rien pour. Enfin, puis c'est quand même un gros bas. Enfin, bref, non, mais après, j'ai lu un commentaire de quelqu'un qui disait, ouais, c'est de la SF. C'est, voilà, la logique, elle est pas toujours là. Effectivement, dans des interstellars, dans plein de... Tu peux te dire, ouais, ok. En fait, tu fais un pacte avec la SF pour accepter
certains... Oui, mais il faut qu'il y ait une
logique
interne. Et là, l'épisode, il dit, c'est la NASA, c'est les années 60 telles que vous les connaissez, mais avec cette techno qu'on n'a pas, qui est de pouvoir transférer le corps d'un humain dans un android de lui. Mais à part ça, tout le reste du monde a l'air le même. Donc on est obligé de se dire, en tant que... Enfin, pour moi, c'est le contrat scénaristique. Si on nous dit pas, c'est une autre NASA, si on nous montre pas, c'est une autre NASA, c'est normal qu'on se dise, c'est la NASA qu'on connaît. Et même si on voit la NASA que comme des chercheurs obnubilés par la réussite de la mission, bah la santé mentale d'un des deux gars dans la navette, c'est quand même un facteur important de la réussite de la mission. Donc il aurait peut-être fallu avoir à minima une explication, peut-être une aide qui refuse. Tu vois, de Aaron Paul qui lui dit, bah, la NASA, elle m'a filé tel et tel bouquin, ou tel et tel truc pour toi, et lui, il veut pas les regarder, ou.
Plus égale plus de Lena Situation.
Voilà, c'est, le, je pense, la solution à tout ce qui est deuil de toute ta famille sous tes yeux, quoi. C'est pas mal, voilà.
Reco.
Ouais.
Reco de fin de live. Ça sera ça.
Mais, l'angoisse existentielle que ça te pose à la fin, de, tu vois, l'épisode, il te laisse avec cette chaise poussée. Et le regard d'Aaron Paul et cette idée de... C'est l'histoire de deux mecs coincés dans un vaisseau. Et il y en a un qui... Enfin, les deux veulent s'entretuer, mais s'il y en a un qui tue l'autre, les deux sont condamnés. Combien de temps ils durent? Je suis là, putain. Ça a toujours été une bonne histoire, tu vois. Ouais. Ça marche sur un bateau, ça marche sur une île déserte, ça marche sur deux échoués dans une montagne enneigée, et ça marche encore mieux dans l'espace. Donc j'étais là. Et vous êtes un peu là, parce que vous êtes des cons de mecs aussi, tu vois. À la base, c'est pas de sa faute, sa famille, elle s'est fait tuer. Je dis pas ça.
Pourquoi vous avez besoin d'aller dans l'espace alors que votre bonheur, il est, il est à un mètre de vous?
Et vous la touchez pas depuis des années, et peut-être elle va vous tromper avec.
Ah, je parlais du fils.
Ah, aussi. Donc, les enfants, c'est important.
Mais il faut pas les toucher.
Ouais.
Enfin, c'est ça le.
Bah, affectueusement, mais pas. Bref, vous l'avez. Mais du coup, le mec qui était pas dans le corps n'a pas vu sa famille se faire massacrer par l'autre. Alors. Le premier, donc Josh Hartnett, il voit sa famille se faire massacrer. Aaron Paul, non, parce qu'il est en mission dans l'espace.
Et il attend que l'autre revienne. Quoi.
Ouais, et l'autre, il en profite pendant qu'il sort de la navette pour réparer un truc qui n'est pas cassé. Pour Mais on voit Aaron Paul découvrir sa famille massacrée. Et alors, il y a un peu la question, j'ai vu des gens dire, mais de toute façon, Aaron Paul, sa vie, elle est finie parce que quand il reviendra sur Terre, ils vont l'arrêter pour le meurtre de sa famille et tout. Et j'étais là, je pense qu'il y a des logs. Quand même de qui s'est branché quand. Il y a des logs de là, il était vraiment dans l'espace à ce moment-là, tu vois. Quand il y a une connexion sur son réseau Wi-Fi local.
Il y a les receipts.
Je pense quand même qu'ils ont... J'espère qu'ils ont l'étiquette. Donc voilà, j'ai bien aimé. Je te rejoins sur... En fait, c'est marrant parce qu'il y a des trucs qui, pour toi, sont des défauts. Genre, les personnages sont détestables et c'est un crime beaucoup trop violent. Ce massacre d'une famille à la fin, et je suis là, yes, ça fait partie des trucs que j'aime bien, parce que je trouve que il y a un peu des thèmes, voilà, masculinité, patriarcat dedans, qui sont peut-être pas assez creusés, mais qui, voilà, je vois un peu des trucs autour.
Non, mais je comprends.
Enfin, tu vois, quand un mec va massacrer une meuf parce que juste elle veut plus sortir avec lui, c'est aussi démesuré, et ça arrive tous les jours.
Oui. Je suis d'accord. Non,
Mecs pètent un câble dans la vie sans subir l'isolation d'être dans l'espace, en ayant perdu toute leur famille, donc, bah, ils pètent encore plus un câble.
Ouais. Non, bon argument, effectivement, je suis d'accord avec toi. Je révise mon jugement. Voilà.
Après, c'est vrai que l'option fin ambiguë dont on a parlé, où Aaron Paul revient à la fin, il n'était pas sûr de lequel c'est dedans, en mode la toupie d'Inception, ça aurait pu être bien aussi. Alright. Et aussi, je dirais que j'ai quand même aussi beaucoup aimé cet épisode parce que c'est celui qui nous montre une techno la plus futuriste, même si c'est un épisode qui se passe dans le passé. C'est quasiment la même techno que dans Be Right Back, tu vois, cet android hyper réaliste et tout. Donc, ça fait partie de ce que j'aime bien dans Black Mirror et c'est le seul épisode où on a vraiment un focus sur c'est le fait que cette technologie existe et que les humains soient les humains qui va faire que l'épisode se passe quoi. Donc ça j'étais contente. Et on va arriver à la fin de toute forme de nouvelle technologie dans Black Mirror.
Et là, parce que là après genre
on ouvre une porte vers un autre aspect de Black Mirror qu'on n'attendait pas mais qui est là avec Maisie Day. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans Maisie Day? Cher Vincent.
Eh bien, Zazie Beetz, actrice qu'on adore et à qui on souhaite le meilleur.
Oui.
Et Paparazzi. À l'époque, à la Golden Era des Paparazzi, enfin peut-être un peu après, je dirais, mais période, on apprend que c'est au moment où Tom Cruise
et Katie Holmes
donnent le nom de leur enfant qui sera Souris Cruise.
Ce début des années 2000, quoi.
Ouais, voilà.
Époque Paris Hilton.
Voilà.
Et Perez Hilton aussi.
Voilà. Donc, on est à ce moment-là, Los Angeles. Et Zazie Beetz essaye de vivre un peu de ça, mais ça la gêne, ça la dérange, et puis surtout elle paparazze un acteur avec un homme à une sortie de motel, et en gros ça fait la une de la presse parce que lui il a une petite amie, enfin bref c'est un scandale, et cet acteur met fin à ses jours, se suicide
parce qu'il a été outé,
et elle culpabilise beaucoup et elle décide d'arrêter, sauf que elle apprend qu'il y a une actrice qui, après un tournage en République tchèque, une grosse actrice américaine, jeune, etc., et elle a disparu tout simplement après son tournage.
Bah, elle a eu des comportements de plus en plus erratiques.
On a vu qu'elle a eu des comportements erratiques et voire potentiellement qu'elle a blessé, voire renversé quelqu'un parce qu'elle consommait. Et voilà.
Oui, nous on l'a vu.
Nous on l'a vu, mais pas elle. Zazie l'a pas vu. Enfin, le personnage de Zazie l'a pas vu. Et elle va essayer parce qu'il y a une grosse récompense à la clé pour la personne qui réussira à la retrouver, à prendre une photo d'elle. Et encore mieux si on la voit en mode drôle. Enfin.
Ce serait quoi l'équivalent de nos jours? C'est genre Zendaya, tu vois, ou une meuf comme ça, parce qu'elle a l'air d'être une actrice assez jeune qui joue dans des prods en costume un peu à la Bridgerton et tout. Donc je me dis, transposée de nos jours, ce serait une genre de Zendaya qui
est peut-être devenue célèbre un peu tôt, qui a l'air de subir les. Bah, Zendaya, non, a priori.
Peut-être Selena Gomez, du coup, tu vois.
Ouais, voilà, Selena Gomez il y a quelques années.
Ancienne enfant star aussi.
Ouais, voilà.
Qui disparaît et on sait pas où elle est, enfin qui quitte un tournage après des comportements erratiques et qui legit disparaît, et du coup bah qui aura la première photo de où elle est, qu'est-ce qu'elle fait, et plus la photo est compromettante bien sûr,
mieux c'est,
plus cher c'est payé en tout cas.
Et finalement elle retrouve sa trace dans une espèce de centre de soins un peu ésotérique, chelou,
holistique bizarre,
très bizarre. Elle est accompagnée avec d'autres paparazzi qui eux aussi ont retrouvé la trace, et en fait quand il la découvre dans une chambre, elle est attachée, elle est enchaînée, donc il décide d'essayer de la libérer, et là
Zazie Beetz décide d'essayer, eux ils sont tous en mode
ils la prennent en photo, il la mitraille, et on entend l'actrice leur dire mais partez, et là on voit, il y a un plan sur le ciel où la pleine lune se révèle et elle se transforme en fait en loup-garou et massacre un peu tout le monde dans la foulée. Et voilà, c'est ça ce qui se passe. Et effectivement, quand
loup-garou.
Je vois la pleine lune, je dis d'accord, on va aller vers ça, voilà, très bien.
Alors qu'en plus c'est marrant parce qu'on est dans une esthétique 100% loup-garou. Elle est enchaînée au lit, elle est pâle, elle sue, elle a son corps qui se tord, c'est du mobilier un peu à l'ancienne, en bois, et c'est la nuit. Donc dans d'autres productions, peut-être on se serait dit, est-ce qu'on va vers une histoire de loup-garou? Mais là c'est fucking Black Mirror, genre... C'est pas une série de surnaturel, c'est pas une série d'horreur, c'est pas une série de fantasy. C'est une série qui parle soit de trucs qui existent, soit de technologies qui vont peut-être exister un jour. Qu'est-ce qu'un fucking loup-garou vient faire là-dedans?
Ouais.
Qu'est-ce qu'on en fait? Et alors, c'est pas la toute fin. Donc, elle se transforme en loup-garou. Donc, Zazie Beetz se tire. Parce que les photos ne valent pas la mort, hein, finalement.
Ouais.
Elle les poursuit jusque dans un diner. Où elle massacre un peu tout le monde, sauf Zazie Beetz, je crois.
Qui finit par l'achever, quoi, globalement.
Ben, le loup-garou se retransforme en humain. Et
Une fois blessé. Oui,
du coup, se retransforme en cette jeune femme. Et Zazie Beetz est au-dessus d'elle avec un pistolet dans une main et un appareil photo dans l'autre. Et Lago lui dit « shoot me ». Et c'est pour ça que je disais « ça m'énerve que la fin, ça soit un jeu de mots ». Parce que j'ai l'impression qu'ils ont trouvé cette punchline et qu'ils ont rétro-écrit un épisode. Et Lago lui dit « help me, shoot me ». Donc elle la supplie de se de la tuer, de mettre fin à ses jours parce qu'en fait elle est loup-garou maintenant. Mmh. Et ce à quoi Zazibitz, au lieu de la, donc il y a le double sens shoot me en anglais, ça veut dire prends-moi en photo, mais aussi tire-moi dessus. Zazibitz, au lieu de la shooter avec le pistolet et d'abréger ses souffrances, lui donne le pistolet pour qu'elle se mette fin à ses jours elle-même et la shoot avec son appareil photo pendant qu'elle met fin à ses jours. Donc elle signe complètement un pacte avec le diable du système de, en tout cas, elle a la photo qui tue. Peut-être mon chat va te monter dessus. Je t'avais prévenu, ça peut vous arriver. Voilà.
Ça se prépare.
Alors laisse-lui de la place parce que sinon elle va déraper, elle va griffer.
Tu veux venir ?
C'est compliqué de recevoir des gens. Mo. Donc, il y a quand même une forme de conclusion après. Enfin, c'est pas genre ah c'était un loup-garou et c'est la fin de l'épisode. Il y a quand même ce truc de c'était un loup-garou. Ok, mais le thème de est-ce que Zazibitz elle va écouter ses valeurs ou écouter l'appât du gain et de la fame et tout, enfin, il y a quand même une petite conclusion là-dessus, quoi. Qu'est-ce qu'on pense de Black Mirror à un épisode avec un loup-garou ?
Bah oui, c'est surprenant. En fait, moi, je trouvais ça intéressant juste parce que c'était surprenant, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en retient ? Effectivement, tu dis ce jeu de mots un peu pourri en mode de, ah, regardez, wink wink, encore une fois, genre, regardez, on fait les malins et tout.
Ouais.
En vrai, c'est moi, j'en retiens pas grand-chose. Je suis un peu. Puis l'épisode, encore une fois, est très court, hein, donc tu développes pas grand-chose derrière. Moi, j'aurais aimé beaucoup plus savoir sur l'actrice, sur le traitement médiatique qui a pu avoir derrière.
Même la vie n'est pas paradis, tu vois. Moi, c'est pas une époque. J'ai jamais été très people.
Au début, je croyais qu'on allait vers
ça. Assez petite. Et en fait, cette vie de meuf qui trimballe son appareil photo avec. Ouais. C'est aussi une des seules meufs racisées qui fait ce métier qu'on voit dans l'épisode. Donc elle est entourée de gars qui ont des attitudes hyper misogynes avec les stars féminines qui shootent. Et on voit qu'elle, elle est pas à l'aise. Donc moi, ça le thème paparazzi et tout, quand l'épisode il s'ouvre sur Tom et Katie Holmes viennent d'accueillir la petite Shuri Cruz et que je vois Zazibetz avec son téléobjectif, je suis là, oh yes, trop bien. Et au final, bah oui, mais pas tant.
Ouais, non, c'est ça. Ouais, c'est un peu... C'est un peu décevant. Ouais, je te dis, je l'ai regardé, je fais OK, allez, next. Enfin, je sais pas. En fait, c'est soit faut le développer vraiment et tu développes tout un lore autour. Et moi, là, j'aurais aimé une saison. Tu vois,
ouais.
Tu dis, waouh, tu découvres que les stars d'Hollywood, c'est des. Tu vois, c'est des.
Mais c'est ça.
Le grand trope et tout. Tu vois, genre,
pour moi, c'est ça l'épisode de fou qu'il y aurait dedans. Mais peut-être même une série entière là-dessus, ce serait. Parce que elle a un docteur un peu holistique, il dit c'est le docteur chelou des stars et tout. Elle est dans un centre de soins qui est hyper renforcé, donc
plein de petites graines de trucs qui pourraient être super intéressants. Et sauf qu'ils en font rien et qu'ils s'arrêtent juste à la blague.
Ouais.
Et ça, en fait, j'ai l'impression d'avoir un peu assisté à limite à un sketch de Golden Moustache ou tu sais où genre vraiment où des fois t'as 2-3 minutes de vidéo. Juste pour une blague de fin.
Oui.
Juste un jeu de mots pourri.
Oui, t'as une punchline et t'es là, on va faire un sketch autour de cette punchline.
Et voilà, c'est ça. Et donc, ça étire vachement, et en même temps, ça creuse pas assez du tout. Enfin, c'est dommage. Parce qu'effectivement, t'es surpris. Tu dis, waouh, et tout. Et sauf que ça s'arrête, 6 minutes plus tard, quoi.
Ou alors, on aurait pu avoir... Comment réagit le monde aux photos de Zazibitz, de cette meuf parce qu'a priori, c'est la seule meuf vivante qui a des photos de la starlette en loup-garou. Donc, comment elles sont acceptées? Est-ce qu'elle se les fait voler? Il pourrait y avoir aussi un truc de... c'est une femme racisée qui va peut-être se faire voler la primauté des photos par un mec blanc. Est-ce que le monde... est-ce qu'elle va être menacée par la société secrète des célébrités loup-garou? Tu vois, on est là en mode... On veut... En gros, c'est un épisode qui dit « Vous pensez vouloir voir toutes les facettes des célébrités ?» Careful what you wish for, mais du coup, il faut montrer le public se confronter à. On pensait qu'on voulait ça, mais en fait, on le voulait pas. Là, on a juste. À la fin, elle meurt, quoi.
Mais après, si j'essaie de penser à la série, à l'approche de Brooker là-dessus, est-ce qu'il est pas en train d'essayer de tester quelque chose, et on le verra avec l'épisode d'après, de se dire, OK, on teste ça, on va voir comment le public réagit, est-ce qu'on a des bons retours, est-ce que c'est quelque chose vers lequel on peut aller. Tu sais, c'est encore une fois planter des petites graines, peut-être pour se dire. Comment on va évoluer? Est-ce que, peut-être que Charlie Brooker, il veut aller faire de l'horreur pure. Le côté A-B testing presque de tout ça peut être intéressant. C'est-à-dire, voilà, il teste dans ce sens-là, avec ce ton-là, un autre un peu plus humoristique, voilà, avec une autre époque, 20 ans plus tôt, 10 ans plus tard. Ouais, j'ai l'impression que ouais, c'est ça, ils testent différentes choses et ils vont faire le bilan et vont dire ok, vers où on veut aller. Donc,
oui, peut-être. Peut-être c'est quoi la théorie, marque mais... Black Mirror, tu vois.
Ouais, maintenant, ouais.
Avant, c'était la série d'anticipation déprimante, ou en tout cas de réflexion sur la tech déprimante. Ouais. Depuis San Junipero, c'est la série d'anticipation sur la tech déprimante souvent, mais pas tout le temps.
Ouais.
Là, ça va peut-être devenir la série aussi de quelqu'un parler du coup du cabinet des curiosités de Guillermo del Toro. Là, c'est du fantastique, c'est de l'horreur, mais qui fait pas très peur. Enfin,
ouais.
Personne de nos jours n'a peur des démons et des loups-garous, je pense. C'est pas Slenderman, quoi. C'est pas des monstres actuels. Donc ça fait un peu anachronique aussi dans Black Mirror qui nous a habitués à des trucs assez modernes. Mmh. D'avoir un loup-garou, tu vois, c'est genre Dracula, c'est très old school. Donc je suis d'accord avec le côté ballon d'essai, mais je suis là, du coup, si c'est ça le but, peut-être que justement il y aurait intérêt à remettre plus de Black Mirror dedans pour que ce soit ok. C'est la marque Black Mirror, mais avec du surnaturel. Et du coup, ça passerait peut-être par bah, interroger, voilà, qu'est-ce qu'on en fait une parce fois que c'est un loup-garou.
Moi, je suis pas contre du surnaturel, puisqu'on est déjà dans de la SF souvent dans Black Mirror.
Oui.
Donc tu vois, donc je pense que tu peux creuser un croisement qui peut être intéressant. Tu sais, il y a un truc de tech, un truc de
la frontière est fine.
Pourquoi pas, hein, franchement et tout. Mais c'est vrai que là, t'as l'impression que ouais, c'est un demi-pilote, un demi-script, un demi, enfin,
une demi-idée peut-être ou deux demi-idées.
Mais il fonctionne comme ça. L'épisode de John is a Fool, il en a parlé chez les Brookers. C'est en voyant ouais une série Apple TV inspirée d'un fait divers réel. Puis un autre truc, puis il a mélangé deux demi-idées comme ça, et je dis, oh, ça fait un pitch, et puis voilà quoi, donc c'est un peu bon.
Des fois, ça marche mieux que d'autres, on va dire. Mmh. Et donc, on continue dans bah, le ouais. surnaturel avec le dernier épisode de cette saison 5, et le premier épisode de cette saison 6, pardon.
Ouais.
Et le premier épisode officiellement estampillé Black Mirror présente Red Mirror,
ouais.
Demon 79. Qui, comme son nom l'indique, nous transporte en 1979. On retourne en Angleterre,
oui.
Toi qui préfères le Black Mirror britannique.
Mmh.
Et alors, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode, rappelons-le, de la série Black Mirror ?
Tu veux que je le fasse ?
Ouais, ouais, vas-y.
Bah, c'est une employée de magasin de vêtements, de chaussures, racisée.
Oui, originaire d'un pays d'Asie du Sud-Est,
ouais, voilà.
Comme beaucoup de gens le sont au Royaume-Uni.
Voilà, et qui... bah, mène une vie d'employée pas forcément très réjouissante parce que ses collègues l'aiment pas. Clairement, il y a du racisme latent,
oui.
Partout autour d'elle. Le climat politique en marge d'élection est vraiment tendu. La porte de chez elle est taguée par l'équivalent du FN.
Bah, littéralement le National Front. Donc,
ouais, oui, voilà, ouais. Oui, voilà.
C'est les mêmes, on les connaît.
Voilà. Et en fait, elle découvre. Dans la cave de son magasin, une espèce d'amulette qui va faire surgir un démon à qui pour la rassurer va prendre la forme d'un des membres de Bonhème et qui va lui dire écoute, t'as fait appel à moi, il faut que tu tues 3 personnes dans les 72 prochaines heures, sinon c'est l'apocalypse. Et pour lui prouver, il
c'est
lui projette des images, etc. Enfin, elle fait pas que le croire parce que lui il lui projette vraiment des images de ce qui va arriver, donc elle y croit et elle commence par tuer un homme qui abuse de sa petite fille parce que le démon lui dit bah lui il fait ça parce qu'il sait tout sur tout le monde, comment ils vont finir et tout. Elle décide aussi de tuer un meurtrier qui a été a priori acquitté du meurtre de sa femme, mais bon tout le monde sait qu'il est coupable. Elle se rend compte
ouais,
que
elle
ça...
essaye de tuer des gens où elle se dit bon,
ouais, voilà.
Il le mérite un peu, c'est pas trop chaud quoi.
Sauf que les meurtriers ça fonctionne pas parce qu'ils ont déjà tué quelqu'un et voilà, ça compte pas.
Du coup, ils sont déjà dans la team des démons.
Voilà.
C'est genre non, mais eux ils jouent pour notre team donc ils comptent
voilà.
pas.
Et elle finit un peu bah, par vouloir tuer un homme qui se présente aux élections législatives et elle se fait attraper par un flic qui a enquêté sur les meurtres précédents. Et elle raconte l'histoire de manière très honnête en salle d'interrogatoire. Et en fait, bah, elle a pas eu le temps de tuer la troisième personne avant minuit. Et en salle d'interrogatoire, à minuit et quelques secondes après, on se rend compte que l'apocalypse tant redouté arrive vraiment. Et
c'était réel, quoi.
Et là, ça finit sur un plan de elle et le démon qui décide, parce que le démon, s'il échouait, il finissait dans le dans le cosmos, dans l'infini.
Dans le void.
Et elle.
Ce qui est une punition, hein. C'est genre horrible. C'est l'éternité dans le vide total. C'est sa punition à lui de, dans la hiérarchie des démons. Très The Good Place comme concept. S'il échoue à. En gros, il doit corrompre son âme. C'est pour ça qu'il est là. C'est le fameux tu fais un pacte avec le diable. Et il doit corrompre une âme corruptible, puisqu'il lui dit, en fait, si t'avais été une âme incorruptible, ça aurait servi à rien que tu frottes l'amulette, ce qu'elle a fait par erreur. Mais comme t'es une âme corruptible, parce qu'en vrai, t'es vénère, on la voit avoir des flashs des fois où elle a envie d'étrangler sa collègue, etc. Mais elle a raison. Ouais. Donc il doit corrompre cette âme, et sinon, c'est l'apocalypse. Et lui, il est envoyé, placardisé pour très longtemps. Ouais. Et effectivement, elle décide de le suivre. Dans tous les cas, c'est l'apocalypse sur Terre. Et puis, bah, maintenant, elle a un ami, quoi. Elle en avait pas
qui
avant.
Qui ressemble au mec de... Voilà,
qui a un flow.
Il est
incroyable.
L'acteur est magnifique. Enfin, bref, vraiment.
Ouais, il s'appelle Papa Essiedou. Et il est d'une beauté et d'un charisme à tomber par terre, quoi. Alors, l'actrice, c'est Anjana Vasan. Elle est aussi très, très douée. Il n'y a pas de problème, mais... Le mec est habillé comme le gars de Boney M, quoi. Lui-même, il commande son flow en mode.
Ouais, non, il y a un truc.
Okay.
Et puis, il y a un ton qui est à la fois un peu horreur, mais comédie aussi.
C'est un buddy movie.
C'est un buddy movie, un peu, effectivement, je suis d'accord. Et voilà. Et après, l'épisode dure 1h14. J'ai trouvé ça très long, très prévisible, pas surprenant du tout, en fait. Enfin. Ouais, c'était un peu pénible à regarder, j'avoue.
Ok.
Moi, encore une fois, les acteurs jouent bien. Il y a des moments qui sont intéressants et tout, mais en fait, le fait que l'apocalypse arrive, bah écoute, ok, fine. Enfin, tu vois, enfin, je sais pas, j'aurais peut-être préféré un twist un peu différent, un truc qui les sépare, un truc qui où elles ressortent, une espèce de victoire un peu douce amère, ou genre de choses. Après, ok, happy ending, et en même temps.
Il y a un truc qui est peut-être pas clair, c'est que le politicien qu'elle voulait tuer, elle voit le démon lui montre le futur, et c'est genre Hitler. C'est un fasciste total.
Et on voit des références à d'anciens épisodes de Black Mirror aussi,
oui,
et les robots.
On revient dans le Black Mirror universe qu'on avait un peu dans Black Museum. Parce que du coup, il y a des trucs qui sont arrivés dans Black Mirror, notamment où elle est... Comment ça s'appelle la boîte qui fait ça dans la vraie vie, là, les chiens robots Boston Dynamics,
qui fait
ces fameux chiens robots qui font hyper peur, là. Il y a tout un épisode de Black Mirror qui s'appelle Metalhead qui est là-dessus. Et on se rend compte que dans le futur de cet homme, en fait, il va être élu. Puis il va être élu Premier ministre. Puis il va être élu et genre faire des trucs pour rester. En fait, c'est un dictateur fasciste, quoi. Et qui est en train, c'est genre Hitler en train de monter. C'est l'élection qui a élu Hitler chancelier. Est-ce que si tu peux le tuer juste avant, tu le fais ou pas? Et donc elle essaye de le faire et elle est arrêtée avant. Mais elle est persuadée que c'est vrai, que le démon il a raison. Et c'est clairement, nous on voit que c'est un personne. Enfin, déjà, il est pour un parti clairement de droite. Et on le voit échanger avec une employée raciste en lui disant en gros. Moi, je suis pas un con comme les gars du Front National. Ouais, je dis pas frontalement que je suis contre l'immigration, mais on se sait. Toi et moi, je pense que tu peux voter pour moi, je te décevrai pas. Donc, ça a l'air d'être vrai. En tout cas, il a un aspect fascisant à sa politique. Et ça aurait été peut-être intéressant qu'elle le tue et que l'apocalypse arrive pas. Et qu'en même temps, elle soit là en mode. Et peut-être elle finit en prison et tout, tu vois, mais qu'elle soit là en mode, mais j'ai quand même sauvé le monde, tu vois.
Mmh.
Et en fait, là, elle a pas sauvé le monde du tout, mais du coup, il se passe rien. Enfin, c'est la fin
et
de
puis,
tout.
Comme il y a tout un sous-texte sur le racisme ambiant qui est là, mais en même temps, c'est un truc qui est pas totalement adressé. Enfin, tu vois, je trouve qu'il y a peut-être un manqué là-dessus, peut-être adresser les choses un peu plus clairement ou... Tu vois, elle peut pas le massacrer, ce politique, tu vois. Moi, limite, tu me mets en mode, genre, Tarantino, elle le défonce, et effectivement, elle ressort de manière un peu badass, un peu victorieuse et tout. Là, ok, ça change un peu. Là, effectivement, elle échoue. Elle est sauvée, mais pas vraiment sauvée non plus. Enfin, c'est triste pour elle, quoi, parce que... Elle douille au quotidien avec ses collègues, son patron, les gens dans la rue. Elle a une vie très triste. On comprend qu'elle a perdu sa mère aussi. Donc voilà.
Et il y a un début de truc, mais qui n'est pas du tout exploité, où elle dit. Parce qu'au début, elle est là, je deviens folle. Évidemment, je deviens folle. Je vois un démon chez moi qui ressemble à un mec de Boney M et qui me dit de tuer des gens. Potentiellement, j'ai fondu un fusible. Et elle dit, maman aussi, tout le monde disait qu'elle était folle. Mmh. Donc, il y a peut-être une idée à la base de, il y avait peut-être un doute de est-ce que c'est dans sa tête ou pas et tout. Pas et moi, je suis là, je pense pas que, enfin, j'ai jamais douté, tu vois, j'étais là, il y a un démon chez elle et elle doit tuer des gens. I guess Black Mirror fait ça maintenant.
Ouais.
Est-ce que tu penses que si c'est pas un épisode de Black Mirror, ça te parle plus? Tu vois, est-ce que si tu t'attends pas à du Black Mirror et qu'on te propose ça, t'es là, ok. Genre tu vas chez un pote, il dit tiens j'ai vu un épisode de truc
non, parce
là,
qu'en fait,
ça m'a intrigué.
Parce que, comment dire, l'épisode 4 a désamorcé le truc de on va faire de l'horreur, on va sortir un petit peu de ce sentier battu qu'il y a depuis plus de 10 ans maintenant pour Black Mirror. Donc non, en fait ça m'avait déjà sorti de l'effet de surprise. Je m'étais déjà dit ok, Black Mirror veut tenter de faire ça, mais même là tu vois... En fait, justement, si ça avait pas été labellisé Black Mirror, j'aurais encore moins, je me serais encore moins questionné sur ce que j'aurais pu potentiellement aimer, ce que j'ai raté, tu vois.
Mmh. T'aurais juste dit, c'est un film un peu série Z avec un démon.
Ouais,
un peu osef, quoi.
Alors
mais
que là, c'est
bien
labellisé Black Mirror, je me dis, mais est-ce que j'ai raté quelque chose? Est-ce que j'ai machin?
Alors, il y a un contexte déjà qui est que, si je dis pas de bêtises, mais c'est ce que j'ai entendu dans mes petits podcasts de nerd, la femme de Charlie Brooker est d'origine, originaire d'un pays d'Asie du Sud-Est. Et je crois que le personnage a son prénom, dans le personnage principal de l'épisode a son prénom. Donc il y a peut-être aussi un côté de rentrer en résonance avec des choses que sa femme a pu vivre.
Et c'est le seul qu'il coécrit, je crois.
Oui.
C'est le seul épisode qu'il coécrit avec quelqu'un d'autre.
Et qui est peut-être du coup sa compagne. Attendez, je vais fact-checker en direct. Et aussi, c'est du coup une vraie... période de l'histoire du Royaume-Uni qui raconte, qui est peut-être plus obscure pour nous français, qui est l'accession au pouvoir de Margaret Thatcher, qui est un vrai trauma national au Royaume-Uni. Alors je me doute que toi t'as les bails, mais peut-être que ça fait que, tu vois, je pense qu'un Britannique, tu lui montres un épisode où, imagine, on fait un film d'horreur sur une personne racisée la nuit où Le Pen est passé au second tour pour la première fois, tu vois. Genre ce niveau de stress qu'il y avait. Bah, tu le montres à un Britannique, il va pas comprendre, parce que c'est Le Pen second tour, tu vois. Genre, tu comprends que c'est un raciste, mais tu comprends pas le niveau de, waouh, on fait ça maintenant, qu'il y a pu avoir dans la société. Attendez, je fact-check, j'arrive.
Mais tu vois, c'est pour ça, c'est d'autant plus pour ça que j'aurais trouvé intéressant qu'elle massacre ce personnage, tu vois. Comme Tarantino l'a fait dans Inglourious Bastard, tu vois. Il s'est dit, ok, on va reprendre l'histoire et on va la faire différemment, tu vois.
Oui, je suis d'accord. Je pense que il y a des actes. Oui, tout à fait. Alors, l'épisode est coécrit par Bisha K. Ali, qui est une comédienne de stand-up et scénariste britannique originaire du Pakistan. Écrivaine en chef, scénariste en chef de la série Miss Marvel pour Disney+, qui met en scène la première, il me semble, super-héroïne originaire d'un pays d'Asie du Sud-Est et musulmane de l'univers Marvel. Donc on est ravis. Donc déjà il y a un truc de raconter peut-être. En fait, je pense que je suis moins fermée que toi à cet épisode, peut-être en partie parce que je suis une femme racisée quand même, même si ça se voit peu, mais je suis moitié arabe. Et il y a un truc un peu jouissif, mais qui aurait dû du coup être poussé de... Tu sais quoi, fuck it, je préfère aller traîner avec un fucking démon qu'avec vous, tu vois. Vous m'avez... Tout l'épisode, c'est que des micro-agressions ou des full-agressions. Elle fait que se faire rejeter. Elle fait de son mieux pour essayer de faire les choses bien, de pas tuer les personnes qu'il faut pas. Et en fait, le monde réel la rejette. Le monde des démons, c'est que des arnaques de « Ah ouais, t'as tué machin, mais en fait, machin, ça compte pas et tout. » Son pote, c'est aussi un bisou du monde des démons, finalement, parce que c'est un débutant, c'est un stagiaire. Et à la fin, elle est là « Tu sais quoi ?» Toi et moi, on n'a pas notre place dans notre monde, et bah vas-y, fuck it, on va vivre notre vie à nous plutôt que de vivre dans leur monde à eux, tu vois.
Ouais, mais...
Why not?
Oui, mais sauf que là, le monde, il va disparaître.
Oui,
c'est pas.
C'est un peu le problème.
C'est ça.
C'est une fin où il y a un peu tout, quoi.
C'est soit elle meurt là, maintenant, soit elle va dans le néant avec son pote, nouveau pote, le démon. Donc, effectivement, moi aussi, j'aurais dit oui, tu vois.
Bah oui, enfin, l'alternative, c'est tu meurs là avec des vieux racistes dans un bureau de police qui sent le tabac froid.
Après,
c'est nul, quoi.
Après, là où je suis d'accord, c'est qu'en fait, en gros, le flic, quand il l'arrête et l'empêche de faire ce troisième meurtre, il y a un truc de, bah, vous me croyez pas et tout. Enfin, en même temps, comment la croire, tu vois.
Ah oui, comment la croire.
Tu vois, donc, c'est un peu.
Zinzou qui court vers Éric Zemmour avec un couteau, même si, bon, voilà, oui, j'espère s'il y a des forces de l'ordre sur place qui vont quand même l'arrêter. Et pas se dire, ça, c'est Zemmour.
C'est pour un démon.
Voilà. Alors il y a Clarichou dans le chat qui a dit c'est mon épisode préféré de la saison, et du coup je lui ai demandé pourquoi, et elle nous dit: j'ai vraiment adoré l'ambiance de l'épisode et la relation entre le démon et la fille, et le côté émancipation de la fille tout au long de l'épisode, et j'adore les années 80 de manière générale. C'est moins Vaporwave que San Junipero, c'est moins les palmiers de Venice Beach, c'est l'Angleterre saturisante des années 80.
Plus vieux, un peu moins moche.
Mais plus réaliste aussi.
Ouais.
Et là où je la rejoins, c'est le côté émancipation de cette meuf et la relation avec le démon qui, pour moi, fait que, même si l'épisode est long, je dirais pas que j'ai vu le temps passer. Enfin, tu vois, je regardais pas ma montre en mode, est-ce qu'on y arrive? En fait, j'aime bien ce duo. Je veux bien une série sur ce duo, tu vois, qui va de monde en monde ou qui jump dans, dans l'espace-temps pour essayer de tuer les bonnes personnes. Ouais, tu vois, genre.
Non, mais c'est peut-être un test, encore une fois, tu vois.
Paraît que le multivers est à la mode.
C'est donc ça le multiverse. J'adore les Jonathan Cohen. Il a montré sa montre, j'étais mort de rire.
Tu sais que les gens, c'est non pas la ref, on dirait vraiment juste qu'on fait un AVC, mais il y a des mèmes avec Jonathan Cohen et le multivers, je sais pas quoi vous dire, regardez des séries télé françaises aussi, même si on n'en parle jamais. Soyez sur Twitter, I don't know. Je sais pas comment dire aux gens où rattraper les mèmes.
Ouais, Twitter.
Ouais.
Ouais.
Est-ce qu'on a fait le tour?
Je pense. Ouais. Je pense, en fait, je t'avoue, j'avais des trucs à dire, mais je pensais pas que j'allais pouvoir faire plus de 3 phrases par épisode, donc je suis un peu content. Et écoute, mais merci d'avoir
un peu des trucs à dire sur
mais t'es merci d'avoir créé ce cadre de discussion. Ça permet vraiment de, et moi je me suis beaucoup réinterrogé sur comment j'ai vu les épisodes. Et t'as vraiment bien argumenté sur certains trucs, donc
merci.
Donc merci pour ça.
Bah merci.
Enfin, sur certains trucs, non, t'as vraiment bien argumenté de manière générale. Et je veux dire, sur certains trucs, ça m'a.
Je dirais pas sur lesquels.
Non, mais je veux dire, c'est que c'est justement certains trucs m'ont fait changer de perspective, quoi.
Et après, le but, c'est jamais de faire changer les gens d'avis sur. Enfin, il y a du subjectif, évidemment, dans l'art. Et c'est pas que tu sortes en disant, ah, en fait, l'épisode 3, il était super. C'est que juste comprendre ce que d'autres y trouvent ou ce que d'autres n'y trouvent pas du tout. Et moi, j'aime bien cet exercice de podcast long format et tout, parce que bah ça m'aide aussi pour les séries que j'aime bien et les podcasts de nerds que j'écoute à comprendre, en tant qu'humaine, qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui me parle dans l'art.
Même c'est dur, ça. Hein,
et qu'est-ce qui fait qu'on se passionne tous des fois pour les mêmes histoires, que les true crime, ça cartonne et tout, tu vois, bah c'est chouette d'en parler. Ça aide.
Non, mais c'est dur de formuler un avis et de pas être trop impacté par l'avis des autres aussi qu'on voit en ligne, tu sais, en lisant des critiques. C'est dur de construire son propre esprit critique sur des séries et tout. Et de pouvoir argumenter, donc c'est un bon exercice.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préférée. Vous pouvez retrouver le reste de mes contenus audio sur le flux Mimi Hegel, mais en podcast, m'écouter avec la créatrice de contenu Marie Kigai chaque mardi dans le podcast BFF, et me retrouver tous les dimanches en compagnie de Fabrice Florent dans notre podcast cinéma Le Film Club. Pour les récaps rigolos de séries, ça se passe sur Patreon. Tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite une très belle journée et un grand merci à Valentin Nortier pour le générique.